With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Salut, c'est Régis, merci d'avoir lancé cet épisode. Je suis très fier de commencer la 4e saison du podcast avec David Bocage. J'espère que l'épisode va te plaire, j'ai adoré pouvoir échanger avec lui. Et comme d'habitude, je vais t'inviter à t'abonner au podcast, à mettre 5 étoiles pour aider au référencement ou à commenter si tu écoutes l'épisode sur YouTube. Si tu souhaites soutenir le podcast, c'est possible de le faire soit en un virement unique, soit en t'abonnant à mon Patreon. Ça m'encourage à continuer à proposer des épisodes de qualité. J'en profite pour remercier Lisa, qui est la dernière personne en date à avoir soutenu le podcast, donc merci Lisa. Pour ceux qui ont suivi mes petites aventures, je suis rentré en Belgique fin d'année et début janvier, mais me revoilà maintenant à Montréal en plein hiver québécois. J'ai enfin connu des moins 30 degrés, avec ressenti moins 40, mais surtout, j'ai pu enchaîner quelques shows en français et en anglais. J'ai réalisé mon rêve de jouer au Bordel Comedy Club, donc ça y est, j'ai joué au Bordel. J'y ai joué lors de l'Open Mic, mais j'ai également participé au Gong Show, qui sera diffusé dans quelques mois. Je te tiens bien sûr au courant quand c'est diffusé, pour que tu puisses regarder ça, peut-être même rigoler. Et au niveau du podcast, j'ai plusieurs invités prévus. J'enregistre d'ailleurs un épisode ce 20 février avec un humoriste exceptionnel. Mais on va garder la surprise encore quelques temps, si ça te dérange pas. En attendant, je te laisse avec David Bocage. N'hésite pas à partager l'épisode autour de toi. Surtout si tu es québécois, j'aimerais bien que le Québec connaisse ce podcast, ça serait cool. Bonne écoute.
Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je reçois un humoriste, un auteur, un chanteur, un podcasteur de talent. Je reçois David Bocage. Comment ça va?
Ça va très bien, Régis. Les gens ne les voient pas en ce moment, c'est audio, mais on est chez moi à Montréal. Donc c'est la première fois que je reçois quelqu'un... dans mon studio, en guillemets, pour un podcast qui n'est pas le mien. Donc, ça me fait plaisir de te recevoir.
Moi aussi, ça me fait plaisir que tu me reçoives. En plus, j'utilise tout ton matériel. Je suis dans ton bureau, je vois tes petites notes spectacle. J'aime bien.
On se croise les doigts que ça fonctionne, hein, parce que tu nous racontais juste avant que la dernière fois que tu as utilisé du matériel de d'autres personnes, ça n'avait pas fonctionné. Donc, vraiment, j'espère que si vous écoutez cet épisode, c'est que tout est allé sur des roulettes. Donc,
voilà. Et si vous ne voyez plus jamais David Bocage, c'est que ça n'a pas fonctionné.
Voilà.
Mais merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Est-ce que tu as été étonné quand ta gérante t'a dit que tu allais enregistrer un podcast avec un humoriste belge?
Honnêtement, dans ce métier, plus rien m'étonne. Non, je pense que j'avais vu passer des trucs de toi, dans le sens que tu sais, t'as reçu plusieurs humoristes québécois, là, si je me trompe pas.
Oui.
Est-ce que t'as pas reçu, à un moment donné, Simon Gouache?
Simon Gouache, ouais, Maud Landry, Virginie Fortin.
T'avais-tu reçu Catherine Levac?
Catherine Levac,
bon,
oui.
C'est ça. Puis je pense que quand tu faisais des posts aussi, tu nous taguais souvent.
Oui, parce que, en fait, à chaque fois qu'un humoriste est cité dans le podcast, je l'indique.
Voilà.
Parce que je me dis, on parle de lui. Peut aller écouter parce que comme ça il va voir ce qu'on dit de lui.
Super.
Je trouve ça sympa.
Exact. Donc je pense que ça avait attiré mon attention.
Oui, je pense que Catherine a dû parler de toi et je pense que c'est toi qu'elle recommandait dans un des prochains épisodes.
Ah bon, toi c'est gentil.
Ouais.
Donc tu vois, je pense que j'avais vu sur ma page, vous avez été tagué, j'ai fait ah, c'est quoi, puis je pense que j'avais vu quelques trucs, puis Simon aussi je le connais bien. Simon il allait à l'école avec ma sœur plus jeune, donc oui. Simon gars, donc je pense que j'avais vu un peu les trucs, puis ben on en a parlé un peu avant de commencer, mais ma sœur aussi habite en Belgique, donc j'ai un certain attachement avec la Belgique, fait que j'étais comme mais oui évidemment, puis parce qu'on y viendra peut-être plus tard, je sais pas, mais j'ai fait mon premier show en Belgique cet été.
Ok, oui. On allait en parler plus tard, mais on peut en parler maintenant.
Non, je savais même pas si c'était au courant parce que c'est, je pense, j'en ai peu parlé ou pas parlé. Donc.
En fait, je t'avoue que maintenant, à chaque fois qu'un Québécois vient en Belgique, je reçois un message.
je reçois un message de Bilal qui dit.
C'est pas Bilal qui m'a envoyé le message. Je pense que c'est. En fait, je ne reviens pas sur son nom. Voilà, c'est très sympa.
Mais c'est
pour
ça,
lui.
C'est qu'il y avait Bilal puis l'autre qui book beaucoup aussi des shows en Belgique. Et c'est lui que son nom m'échappe. Et il était aussi au
Rudy?
Spectacle. Oui, voilà, Rudy. C'est Pierre-Yves Roy-Desmarais, tout ça, qui m'avait mis en contact avec eux parce qu'il avait été joué un peu en Belgique plus qu'une fois à cause d'Étienne, tout ça. D'ailleurs, Pierre-Yves joue en France en ce moment, au moment où on enregistre.
J'ai joué avec lui jeudi passé.
Avec Pierre-Yves, ça?
Avec Pierre-Yves, ouais.
En France?
En Belgique.
Passé?
Ouais.
OK, parce que toi, tu viens vraiment de débarquer. Là, de
ouais, je suis revenu vendredi et on a fait une scène qui était sur le thème du Seigneur des Anneaux. Et Pierre-Yves n'avait jamais vu le Seigneur des Anneaux.
OK.
Donc, il a fait énormément de blagues sur les Français à la place.
En cas de doute, faites des blagues de Français.
Toujours.
Mais il y a comme une alliance, on dirait, ou un lien. En tout cas, je l'ai senti quand j'étais en Belgique, des Belges avec les Québécois, dans le sens que les deux ont un rapport particulier à la France. Je pense qu'il y a comme cette affaire-là de la domination, mais la nation francophone la plus importante. Fait qu'il y a comme alors que quand ils vont en France, le rapport est différent, tu sais. Oui. Bref, il y a quelque chose qui unit, j'ai l'impression, les Québécois et les Belges.
Oui, Pierre-Yves, il m'avait posé la question de comment je m'adresse aux Belges par rapport aux Français. Je lui dis, on a exactement le même rapport que vous. Les blagues que tu ferais au Québec vont très bien marcher chez nous. Parce qu'on a exactement le même rapport. Donc, les blagues qu'il fait dans son show que j'avais vu avant de partir à l'Olympia, je les avais adorés, par exemple, parce que ça marche. D'ailleurs, ça a très bien marché en Belgique, parce qu'on fait des blagues sur les Français, on est content.
Ouais, comment ça s'est passé, les spectacles pour Pierre-Yves?
Moi, j'ai vu que celui-là, du coup, ça s'est vraiment bien passé. Après, il a joué au Kings, et je lui ai envoyé un message, il m'avait dit que ça s'était bien passé aussi.
Et est-ce que Brian était là, Brian
ouais.
Piton?
Brian Piton aussi. Était là aussi, ouais. Lui, par contre, il connaissait le Seigneur des Anneaux, donc il a fait des références, et il a été jouer au Kings avec lui après, et tout ça. Mais ils m'ont dit que c'était plus chouette en Belgique qu'en France.
Ah ouais, hein?
Désolé s'il y a les gens qui ont booké en France.
Non, mais c'est deux... Je pense que c'est deux tons différents aussi. J'ai l'impression aussi comme... en France aussi, il y en a tellement. Il y a tellement de... Il y a beaucoup de facteurs culturels et... je pense pas que c'est volontaire ou tu sais, c'est pas... Je pense pas que c'est... Les Français ont les bras croisés, mais je pense qu'il y a juste un climat tellement différent. C'est deux ambiances tellement différentes.
C'est ça.
C'est comme des micro-climats, bref.
Après, si tu vas jouer à Paris, là, c'est encore différent. Parce qu'il y a tellement de spectacles.
Exact.
Les gens sont un peu plus blasés parce qu'ils en voient tous les jours. Donc, faut plus les impressionner que nous, on est moins habitués. On dit, ah, il y a des Québécois, on va aller voir.
Exact.
Ça change, on se dit, ah, et en plus, on va dire qu'ils sont connus. On fait, oh, c'est bon.
Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Pierre-Yves en Belgique?
Il y en avait quelques-uns. Après, c'était surtout les humoristes. Donc, il y avait des humoristes qui venaient parce qu'ils se disaient, ben, je vais voir Pierre-Yves Roy-Desmarais. Moi, je l'avais vu à l'Olympia la fois d'avant. Donc, jouer avec lui sur le plateau, je t'avoue que j'étais assez content. J'ai une photo avec Pierre-Yves, donc je suis content. Ma journée est faite, moi.
Est-ce que c'est quoi le pourcentage des gens dans la salle qui sont humoristes qui étaient...
Il n'y avait pas une majorité de public, mais c'était une scène très centrée sur le Seigneur des Anneaux. Donc, il y avait des fans hardcore du Seigneur des Anneaux. Il y avait quelqu'un qui pouvait dire toutes les répliques du film. Wow. Et donc, quand tu faisais des blagues sur le Seigneur des Anneaux, il fallait absolument que les termes que tu emploies soient les bons.
Ouais.
C'était impressionnant.
J'adore, c'est un mélange entre une grandeur de nature puis un show du monde, il y a un côté geek.
Oui, mais très. Là, j'étais impressionné. Je pensais que j'étais geek, mais c'était un niveau au-dessus.
Wow.
Impressionnant. Mais toi, tu as participé à plein de podcasts. Tu as toi-même ton propre podcast dont on va parler juste après. Qu'est-ce que t'aimes, toi, dans ce format du podcast?
J'aime la portion conversationnelle. Okay. Moi, c'est ça que j'aime. Parce qu'on dit souvent entrevue, puis c'est vrai, tu sais, on se prépare. Toi, tu t'es préparé, je me prépare quand je reçois mes entrevues, mes invités, mais... Il y a un côté plus naturel, un peu plus, je sais pas, tu sais, je pense que ce qu'on recherche autant en humour qu'en entrevue ou ça, c'est la vérité. Puis il y a quelque chose d'un peu plus, informel. J'aime du podcast, c'est conversationnel, c'est pas aussi carré ou aussi découpé qu'une entrevue. T'sais. Moi, j'ai aussi très peu de montage. T'sais, je laisse aller le fil naturel de la conversation, ce qui fait qu'on va faire des détours. Souvent, c'est un enchaînement de parenthèses, mais il y a comme une comme un flow naturel, je trouve, là-dedans, qui est plus intéressant, puis souvent qui amène à des endroits différents. T'sais, souvent, les entrevues, c'est très... c'est comme un peu sec, puis souvent ça donne un peu les mêmes questions puis les mêmes réponses. Donc je trouve qu'on est toujours dans les mêmes eaux. C'est rare qu'on apprend. Je trouvais qu'on passait à côté de beaucoup d'opportunités d'apprendre des choses en entrevue parce que on amenait les gens un peu sur des cassettes, un peu ils se répétaient. Donc je trouve qu'en podcast on a le luxe du temps. C'est pas comme aujourd'hui, tu me l'as dit, hey, moi c'est long. Ouais, c'est parfait. Ça, un podcast c'est ça que c'est. C'est un peu ça le truc, on peut prendre le temps, c'est comme un peu ça qui fait que ça donne des entrevues, je trouve, différentes, plus originales, plus intéressantes. Donc, ouais, il y a un aspect un peu plus informel, je trouve, qui mène à des réponses plus intéressantes.
OK. Mais le mien est assez dans un format assez interview, donc j'espère que ça sera pas trop formel pour toi.
Non, mais dans le sens que je pense qu'il faut jumeler comme le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la préparation de l'entrevue, mais le côté un peu plus détendu du podcast. Donc, non, je suis pas inquiet.
Mais oui, moi, j'ai fait pas mal de recherches pour aussi éviter que tu te répètes sur des choses que tu as déjà dites. Parce que, étant un gros fan d'humour et de podcast, moi, quand j'entends trois fois la même chose, je fais, oui, mais ça, il l'a déjà dit. Mm-hmm. Et donc, j'essaie d'amener d'autres choses, donc on va essayer de le faire. Tu as ton podcast qui s'appelle Dread sur le tape, qu'on pourrait traduire comment en français? Parce que je pense qu'il y a un rapport avec le hockey que j'ai pas compris. Parce que moi, je pensais que ça voulait dire directement sur l'enregistrement, mais je suis pas sûr du tout.
Mais en fait, t'as compris la moitié, parce que c'est un double sens. Donc, dans le fond, le tape, qu'on pourrait traduire par ruban, je pense, en français, mais qui est le tape, on appelle ça ce que tu mets sur le bâton, dans le fond. Okay. Du ruban, donc du ruban pour protéger la palette, qui est en fait aussi pas le même terme en Europe, là, je me souviens plus c'est quoi.
C'est un puck?
En fait, un puck, en français, c'est le palais.
Oui, c'est ça.
Mais la palette, c'est le bas du bâton, qui en France, on appelle une crosse.
Oui,
c'est donc, ça. Donc, il y a beaucoup de...
on a perdu le public, là.
Alors qu'ici, la crosse, c'est un autre sport.
Oui, c'est la crosse.
Exactement. C'est ça. Donc, dans le fond, c'est dans le bas du bâton, la partie où tu reçois la rondelle.
Okay.
Ça, c'est l'autre terme en français ici pour palais, c'est rondelle. Oui. Ça, on appelle ça une palette. C'est comme le bout qui touche du bâton qui touche la glace. Et dans le fond, en québécois, en fait, quand on fait une belle passe, on dit « drette sur le tape » ou « fais-moi, envoie-moi la drette sur le tape », c'est-à-dire « envoie-moi la rondelle », tu sais, où t'es supposé, là. Ça veut dire.
Okay,
ouais. Ou si quelqu'un fait une belle passe, on va dire, waouh, il a envoyé Drette sur le tape. Drette étant, encore une fois, vous avez compris qu'au Québec, c'est beaucoup des contractions. Donc, Drette, ça vient de droit, Drette. Mais en fait, c'est directement. Si je devais traduire, c'est directement sur la palette. Donc, directement, directement sur le tape, sur la palette. On a perdu des gens il y a 10 minutes. Mais ça pour dire, c'est que c'était le jeu de mots entre ruban étant le tape de hockey et le tape, as in tape recorder, comme l'enregistreuse. Okay. Donc, c'était un peu d'où le logo. Je sais pas si tu as vu le logo, mais c'est comme une cassette dont le ruban du bâton va dans la cassette.
Okay,
ce qui est là, on voit vraiment le lien entre les deux. Donc,
j'avais que un des deux sens.
Ouais, voilà.
Clairement parce que mes connaissances en hockey sont nulles.
En l'expliquant moi-même, je commençais à trouver ça long.
Ton premier épisode, il est sorti en novembre 2016.
Ouais.
Tu en es à l'épisode 170.
Wow.
170 pour la Belgique.
Ouais.
J'essaie de m'habituer avec les chiffres. Et dans ce podcast, toi, tu reçois des invités qui sont issus de près ou de loin du milieu du hockey. Tu les reçois dans des longues interviews, un peu comme je fais ici, mais moi, avec des humoristes. Donc, tu es l'humeur humoristique pour le hockey.
Ouais, ben honnêtement, ça se voulait pas tant. Quand j'ai commencé, j'avais même pas particulièrement d'ambition humoristique. C'était vraiment comme le côté fan de hockey que je suis, qui trouvait qu'il y avait pas vraiment de... Le marché offrait pas... Mais les podcasts commençaient aussi au Québec. On était un peu en retard de ce côté-là. J'ai fait le podcast que j'avais envie d'entendre. Je me disais, il n'y a pas de podcast de hockey. J'ai un fan de hockey. Il y en avait très peu. Il n'y en avait pas dans le style. Puis moi, j'ai jumelé, dans le fond, deux trucs que j'aimais, c'est-à-dire la longue entrevue que j'aimais aussi exercer parce que c'est une autre préparation. Tu le fais en ce moment. C'est dans l'écoute, c'est dans les préparations d'entrevue. Et le côté hockey, c'est ça qui a mené à la création du podcast en 2016. Déjà. Ça fait déjà septième saison, je pense, en ce moment. Donc.
T'as reçu des entraîneurs, des joueurs, des coachs. coachs, exact. Des agents de joueurs, des acteurs qui ont joué dans des films qui, qui traitaient de hockey.
C'est vraiment un point de départ, le hockey, ultimement, pour recevoir des gens intéressants. Parce que moi, je voulais pas que non plus mon podcast soit nécessairement juste pour les fans de hockey ou les fans un peu geeks. Je voulais que ça soit « Ah, je connaissais pas telle personne que tu as reçue. C'est, ah, c'était une Olympienne. Ah, c'était la première personne ouvertement gay dans le hockey professionnel. Ah, c'était un commentateur. Ah, c'est un acteur. Ah, c'est... » C'était pas juste recevoir nécessairement des joueurs ou des... Évidemment, il y en a, mais je veux dire, c'était un peu plus de m'intéresser à des gens qui ont des parcours extrêmement intéressants. Puis dans la couverture du hockey, c'est assez conservateur. Tu sais, on parle beaucoup de statistiques, on parle beaucoup de un peu des lignes ouvertes, tout ça, mais il n'y avait pas beaucoup d'entrevues de fond. Puis les jeunes, les joueurs, puis les, pas juste les joueurs, les gens du milieu de hockey, il y a tellement d'histoires intéressantes que je voulais un peu mettre la lumière là-dessus.
Mais moi, j'ai écouté le premier épisode et en effet, même si je ne connais absolument rien au hockey, j'ai quand même pu l'écouter.
Ah, c'était-tu Pascal Leclerc, ça?
Je ne sais plus le nom.
Ça
fait déjà un moment, là.
Il y a des épisodes plus nichés que d'autres. Oui. Souvent, je l'avertis, je dis, bon, gars, on fait un épisode sur le repêchage, on fait un épisode sur les championnats du monde d'hockey junior, on s'en va. Très précis.
J'en ai écouté un avec Charles Pellerin. Voilà. Et là, j'ai lâché complètement.
Non, c'est ça. C'est impossible. C'est insupportable. C'est comme aller voir un show sur Lord of the Rings, si tu sais pas. C'est ça. Si t'as pas vu les films.
Mais grâce à ce podcast, t'as rencontré énormément de gens dans le milieu, mais t'as aussi rencontré ton idole d'enfance, oui. Peter Forsberg.
Exactement.
Est-ce que t'as toujours autant de plaisir à faire ce podcast, même quand tu ne rencontres pas une idole?
Ouais, honnêtement, je vais t'avouer, le temps a passé quand même vite, là, de réaliser que je suis à la 7e saison. Des fois, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce... On dirait que les 5 premières ont passé en un instant. Oui, j'ai encore du plaisir pour vrai. Puis je me suis promis que, sincèrement, si un jour j'avais plus de plaisir ou ça devenait trop fastidieux ou peu importe, j'arrêterais avant de commencer à plus avoir de plaisir. Parce qu'ultimement, c'est pas quelque chose qui me rapporte vraiment de l'argent. C'est vraiment un projet de passion que j'ai commencé un peu à côté de l'humour. Puis l'humour, évidemment, ma carrière a avancé depuis que j'ai commencé le podcast. Donc, quand tu commences, tu as beaucoup de temps. Là, j'en ai un peu moins. Donc, non, j'ai encore beaucoup de plaisir. Puis, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je vais arriver au bout? Est-ce que je vais encore avoir des invités potentiels ou je vais avoir fait toutes les personnes que je peux possiblement recevoir? Mais il y a tout le temps des nouveaux... Alors, qui évolue, il y a des nouveaux personnages, il y a des nouvelles histoires. Donc, non, à date, je suis surpris moi-même de pas être rendu. Mais c'est sûr que Peter Forsberg, c'était particulier, tu sais, d'aller en Suède. Il y avait comme toute une campagne de financement derrière ça. Bref, c'était un projet un peu fou. Puis c'était la 2e saison, donc ça a beaucoup aidé à faire connaître le podcast. Donc là, pour ça l'a amené au fanbase. Puis, tu sais, il y a des gens, souvent, on a des gens qui nous écoutent en France ou en Belgique. Tu sais, j'ai beaucoup de gens de la francophonie qui m'écoute aussi. Le podcast, ça l'a beaucoup aidé à faire rayonner. Donc, non, honnêtement, j'ai encore beaucoup de plaisir à recevoir les gens.
Super chouette. Mais moi, en suivant un petit peu les interviews, j'ai entendu quand tu parlais d'avoir rencontré ton idole, je trouvais ça j'étais trop content pour toi, alors
ouais,
que je
cool.
ne sais pas du tout c'est qui. Et tu lui as montré un livre qui est le premier livre que tu as reçu, qui est un livre jeunesse sur lui, en français. Il a tellement se demander quoi en voyant ça.
Ah ouais, ça c'était... Écoute, à Montréal, il y a un truc qui s'appelle le Salon du Livre, qui est une fois par année. Puis souvent, les écoles vont là en sortie scolaire. Puis on est allé en sortie scolaire. Puis je devais avoir 6, 7, peut-être 8 ans. Puis j'avais acheté ce livre-là, qui était une biographie de Peter Forsberg. Puis je lui ai dit là-bas, hey, en passant, c'est à cause de... J'ai ce livre-là. Puis là, je voyais sa face qui était comme... Un livre qu'il avait jamais vu de sa vie, tu sais, il y a tellement de trucs qui sont faits sur toi quand t'es à ce niveau-là, tu sais, public. Ah, mon Dieu, un livre en France. Tu sais, c'est comme si moi, c'est comme si un joueur, mettons, québécois, un Suédois lui montrait un livre en suédois, ça, il serait comme, waouh, comme, quoi, tu sais. Mais c'était quand même touchant, tu sais, puis là, je suis en train de faire un ménage, là, comme ça paraît pas en ce moment. Puis j'ai retrouvé un cadre qu'il avait signé pour moi, que je fais, ah, mon Dieu, il faut que je le mette dans mon bureau, mais... Non, il était vraiment touché, puis il était vraiment juste qu'il accepte de nous recevoir, il aurait vraiment pu dire non, puis mais non, il avait accepté, puis il l'a fait avec générosité dans le fond, puis c'est un peu comme toi, c'est lui qui m'a accueilli dans ses bureaux, puis j'ai amené mes trucs, puis on a fait l'enregistrement dans ses bureaux, donc non, c'était particulier, chouette à tout le monde de rencontrer.
Moi aussi, c'est un peu le même principe avec le podcast. Moi, je voulais parler aux humoristes que j'adore et je voulais avoir les infos qui me manquaient. Je me suis dit, je vais le faire.
C'est qui ton Peter Forsberg? C'est qui l'invité que tu aimerais le plus recevoir?
Oh là là, c'est dur. Franchement, celui que j'essaie d'avoir le plus, c'est Roman Frécinet.
Ouais.
J'essaie tellement de l'avoir. Parce que je pense pas qu'il ait déjà fait une blague qui m'ait pas fait rire. Ce qui est très fort.
Ce qui est pas peu dire.
Mais oui, c'est celui que j'essaie le plus, mais j'en ai eu plein que je rêvais d'avoir, genre... Kian Kojandi,
T'as eu Kian?
J'ai eu Kian. Wow. Yacine Bellous, c'était, je crois, un des premiers humoristes que j'ai découvert qui m'a fait aimer l'humour et me donner envie d'en faire. Pendant longtemps, j'aurais aimé avoir Gad Elmaleh. Maintenant, ouais. Je suis moins chaud.
Ouais.
Même si ça serait intéressant de lui en parler, mais ouais. Je voudrais, si je peux lui en parler, faudrait lui parler de Copy Comique. Je voudrais pas une interview où on n'en parle pas.
Ça serait trop malaisant de.
C'est ça. Je me dirais, pour un fan d'humour, ce serait éviter la question.
Ouais. La question. L'éléphant dans la pièce.
C'est ça.
Ah ouais. Mais Roman, je te le souhaite, Roman, qui est passé par.
Par l'École nationale.
Ouais, puis qui était à l'Abreuvoir des années à l'animation, puis qui, je suis tellement content de voir son succès. Moi, mes parents habitaient à Paris, mes parents sont allés voir son spectacle. Je suis vraiment, vraiment content de ce qui lui arrive, puis c'est mérité.
Mais moi, je suis allé voir son spectacle aussi au Cirque Royal en Belgique, et je pleurais de rire, quoi, c'est incroyable.
Il sort un nouveau spectacle d'ailleurs, si
j'ai... Il sort un nouveau, ouais. Je ne sais plus le titre, mais oui, c'est en tournée maintenant, je pense.
Wow.
Mais oui, c'est...
J'ai hâte de voir.
Moi aussi. Mais je pense... Allez, si je voulais dire au Québec, il y avait Mike Ward.
Bah oui.
Que j'ai déjà beaucoup essayé, mais je pense que j'ai une réponse de Michel qui m'a dit non.
Je pense qu'il est côté podcast, il en fait déjà tellement, je pense. Mais là, peut-être un jour, Mike est assez sympathique. Il dit oui à beaucoup de... Il a beaucoup redonné à la relève, beaucoup, Mike. Oui. Donc, je serais pas étonné s'il faisait au jeu aussi. Donc,
Mais je vais continuer à essayer. Michel va continuer à recevoir des emails de moi. Mais il me répond toujours gentiment. Il m'a pas juste dit non.
Non,
hein.
C'est ça.
C'est juste, clairement, il fait beaucoup de podcasts et il en fait de gens qu'il connaît quand il en fait.
Il doit avoir aussi un nombre de demandes un peu interminable, j'imagine. Mais oui, je comprends, Mike. C'est un gros nom ici.
C'est ça. Mais je suis allé voir son spectacle qui était aussi incroyable, Noir.
Ouais.
Moi, j'ai fait beaucoup de spectacles ici depuis que je suis au Québec. Ouais. Je profite.
Oui, je comprends. Tu t'immerses.
Ben, c'est ça. Mais parce que quand je suis en Belgique, je peux en parler à personne. Ouais, en fait. C'est généralement, c'est une passion un peu trop nichée en Belgique de parler d'humoristes québécois. Et donc souvent, quand il y avait moi, j'ai fait pas mal d'impro. Et donc, quand il y avait les Québécois qui venaient pour des tournois d'impro, je leur parlais d'humoristes qu'ils ne connaissaient pas.
Ah ouais, au Québec même.
Parce que c'était pas les plus gros noms. Par exemple, je leur parlais... À l'époque, c'était genre en 2005, je leur parlais de Stéphane Fallu, je leur parlais de Yannick Demartino. Ils étaient là, je connais pas beaucoup stand-up. Et il me fait, mais de qui tu me parles?
Surtout, il y a peut-être les improvisateurs, il y a un peu une rivalité des fois improvisateurs-humoristes, donc peut-être qu'ils connaissaient moins. Mais c'est qui t'a fait avoir la piqûre pour l'humour au Québec?
Ben, c'est Stéphane Fallu. Ah. C'est ça qui est marrant. C'était je lui ai dit, parce que je l'ai reçu dans le podcast. C'est un extrait Juste pour rire, et moi je connaissais même pas le festival Juste pour rire parce que c'était il y a vraiment longtemps, et donc j'ai adoré. C'est vraiment un passage, c'est même pas lui qui l'a mis sur YouTube, c'est un, tu sais, quand on reprend un extrait, quelqu'un l'a remis sur YouTube. Je suis tombé dessus, j'ai adoré son sketch, je me suis dit c'est quoi le festival Juste pour rire. J'ai regardé toutes les vidéos de Juste pour rire qui existent et j'ai adoré. J'ai trouvé tel humoriste, tel truc. J'ai regardé le premier épisode de Sous Écoute qu'ils avaient fait en live, il avait fait sur Skype, je pense. Ouais. C'était Stéphane Fallu, le premier invité, avec je ne sais plus qui le deuxième. Et du coup, j'ai découvert Mike Ward via Stéphane Fallu.
Ouais, ok, je comprends.
Et après, tout le reste.
Waouh, c'est drôle, je pense que la première fois que j'entends comme. Tu sais, genre un Belge qui s'intéresse à l'humour québécois, c'était qui ta porte d'entrée? C'était vraiment Stéphane Fallu.
Mais là, j'ai une petite confession à te faire, c'est que je n'ai jamais vu de match de hockey. Parce qu'on parlait de hockey avec ton podcast.
C'est vraiment... T'as pas à être gêné de ça, mais ce qui est drôle en plus, c'est que tu m'as dit que t'habitais non loin du Centre Bell.
C'est ça. Je peux aller à pied en moins de 10 minutes au Centre Bell. Mais je vais voir mon premier match jeudi.
Wow!
Je vais voir les Canadiens contre Detroit.
Ah oui, les Red Wings. Ouais. Wow, les Red Wings. C'est juste que tu sois au courant, c'est une année de misère hein, pour les Canadiens. Est-ce que t'étais au courant?
Non.
OK. C'est une année de grand calvaire de reconstruction, donc... Je fais juste te dire pour que tu sois averti, peut-être, pour que tu aies des attentes. mettons, on y va, les joueurs étoiles, cette semaine, le joueur étoile Cole Caulfield, on a appris qu'il était blessé pour le reste de la saison. Donc, je voulais juste, tu sais, que modérer tes attentes pour une première expérience. Okay. Mais ça va être quand même le fun parce que c'est toute une expérience d'être au Centre Bell, tu sais, qui est une expérience très différente aussi du foot, là. À chaque fois que j'ai amené j'ai amené Thomas Wiesel au Centre Bell, mm-hmm. puis il était très surpris à quel point, pendant le match, c'est tranquille, tu sais, c'est très silencieux,
ah ouais?
Alors qu'on s'attend à ce qu'il y ait des chants, tout ça. En Suisse, par exemple, dans la Ligue Suisse, c'est un peu ça, tu sais, c'est très vivant, mais c'est très corporate, au Centre Bell, tu sais, c'est très, il y a un côté très, en haut, c'est un peu plus bruyant que dans le bas, mais, puis les fans aussi sont pas séparés comme, les fans des équipes sont mélangés. Okay,
oui.
Ce qui surprend, c'est souvent les Européens.
Oui, vraiment, oui.
Donc, tout ça pour dire, en tout cas, bref, s'ils perdent 6-0, je veux pas que tu sois comme.
OK.
Mais en même temps, je te souhaite un super match, là, depuis que le dernier match, il y a tellement de jeunes nouveaux qui ont faim que ça donne des matchs excitants. Donc, je te souhaite une belle expérience quand même.
OK. On dirait moi qui parle de l'équipe de Belgique pendant la dernière Coupe du Monde.
Mais ici aussi, à Montréal, on a une équipe de foot qui s'appelle l'Impact, qui s'appelle FC Montréal. Et une des grosses vedettes pendant longtemps, ça a été Laurent Simon, qui est belge, donc qui a fini par être échangé, mais qui était quand même un des gros joueurs.
Et qui, en sélection belge, a joué pas beaucoup. Il a peut-être fait 5 ou 6 matchs avec la sélection belge.
Au total, tu veux dire, en carrière?
Ouais.
Okay.
Enfin, dans toute la carrière, peut-être plus, mais c'est vraiment pas un titulaire, quoi.
Non, c'est ça, mais ici, c'était méga star.
C'est ça. Mais alors, le hockey, c'est ton premier amour. Après, il y a, bien sûr, l'humour. Il y a également la musique qui a une place vraiment importante dans ta vie. Je me dois te poser la question. Si tu devais faire un choix entre l'humour, la musique et le hockey, tu ne peux plus qu'en garder qu'un. Petit choix impossible de début de podcast.
Ouais, c'est ça. Le plus, c'est que j'ai réussi un peu à les jumeler tous à ma vie actuelle, tu sais, parce que le podcast touche au hockey, l'humour, c'est vraiment la première, tu sais, c'est vraiment le focus premier. Puis j'ai vraiment intégré la musique à l'humour, tu sais, t'as vu mon spectacle. Ouais. Plusieurs personnes, en fait, me connaissent même des fois seulement de chansons qu'ils ont vues sur Internet ou des trucs comme ça, donc...
T'as même fait des capsules humoristiques pour des équipes de hockey, donc t'as vraiment réussi à la tout jumeler.
Ouais, absolument. Tu faisais-tu référence
à l'équipe de Laval?
Oui, c'est vrai. C'est
humoristique pour les Rockets.
Ouais, les Rockets, exact. Ouais, parce que je me demandais.
Je connais plus ta biographie
oui,
que toi.
Oui, non, c'est parce qu'en fait, c'est que je pensais à. C'est ça, c'était c'est vrai, des capsules. Parce que vu qu'on parlait de chansons, j'avais aidé Pierre-Yves pour une toune qu'il avait fait pour les Canadiens.
Oui.
Donc là, je me suis dit, attends, est-ce qu'il fait référence à ça? Ouais, non, mais c'est ça, le Rocket. Mais, oui, absolument. Donc j'aime la manière dont j'ai réussi à jumeler en dosage. Approprié, qu'est-ce que mes passions. Mais c'est sûr que l'humour, pour moi, trône, je pense, quand même. Mais je trouve ça sain aussi d'avoir plusieurs choses, d'équilibrer. Tu sais, aussi le cinéma, l'écriture, la scénarisation prend beaucoup de place ces temps-ci. Puis c'est quelque chose aussi qui est plus venu à partir de la fin de l'adolescence. Tout ça. Donc j'aime, tu sais, hockey, c'est vraiment enfance, c'est resté, c'est encore là. Mais pour moi, c'est l'humour. Puis je trouve que l'humour aussi me permet de... Justement, d'intégrer, tu sais, la musique, moi, je ferais jamais des albums, mettons, dits sérieux, ou j'ai pas l'ambition de faire des chansons dans ce sens-là, mais j'aime l'intégrer à l'humour, comme, parce que j'aimais beaucoup en grandissant, tu sais, les Flight of the Conchords ou Lonely Island ou des trucs comme ça, François Pérusse. Donc, mais pour moi, la maison mère reste l'humour, donc, voilà.
Okay. Ben voilà. C'était pas un choix si difficile que ça, je pensais que tu allais.
Ah non, mais je suis complètement déchiré de l'intérieur, j'ai des saignements internes en ce moment, mais je veux dire. Je garde la face.
Mais on va parler du coup principalement humour dans le podcast, même complètement que d'humour. Parce que pour le coup, moi, je sais pas si c'est très sain, mais j'ai quasiment plus que l'humour. J'ai eu beaucoup le crossfit pendant longtemps. Là, je suis blessé au coude, donc j'ai dû arrêter. Donc
comme tous les gens qui font du crossfit finissent par se blesser.
Mais c'est pas en faisant du crossfit.
Ah, en plus.
C'est en faisant du trampoline.
Ah, mon Dieu.
Eh oui. Un bel accident.
Un autre...
un autre sport dangereux.
Ouais, exactement. Où il y a tout le temps un enfant qui se casse un bras. Ça.
J'en ai fait un sketch. Je vais essayer d'en faire quelque chose de drôle à un moment donné. Je vais oublier que ça me rend super triste de devoir arrêter. Mais voilà, on va parler principalement d'humour parce que fin novembre, j'ai eu la chance de voir ton spectacle qui s'appelle Essai Erreur. Mm-hmm. Un spectacle dans lequel tu parles à la fois d'Hitler, de Céline Dion, de comédie musicale, de James Bond. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le spectacle. Je te l'ai dit à la fin du spectacle. Il m'a fait du bien parce qu'en plus, je l'ai vu à un moment compliqué. Donc, ça m'a vraiment fait du bien d'aller le voir. Et j'adore, moi, il y a beaucoup de changements de rythme dans le spectacle. Il y a même des changements de style. Il y a des moments, c'est plus absurde, des moments, c'est plus noir. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de faire consciemment, qu'il y ait des changements de rythme, des changements de style d'humour, ou c'est juste ça vient comme ça?
Merci beaucoup. on s'est croisés là la première fois au bordel. Ça me touche beaucoup parce que on fait ça, on essaie des blagues, hein, puis ça marche pas souvent. Puis on se demande pourquoi. Puis le fait que ça te fait du bien, puis que ça t'a aidé. Des fois, ah oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est ça notre rôle. Donc merci, je le prends sincèrement. Par rapport au changement, oui, ben en fait, c'est. ça a commencé inconsciemment, mais c'est devenu plus conscient dans le sens qu'au début, c'était très... Tu sais, ultimement, j'essaie juste de trouver qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce que je, qui me fait rire, donc qu'est-ce que je suis profondément. Puis, tu sais, dans la vie de tous les jours, ça, puis, tu sais, avec mes amis, tout ça, moi, c'est le côté absurde et humour noir, c'est ça que je suis, je pense, au plus profond, puis qui me fait rire. Donc, je voulais juste être le plus moi-même. Tu sais, en ce moment, on parle, je regarde le tableau de Liège à côté de nous, là, sur lequel il y a des cartons avec les numéros, quoi. Identifier du spectacle pour me rappeler des numéros, mais... À un moment donné, au début, c'est ça, c'était juste que, je pense, au fil du temps, à force d'écrire des numéros, à un moment donné, c'est là que tu commences à voir un peu les tendances, puis à voir ton style plus clairement. Comme, ah, OK, j'identifie plus des notions comme la portion d'humour noir, la portion absurde, la portion stand-up, la portion personnage, la portion musique. Donc, les formes, autant dans les formes que je viens de nommer ou dans le fond, ça commence à se clarifier. Puis à partir de là, tu peux commencer à faire, comme on appelle en français, un pacing, c'est-à-dire un peu créer un rythme ou autour d'un spectacle, tu sais, dans le sens que là, tu as vu mon spectacle aussi en une heure, donc là, j'ai le temps d'aller dans les différentes palettes, mais quand on fait des 6 minutes, 7 minutes, c'est rare qu'on ait le temps de changer aussi souvent de tal, si on veut. Fait en faisant le spectacle d'une heure, ça aussi, c'est des trucs qu'un spectacle d'une heure te permet de faire, de dire, ah, à un moment donné, ça va. Parce que tu peux pas être appuyé sur le même bouton pendant une heure, tu sais. Mm-hmm. Peu importe c'est quoi ton style du mot, même si tu fais que du stand-up, mettons, d'observation, tu vas devoir nuancer, balancer. C'est ce que j'aime, en fait, comme spectateur aussi. J'aime ça qu'il y ait des ruptures de ton. J'aime ça. Tu sais, c'est des trucs qui, moi, me parlent. Donc,
c'est plus surprenant aussi.
Exact. Tu sais, l'humour est beaucoup dans la surprise. Puis les gens, tu sais, qui viennent voir un spectacle d'humour, qui en a vu beaucoup, qui en a pas vu beaucoup, il y a quand même une intelligence du spectateur qui, quand tu fais tout le temps la même chose, même s'il connaît pas ça, il sait où tu t'en vas avec ça, donc il sera pas surpris, tu sais. Même s'il connaît pas le nom du mécanisme humoristique, comme un rieur aveugle ou peu importe, quel est le mécanisme, à un moment donné, il fait, ah, OK, je commence à avoir des patterns, puis je pense que dans un show d'humour, tu veux garder les gens toujours un peu sur leurs pieds. Ah, mon Dieu, il fait ça, mon Dieu. Tu sais, ah, une chanson, OK, hop, un stand, voyons, tu peux jamais, tu sais, ultimement, faut juste que ça soit intéressant, puis je pense que la pire chose qui peut arriver, c'est que ça soit plate, tu sais, que ça soit ennuyant. Donc, j'essaie juste de garder ça vivant. Puis les éléments, je trouve, de mon spectacle que tu as nommé sont un peu les différents éléments, je trouve, qui me représentent puis qui incarnent ce que je suis. Donc oui, j'aime jouer avec le rythme dans un spectacle. Puis ça, c'est le fun. Un show d'une heure donc, que je te souhaite de faire un jour permet vraiment de faire des trucs que tu n'es même pas conscient qu'ils peuvent être faits quand tu fais juste des numéros de 8-10 minutes parce que là, tu fais « Ah, OK, je peux vraiment construire un tableau complet et non pas seulement une parcelle. » Donc, bref, c'est une réponse très longue, mais...
Non, c'est bien, c'est très bien.
c'est la meilleure manière de dire que là, c'est que tu construis un puzzle au complet. Donc là, tu as beaucoup plus une conscience de l'image globale, alors que quand tu es en numéro, tu travailles seulement en numéro, mais là, tu regardes une chose à la fois. Donc, bref, voilà.
Mais j'ai eu l'occasion une fois de jouer à un spectacle d'une heure et quart, mais justement, nice. C'était trop sur le même ton.
Mm.
Et donc, moi, après l'avoir fait, je me suis dit, ouais, c'est vraiment pas assez bon.
Tu l'as senti.
J'ai senti, je me suis dit, bah, les gens étaient gentils parce que la majorité des gens dans le public étaient des gens qui me connaissaient, donc ils ont apprécié le spectacle. Mais moi, je me suis dit, ok, c'est vraiment pas assez bon pour en faire quelque chose. Je pourrais pas tourner avec ça, je pourrais pas essayer de le vendre à quelque chose, à quelqu'un, parce que j'y crois pas assez. Je veux dire, je voyais que c'était trop toujours sur le même ton et qu'on ça se lassait à certains moments.
Tu l'avais fait combien de fois, ce spectacle-là?
Je l'ai fait deux fois seulement.
C'est ça. Parce que aussi, c'est que tout ça, tu sais, on le fait une fois ou on le commence, mais tout ça aussi nécessite tellement de travail, de répétition, d'enlever des blocs, d'en rajouter des nouveaux. Tu sais, là, t'as vu le spectacle en novembre, puis je le refais je l'ai refait depuis, mais je vais le refaire, mettons, en avril, en mai. Tu sais, j'espère qu'il va avoir changé, j'espère qu'il va y avoir des nouveaux numéros qui vont en avoir, qui sont sortis, donc c'est quand même aussi un truc qui se travaille, tu sais, le spectacle que t'as fait, tu peux le modifier, tu peux changer des trucs aussi, puis tout ça est...
Mais il y a des choses que j'ai gardées, mais je voyais qu'il y avait des choses beaucoup plus fortes que d'autres, en fait, aussi. C'était un peu sur le même ton, mais c'était pas assez... au même niveau, quoi. Il y avait 100%. Des vraiment bonnes vannes, je pense. Les gens riaient fort. Et d'autres vannes où c'est gentil. C'est pas mal. C'est sympa.
Mais c'est ça qui est le fun aussi d'un spectacle comme ça, c'est que quand tu fais une longue durée, c'est excessivement honnête parce que ça te force à constater qu'est-ce qui est plus fort, qu'est-ce qui l'est moins, tu sais. Puis des fois, tu joues pas le spectacle à un moment, puis là, tu reviens, puis tu le fais, puis instantanément, tu fais « Ah oui, c'est vrai ». Ça, c'est pas assez fort. Puis souvent, quand t'as pris une pause, t'es un peu plus détaché du matériel. Mm-hmm. Donc, tu peux prendre des décisions plus détachées. Bon, ce numéro-là, il fonctionne moins. C'est juste un fait.
Ouais.
Il est pas assez bon.
T'arrives à faire ton deuil dans un sketch en disant...
Exact. Il faut,
j'ai arrêté de le faire.
Je dois soit l'améliorer, soit le couper complètement, ou peut-être qu'est-ce que je peux récupérer de ça. Mais force est d'admettre, des fois, OK, ça c'est là, puis tu le sens parce que ça t'emmerde, parce que quand tu fais le spectacle, tu dis OK, j'ai les gens, et là tu sais que le numéro s'en vient, que t'aimes moins, ou qui fonctionne moins, puis là tu le fais, puis tu te dis merde, parce que là après ça, il faut que je les ramène au niveau où je les avais amenés. Mais des fois aussi, c'est correct de. Parce que je veux juste balancer mon propos en disant que des fois, tu peux aimer un numéro énormément, il ne fonctionne pas encore. Mm-hmm. Mais c'est correct des fois aussi de le travailler pour l'amener.
De croire en ton.
Exact. Parce que souvent, les trucs qui vont fonctionner instantanément, des fois, sont plus banals ou un peu. Tu sais, reposent des fois sur des trucs un peu plus déjà vus. Inconsciemment, évidemment, pas de manière consciente, mais souvent, quand il y a un numéro qui marche pas tout de suite, c'est parce qu'il y a comme une énigme qui a une valeur un peu supérieure qui vaut la peine d'être résolue. T'sais. Donc, c'est comme, hey, regarde, ce numéro-là, il te parle, il y a une raison pour laquelle tu veux faire, va au bout de ça, puis souvent, ça donne, ça, si tu trouves, ça donne les meilleurs numéros parce que là, des fois, t'as mis le travail, puis t'as fait l'effort de faire, ah non, ce numéro-là, il vaut la peine que j'aille au bout. Donc, c'est pas juste d'abandonner ou n'importe quoi. Là,
mais en plus, c'est assez valorisant quand tu fais un sketch qui ne marche pas. Et que tu te dis, mais je sais que c'est drôle quelque part, que t'arrives à le changer, tu le refais, ils font, mais ce sketch est incroyable, mais ça a bidé les 18 fois d'avant.
Ouais.
C'est assez valorisant quand t'arrives à faire ça, mais il y a aussi des sketchs où il faut que tu abandonnes
un moment. Ouais,
c'est dur de faire le choix, des fois.
C'est statistique, hein. Wayne Gretzky, pour te citer une autre citation de hockey, disait, c'est parce que ça a été repris.
C'est le seul nom de hockey que je connais.
Le Michael Jordan du hockey. Mais comme il disait, ça a été repris dans The Office, mais tu rates 100% des tirs que tu ne prends pas, puis l'humour, puis c'est vraiment une question de quantité, tu sais, je veux dire, tu peux pas te dire, OK, moi, je vais réfléchir à des blagues, puis je vais seulement écrire les meilleurs, et puis non, c'est vraiment de la pratique, il faut que tu en écrives beaucoup pour en avoir des meilleurs. Donc, on peut pas vraiment passer à côté, tu sais, de la pratique. Il faut l'essayer, il faut en faire, donc c'est normal de dire, il y en a qui vont rater le but, il y en a qui vont pas fonctionner. Ces blagues-là devaient exister pour que je puisse écrire les meilleures. Tu sais. Faut mettre les heures pour. Il n'y a pas de secret.
Il n'y a pas de secret. Mais tu disais que le spectacle il était encore en rodage. Qu'est-ce que tu veux encore améliorer à ce spectacle? Parce que moi, dans l'état, je l'ai trouvé très bon.
C'est gentil. Non, c'est gentil. Je pense en fait qu'il y a encore beaucoup d'éléments que je veux apporter au spectacle qui ne sont pas nécessairement encore en place, dépendamment des... tu vois, comme tu as vu mon spectacle au Bordel. Mm-hmm. Puis moi, il y a des numéros musicaux. Dans le fond, le Bordel, moi, j'étais dans les premiers... En fait, non, j'étais le premier spectacle qui acceptait de faire qu'il y avait des cues musicales. Mm-hmm. Donc, tu vois, déjà, d'habitude, le Bordel, c'est que stand-up. C'est bon, là, tu vois, j'avais la guitare, mais les options... tu vois, c'est vraiment un comedy club, le Bordel. Donc, c'est vraiment fait pour le stand-up. Donc, la scène est très petite. Le système de son est pas nécessairement fait pour faire des trucs musicaux. Donc, il y a des idées de numéros un petit peu plus complexes musicalement que j'aimerais faire dans le spectacle. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas encore à ce stade-ci. Mais il y a encore des blocs de la fondation qui manquent, à mon sens. Puis, il y a une espèce de d'enrobage aussi général de la direction du spectacle. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments au puzzle qui sont là, mais je pense que j'ai pas encore l'image finale complètement. Puis, en ce moment, j'ai des nouveaux numéros aussi qui sont en travail, que j'ai pas eu le temps d'intégrer au spectacle, parce que c'est que le spectacle aussi, des fois, tu te dis, ah, je vais avoir le temps de faire ça, mais il y a tous les autres trucs du métier qui rentrent, tu vas jouer des rôles, tu fais des auditions, tu dois faire des spectacles de rodage, tu as mon podcast. Donc, souvent, le temps, des fois, commence à manquer. Donc, là, j'ai pris du temps un peu en ce moment, après les fêtes, pour retourner dans l'écriture, le matériel, pour intégrer des nouveaux. Mais j'aimerais ça que, autant dans le fond, c'est-à-dire les numéros, tout ça, et la forme, ce qui serait peut-être un peu de mise en scène, un peu de scénographie, il y a encore des trucs qui je pense, nécessitent du travail. Je pense que... Puis, encore une fois, comme j'ai dit, plus t'écris de matériel, plus t'as l'embarras du choisir pour dire « Non, mais on veut vraiment le meilleur du meilleur de ce que je peux produire. » Donc, c'est vraiment gentil, je pense, le spectacle. Je pense qu'il y a des éléments desquels je suis quand même encore... je suis très content, mais il y en a d'autres que je sais « Ah, OK, ça peut encore être peaufiné. » Donc, non. C'est sûr que c'est... Quand c'est ton spectacle, tu vois que les défauts, là. Mm-hmm. Donc, c'est un peu plus. Mais bref, donc, oui, il reste encore des trucs.
Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je fixe le spectacle et je n'y touche plus à un certain moment ou.
Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, en ce moment, le spectacle, c'est. Le titre provisoire, c'est Essai-erreur, qui est vraiment un titre de rodage. Donc, c'est vraiment. Parce que dans le fond aussi, c'est que le spectacle. est en, tu sais, on dit rodage, puis on pourrait même qualifier de pré-rodage, parce que souvent le rodage est suivi d'une date de sortie officielle. Mm-hmm. Donc c'est comme, OK, en ce moment il est en rodage, le show sort telle date, donc voilà. Mais là, en ce moment, tu vois, j'ai même pas de date de sortie officielle. Mm-hmm. Donc c'est comme si je travaille en amont, donc je suis en train de regarder justement pour ça serait quand que je sortirais officiellement le spectacle. Donc non, c'est ça, pour moi, en ce moment, c'est complètement dans le travail, dans l'essai-erreur. Donc non, le spectacle est loin d'être fixe à ce stade-ci, ouais.
Mais ce spectacle, tu vas le jouer le 17 mars au Théâtre Sainte-Catherine, ouais, à Montréal, et le 19 mai à Longueuil.
Exact.
Allez le voir, parce que même s'il n'est pas encore fixé, il est très bon. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup ri. Dans le spectacle, il y a beaucoup de moments musicaux, avec des chansons plus courtes, d'autres avec des chansons plus longues, comme Un bon coup avec de la glace, ouais, que moi, j'ai chanté avec toi pendant le spectacle, parce que j'adore cette chanson. Et tu as un don pour faire des chansons qui restent dans la tête, parce que je pense que je ne peux plus entendre un gâteau aux bananes sans t'entendre dans ma tête pendant 3 jours. D'ailleurs, je l'ai chanté au travail toute la journée, donc les gens me détestent. Parce que
mais ça tombe bien, je travaille aux premières moissons, donc ça, c'est de ces circonstances.
C'est ça. Mais j'ai dit, ah si, je vais enregistrer un podcast avec David Bocage. Ah oui, c'est lequel David Bocage? Il a fait des chansons. Tu veux goûter mon pain aux bananes? Et les gens disaient là, non, je vois pas cette chanson-là.
Veux-tu goûter à mon pain aux bananes? Veux-tu goûter à mon pain aux bananes? Veux-tu goûter à mon pain aux bananes? Veux-tu goûter à mon pain aux bananes?
Mais après, BFF à distance, là, ils avaient la ref.
Ah ouais?
Et enfin, ah oui, je vois. Mais à force que je l'ai chanté 300 fois, je pense que maintenant, ils l'ont en tête.
Ah mon Dieu. C'est mon héritage dans ce bon monde, des verres d'oreille qui finissent par user. Mais non, mais c'est drôle en plus parce que là, on est chez nous, puis c'est le pain aux bananes, je viens d'avoir un flash, c'est dans la cuisine ici que c'est né. Que je pense, là, si je me souviens bien, parce que ça, c'était la pub de mon spectacle Zoufès de ma première heure, 2017 peut-être. Puis je pense que j'avais sorti un peu aux bananes du four, puis je pense que je m'étais mis à chanter ça. Comme. Puis je me suis dit, comme, oh, c'est bien catchy, il y avait un côté jingle. De... Mm-hmm. Donc je pense que j'ai comme tout de suite pris mon cellulaire, mes mots vocaux, puis j'ai enregistré, puis après ça, j'ai été infecter le reste des gens, pas rien que ça. Donc, mais ça me fait rire que tu chantais ça aux premières moissons.
Mais comment on écrit une chanson humoristique par rapport à une joke de stand-up plus classique? Parce que moi, j'ai jamais écrit de chanson. Donc ça m'intéresse un peu de savoir.
C'est une bonne question, c'est intéressant. Il y a, moi, je peux juste répondre pour moi, là, parce que je pense qu'il y a autant de manières d'écrire des chansons qu'il y a d'humoristes. Mais ça peut s'apparenter, ça peut beaucoup s'apparenter à un numéro d'humour. C'est-à-dire que souvent, dans une chanson, il y a un angle. Tu sais, un bon coke avec la glace, et c'est une chanson qui est un hommage au coke, mais sur fond de mort de grand-mère, là, tu sais, puis donc, dans le fond, c'est quelqu'un qui aime le coke au point où il voit même pas que sa grand-mère est morte. Tu sais, il y a tout le temps, en fait, un angle humoristique que tu peux résumer en une phrase, et que tu comprends clairement où le comique, tu sais, se situe dans la situation. Après ça, il y a l'aspect musical, tu sais, souvent, c'est de juxtaposer une vibe, tu sais, un bon coke, c'est une chanson très mélo, guitare, tu sais, donc... Il y a quelque chose aussi qui vient clasher dans le contraste avec le propos, tu sais, on parle de la mort, on parle de ça, mais la chanson est comme très douce et très tu sais, bon, justement, il y a un petit côté guitare un peu Francis Cabrel, là, si on veut. Donc c'est ça, donc mais honnêtement, je pense que les deux, autant un numéro qu'une chanson, c'est comme de capturer une émotion. C'est juste que j'ai l'impression que avec la musique, t'as comme peut-être une palette de couleurs où tu peux venir un peu, tu sais, amener des ambiances qui peuvent justement être des outils un peu intéressants dans le contexte humoristique, tu sais, que ça vienne clasher ou que ça appuie au contraire, tu sais, que ça appuie une émotion, que ça la contredise. Puis j'ai des chansons des fois qui sont très courtes aussi, donc c'est des jokes dans le fond, c'est des jokes chansons, donc c'est c'est vraiment des jokes en musique, mais très courtes. Mais non, souvent ça part vraiment de, tu sais, souvent il y a des chansons que ça pourrait être des numéros d'humour, tu sais, mais dans le fond c'est que j'ai utilisé une autre forme, tu sais, où j'essaie de où la forme est celle qui permet le mieux d'exploiter l'idée. Tu sais, je pense qu'un bon coke comme numéro d'humour, ça serait plus difficile, peut-être plus redondant. Tu sais, il y a aussi un format qui vient avec une chanson. Tu sais, une chanson, ça a des couplets, ça a des refrains. Donc, il y a un côté répétitif, il y a un côté mélodique. Donc, je pense aussi qu'il y a un côté performance à une chanson. Tu sais, les gens, tu l'as dit, tu connaissais un bon coke, mais tu étais content de l'entendre, alors qu'une blague que tu as déjà entendue, tu dis, ah bon, je connais le punch, c'est beau. Donc, il y a un côté aussi, quand tu fais de la scène performatif à la chanson qui vient tantôt, tu parlais de nuances dans un show, ça amène une autre énergie d'une musique. Tu sais, il y a comme, ça vient ponctuer d'une manière ou d'une autre le spectacle. Donc, mais non, souvent, honnêtement, ça part vraiment d'une idée. Tu sais, il y en a qui vont avoir une idée, mettons, de blague. Ils vont dire, OK, quelle musique pourrait l'habiter? Mais des fois, ça va être la musique qui va venir en premier. C'est plus souvent qu'autrement, ça va être la musique qui va venir. Puis après ça, qu'est-ce que je peux mettre comme ça? Ou, comme je te le dis, mais c'est vrai puis c'est pas vrai parce que ça m'est arrivé dans les deux cas. T'sais, BFF à distance, t'as une idée que c'est né, tu vois, par exemple, pendant la pandémie, moi, puis Pierre-Yves, on se parlait à chaque jour, on était tous isolés, on testait nos blagues l'un sur l'autre, tout le temps, des chansons. Puis je disais, on devrait faire un duo, tu sais, on teste nos chansons l'un avec l'autre, puis ça faisait longtemps qu'on voulait faire un duo, puis je disais, ah oui, ça pourrait être sur quoi, tu sais. Puis moi, je suis obsédé par une vieille chanson québécoise qui s'appelle Question de Feeling, qui est un duo des années 80. Puis là, on brainstormait, puis à un moment donné, j'ai juste dit, une histoire d'amour, mais en fait une histoire d'amitié à distance. C'est un truc qu'on n'a jamais entendu. Tu sais. Ouais. Puis là, j'ai dit ce BFF à distance. Puis Pierre-Yves dit, ouais, BFF à distance, ça c'est bon, ça pourrait être le refrain. Tu sais. Mm-hmm. Là, j'ai dit, tu vois, moi je verrais un truc très 80, là, t'es des keyboards, là, tout le monde. Et puis arrive, lui, moi je suis en train de lui donner les. C'est comme si je lui donne les ingrédients d'une recette. Là. Lui, il sort son piano. Ouais, il me sort le piano. Je dis, oui, exactement comme ça. Ta-da-da. Donc, tu vois, là, ça a vraiment été l'association de l'idée. Des éléments du concept puis que j'amène, mais que Pierre-Yves, lui, avec comme un talent musical, un talent de réalisation, un talent de mélodiste, que, OK, je pense que je viens trouver la mélodie du couplet. Donc là, j'ai écrit beaucoup de couplets, là, je lui ai amené les couplets, on les a mis dans les... Tu vois, donc, il n'y a pas une manière de fonctionner, mais mes réponses sont bien trop longues.
Non, c'est super intéressant. 10 minutes.
Donc, tout ça pour dire, ça dépend vraiment, ouais, voilà. Tu vois, je regarde les cartes son. Tu vois, Greta, la musique est venue en premier. Mais il y avait cette affaire avec... tu vois, ça, c'est vraiment comme un bit. L'idée d'avoir une phobie, puis la phobie, c'est Greta Thunberg. C'est quoi ta pire phobie? Moi, c'est Greta. Hein? Pourquoi? T'sais, donc, voilà. Donc, ça en est un... Tu sais, c'est ça. C'est plus comme une manière d'écriture, mais... Tu me poses la question, mais c'est comme si dans ma tête, j'avais jamais séparé comme ça. J'étais jamais dit, j'écris une chanson, j'écris un stand-up. On dirait que dans ma tête, c'est tout le temps comme, qu'est-ce qui me tente?
Comment ça vient? Tu vas faire une blague d'une façon ou d'une autre.
Quoi. Exact. Okay. C'est comme si instinctivement, je me dis, c'est quoi la meilleure forme pour cette blague-là ou cette idée-là, en fait? Parce que souvent, c'est des idées. Mm-hmm. C'est comme, quelque chose qui me fait rire. Il y a des fois une idée. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de mémos vocaux que j'ai de mélodies ou d'idées que des fois, j'ai un concept, mais j'arrive pas à trouver l'idée qui fonctionne avec ce concept-là. Tu sais, des fois, ça peut partir vraiment de la forme, des fois, ça part du fond. Puis, je le dis parce que des fois, les gens cherchent une recette. Peut-être c'est ce qui fait aussi que c'est pas ennuyant, c'est que c'est jamais la même. Ouais, ça vient jamais du même endroit ou de la même manière. Donc,
Ouais, j'espère que tu feras plein d'autres chansons parce que généralement je les aime beaucoup mais ça reste tellement en tête parce que là je réfléchissais à tes chansons et j'ai Mousqueton en tête.
Oui.
Et Mousqueton.
Oui.
Mousqueton.
Ouais,
pourquoi il me demande si je fais de l'escalade? Je rêve fort à ce moment-là.
j'ai encore un sac d'une centaine de mousquetons chez nous qui n'ont aucune utilité, que j'ai commandé d'Amazon uniquement pour ce vidéoclip-là. Et donc, j'envoie un message à tous. Si vous faites de l'escalade, vous avez besoin d'accrocher des trucs, écrivez-moi. J'ai trop de mousquetons. Et c'était pour un vidéoclip, c'était pour une blague. Et là, ça va trop loin. Alors,
Mais le public est essentiellement des gens qui sont fans d'humour et d'escalade.
Ouais, c'est ça. Génial.
Donc, c'est parfait. Récemment, tu as fait aussi une série de vidéos que j'ai trouvé assez marrante pour la revue Mordante.
Oui.
J'ai tellement ri. C'est sur la vidéo sur le air fryer. Ouais. La vidéo sur le air fryer est vraiment drôle. Est-ce que tu peux un peu parler de cette vidéo? C'est quoi la revue Mordante en fait? Moi, j'ai juste vu passer les vidéos, mais.
Ouais, ben en fait, c'est très simple. C'est Mordu qui est la plateforme de Radio-Canada concentrée sur la nourriture, donc tout ce qui est bouffe. Donc, c'est vraiment le volet bouffe de Radio-Canada, qui est la société d'État que tu connais probablement. Puis, ils m'avaient demandé, eux sont très populaires sur les réseaux sociaux, nourriture, recettes, tout ça. On a dit, on aimerait ça faire une revue culinaire de l'année, donc par mois. Prendre une nouvelle, tout ça, puis j'étais comme, moi ça me tente, puis il avait vu ce que j'avais fait justement sur le web, tout ça, puis probablement Mousqueton. Et puis ils m'ont dit, ça tente-tu? Fait que moi, je trouvais ce coup, c'était un genre de défi où c'était un mini bye-bye. C'est comme nous ici, le bye-bye, c'est une revue de fin d'année, puis un genre de mini bye-bye culinaire. C'était des sketchs, c'était sur le web, puis moi, dans le fond, tout ce que je voulais, c'était un contrôle créatif quand même assez, c'est de pouvoir faire ce que je suis vraiment, puis ce qu'ils m'ont donné avec... puis je les remercie. Donc, je pouvais faire mes chansons, je pouvais faire... tu sais, je pouvais aller retrouver mon ton, justement, tu sais, être absurde, être un peu noir des fois. Parce que des fois, quand tu te fais engager pour des trucs, les gens veulent que tu fasses peut-être des trucs un peu plus...
Ouais, t'avais carte blanche.
Exact. Ils ont vraiment été très, très, très généreux. Donc, moi, c'est ce qui m'intéressait créativement. Je trouvais ça cool. Donc voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis, dans le fond, les capsules sont sorties entre Noël et Jour de l'An. À peu près à chaque jour, ils en ont sorti autant sur Facebook, Instagram, TikTok. Dont une, c'était, je pense, le mois de février, sur les air fryers. Parce que ça, c'est un des trucs que... je sais pas si ça, en Europe, c'était aussi la folie, mais...
C'est la folie, les air fryers.
Les air fryers, c'est que le nouveau truc là, que cette année, les gens étaient rendus fous. Puis, dans le fond, c'est un peu comique. C'est dans la création, tu sais, on avait des nouvelles, puis on faisait des recherches, puis à un moment donné, on fait, ah ouais, Air Fryer, il y a quelque chose avec ça. Puis, on aurait dit qu'il y avait un groupe Facebook fan du Air Fryer. Puis là, on a fait, ah mon Dieu, mais il y avait 60 000 membres, tu sais. Mm-hmm. Là, on était comme, qu'est-ce qui se passe, là? Fait que là, on est rentré dans le groupe.
Aller voir les commentaires.
Puis là, on a vu les commentaires, puis on a vu cette communauté incroyable. Donc là, on a écrit la capsule dans laquelle on dit on voulait faire des blagues, mais finalement, la communauté est super dans l'entraide et dans le partage et dans le respect. C'est de toute beauté. Et ça, je ne l'ai pas encore dit, je pense, à personne, mais après la diffusion de la capsule, qui m'a écrit? La fondatrice du groupe.
Okay.
Parce que c'est un groupe québécois, si je ne me trompe pas, et qui m'a dit hey, on a vu ta capsule, on a trouvé ça très drôle. En tout cas, merci vraiment. Bref, elle m'a envoyé des très bons mots, puis elle m'a souhaité bonne chance. Donc, ouais, c'est, je pensais. Peut-être que je suis naïf, mais je m'attends jamais à ce que personne voit les trucs que je fais. Je fais, ah, c'est vrai, ils l'ont vu. Donc, ouais, donc c'est tout ça pour dire. Puis, parce que ça, c'en est une, mais il y en a une où je jouais un pusher de sirop d'érable. Il y en a une où je chantais une chanson à l'animateur d'une émission. Plus je parle, plus je réalise que les références sont québécois. Mais
c'est vrai, il y a aussi des Québécois qui vont écouter. Ouais, j'espère,
oui. Non, mais il y a une émission ici qui s'appelle L'Épicerie, qui est une émission qui existe depuis vingtaine d'années. Puis l'animateur est parti. Puis j'ai fait dévoilé mon amour. J'ai fait une chanson sur lui. Donc, c'était vraiment, tu sais, l'inflation. On allait dans les sujets aussi banals que... avez-vous des Costco en Europe?
Non.
C'est ça, c'est comme des épiceries en vrac. Très populaire, mais tu sais, qui ont décidé que le hot dog allait être à 1,50 pour l'éternité. Donc là, on allait dans toutes les zones, autant très absurde, autant, tu sais, l'inflation, ça a tué tout le monde de manière dramatique. Il y a eu un vol de sirop d'érable de 18 millions de dollars. Okay. Donc on pouvait, je peux toucher à plein de sujets. Puis ça, c'est très bon aussi pour le muscle humoristique, ce genre de défi-là, tu sais, de dire, tu sais, je suis dans mon spectacle, de quoi je veux parler, puis la scène, tout ça. Puis c'est très bien, parce que c'est là où j'ai la liberté ultime, puis je suis moi-même à 8000%. Mais d'avoir ça, mettons, de dire, hey, on ferait-tu une revue culinaire? Tu sais, je pense que plus jeune, mettons, ou dans ma carrière, ou peut-être à l'école de l'humour, ou en sortant, j'aurais été comme, ah, oh, OK, je sais pas, je suis pas sûr. Ouais, est-ce que ça va... Tu sais, j'aurais peut-être été un peu plus sceptique. Mm. Alors qu'aujourd'hui, je suis comme... Ah ben non, comme quand je fais ces affaires-là, ça, c'est comme du gym pour ton écriture humoristique. Puis surtout dans un contexte où j'avais quand même une liberté, c'est comme des contraintes, mais des belles contraintes. Tu sais, c'est comme t'as besoin des fois de balises pour créer. Sinon, c'est comme une clôture, c'est comme un champ sans clôture. Tu peux comme te perdre un peu à l'infini. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a beaucoup. Puis tu sais, c'était un autre format aussi. C'était du web. Fallait tourner rapidement. On n'avait pas un gros budget. Le réalisateur, je m'entendais bien que le réalisateur avait une belle compréhension de ce que je voulais faire. J'ai travaillé aussi en coécriture avec un gars que j'avais croisé à l'école de l'humour, Simon Laroche, qu'on s'était jamais revu, tu sais. Donc ça a été, on a créé ça quand même, c'était beaucoup de matériel, puis on a créé ça là, très très rapidement. Je me souviens, on s'est rencontrés un vendredi, puis il me dit, est-ce que tu peux envoyer des textes mardi? Tu sais, c'était très 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 rapide. Puis ça, c'est pas facile, là. Je te mentirais si je te disais que ça a été facile, mais ça force à faire des choses, puis aller faire bien rapidement. Puis souvent, la rapidité dans la création, ça aide beaucoup. C'est comme, t'as pas le choix. C'est comme...
ça, les deadlines, ça aide.
Exact. Puis,
ça aide, ça aide.
Puis donc, on a tourné ça très rapidement. Puis j'avais presque oublié tout ça. Puis là, pendant les fêtes, c'est sorti. Puis la réception était super. Autant sur Facebook, Instagram que TikTok. Donc moi, je suis vraiment fier de la revue mordante.
Ouais. Ben, je mettrai les liens dans la description de l'épisode pour que vous puissiez aller voir ça.
Génial.
Parce que la vidéo sur les air fryer est vraiment ma préférée. Je les ai toutes regardées, mais c'est ma préférée dans le temps. Parce que faire des blagues sur le air fryer, c'est quand même vraiment drôle. Et le fait qu'il y ait un groupe là-dessus, enfin, tout ça m'éclate.
La réalité dépasse toujours la fiction, hein, Régis.
C'est ça.
Toujours.
Mais comment tu fais, en fait, pour séparer un peu, parce que t'as le podcast, quand on te fait une commande comme ça, tu as ton spectacle. Comment tu fais pour séparer ton temps, allez, je vais travailler un peu sur le spectacle, je vais travailler un petit peu sur ça. Parce que, par exemple, moi, je dois me concentrer sur un sketch de 5 minutes. Et je me dis, ben voilà, j'ai mon sketch de 5 minutes, c'est Tu vois, ouais. J'ai que ça.
C'est le défi. C'est le défi, Régis, de compartimenter. C'est ce qui est le plus difficile à faire, je trouve, parce que t'as pas le choix. En tout cas, je vais parler pour moi, parce que les gens fonctionnent tous différemment. Mais pendant longtemps, je me disais, mon Dieu, j'ai de la misère à me concentrer. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que c'est pas que j'avais de la misère à me concentrer, c'est que je faisais trop de choses en même temps. Donc, je pense que j'ai besoin de faire une chose à la fois. Ce qui sonne super banal, mais quand t'as un agenda, puis t'as une liste de choses à faire, souvent, tu vas sauter un peu du coq à l'âne. Puis ça peut être difficile de finir l'un et l'autre. Faut vraiment que tu ailles un à la fois. Dans mon cas, c'est comme ça que je procède. Puis dans les choses que tu viens de nommer, souvent ça touche à des parties différentes de mon cerveau. Tu sais, le podcast, c'est la préparation d'entrevue, c'est de la recherche, c'est de gérer aussi tout ce qui est un peu booking. Mm-hmm. Avec souvent, généralement, j'ai un assistant qui s'occupe de ça parce que sinon, là, je pourrais vraiment pas faire d'autre chose. La gestion de celui qui s'occupe des réseaux sociaux. Tu vois, comme après ça, le podcast, il faut que je fasse les voix pour le podcast que j'envoie. Donc, c'est beaucoup de... Tu vois, ça, je fais toujours ça le mardi. Bon, pour m'assurer, le podcast, je l'ai enregistré la saison... pratiquement tout à l'été dernier, donc après les galas, après les festivals d'humour, j'ai dit à mon booker, moi je te donne 3 semaines, book-moi tous les épisodes, tu sais. Donc il est parti, il a fait son travail, on en a fait un peu pendant l'automne pour compléter, mais tu sais, j'essaie pas non plus d'enregistrer mon podcast tout le temps, tu sais, il faut à un moment donné compartimenter. Fait que ça, c'est le défi de travail autonome, peu importe ton métier. Après ça, mon spectacle, ben là, tu vois, mon spectacle, c'est vraiment la priorité. Donc, c'est vraiment ce que j'essaie de faire aussi selon les shows de rodage, tu sais, mes heures, mais aussi les shows dans les soirées, tu sais. Mm-hmm. Tu vois, comme là, demain, je vais être au bordel, lundi, j'étais à Laval, bon, là, il y a le numéro sur lequel je travaille. Est-ce que je suis capable de le finir une version 1 pour lundi? Si oui, OK, je vais la mettre là-dedans. Mais il y a aussi toujours des imprévus aussi, tu sais, comme... je me suis ramassé dans le bye-bye cette année, c'est à l'été dernier. Voyons, il y a quelques mois, mais le bye-bye 2022, parce qu'un jeudi, on m'a dit, peux-tu m'envoyer un self-tape? Mais là, ça se peut que toi, tu avais un spectacle, tu travaillais sur un numéro cette journée-là, mais là, il faut que tu envoies un self-tape dans... les 24 heures. Donc là, ça devient... Il faut un peu toujours que tu jongles avec ça, puis ça reste des super bonnes nouvelles. Tu sais, hey, on a pensé à toi pour telle audition. Ben super, tu sais. Fait que c'est un peu toujours de jongler avec ça, mais de quand même savoir qu'est-ce que tu veux accomplir par jour, par semaine, puis pas perdre de vue les objectifs à court terme, parce que des fois, c'est comme ça que des trucs glissent de semaine en semaine sans se faire. Tu sais, il faut vraiment que tu compartimentes. OK, le mardi, je m'occupe de ça pour le podcast. J'enregistrerai la saison un petit peu plus tard parce que là, j'ai le spectacle à travailler. Puis donc, c'est, honnêtement, ça, je trouve que c'est... Puis j'en parle, tu sais, à des collègues humoristes, c'est toujours le plus gros défi, c'est de l'organisation de ton temps. Oui. Tu sais, puis de pas essayer de te comparer à tu sais, mettons, des gens qui disent « Ah, moi, je travaille à 6 heures le matin jusqu'à... » ou des trucs. Puis des fois, tu dis « Mais tu sais, moi, je suis en show à minuit. Tu sais, je peux pas me lever à 6 heures. Tu sais, c'est pas réaliste dans mon... cadre à moi, tu sais, oui, parce que...
Puis t'as pas... Enfin, des fois, on va se mettre 3 heures devant un bureau, on va rien faire spécialement parce qu'on n'est pas dans les...
Exact.
Dans les bonnes conditions, on n'a pas inspiré à ce moment-là. Et l'inspiration, c'est bizarre aussi. Enfin, je sais pas comment... Toi, t'arrives d'office à te placer devant un bureau et écrire ou...
Moi, je le vois comme des blocs dans ma journée, tu sais, pour compléter en plus la réponse de ce qu'on parlait, c'est comme... Moi, je vois des blocs comme matin... début PM, mi-PM, soir, tu sais. Soir, ça va généralement être les spectacles. Mais matin, je trouve qu'il y a des... C'est parce que la créativité, il y a un aspect très, très instinctif, tout ça, puis très... oh mon Dieu, on sait pas d'où ça vient, mais il y a aussi un aspect prendre rendez-vous avec soi-même, tu sais. Fait il y a un aspect très romantique de « Ah, j'ai écrit un numéro », tu sais, on va entendre ça, un chanteur, « J'ai écrit cette chanson-là 15 minutes », puis on dit « Wow », tu sais. Fait que là, les gens... pourrait penser ah ça c'est toujours comme ça que ça se passe mais
ouais, genre je pense que la chanson de 8 Mile qui lui a valu le Oscar il l'a écrit en 15 minutes
exact.
Avant et c'est son plus gros succès
exact
ce qui est fou
tu sais après ça il y a tellement de facteurs comme Eminem des chansons tu sais il en avait écrit combien dans sa vie à ce stade là
ouais,
probablement 10 000 tu sais donc il y avait tu sais lui il est parti à ce moment là tu sais il faut comme un peu savoir ok en ce moment j'ai l'inspiration puis de noter tout de suite ou d'enregistrer tous les trucs pour rien perdre. Mais souvent, ça va être bon pour l'idée originale. Moi, j'en remarque. Mais après ça, il faut la compléter, l'idée. Tu sais, est-ce qu'il l'a écrit au complet, la chanson, ou il a écrit une partie, puis après ça, le lendemain ou le soir, il fait « OK, là, il faut que je complète tel verse, faut que je finisse le refrain, faut que... Oui. Comment on fait les arrangements? » Tu sais, après ça, ça demande un travail où tu t'assois avec l'idée, puis tu... Puis en même temps aussi, de générer des idées, ça se fait, tu sais. C'est comme tu t'assois, puis tu pars sur des trucs, puis souvent, d'avoir un deadline, c'est là que la créativité... Tu sais, souvent... Attends, je sais pas, tu te gardes de 9 à midi, parce qu'à midi, tu as un rendez-vous. C'est assez étonnant comment c'est toujours à 11h53 que tu as tes idées. t'es comme, c'est chiant parce que t'es comme, merde, faut que je m'enlève, hein, si j'avais pas un rendez-vous chez le dentiste, je pourrais écrire le meilleur numéro de ma vie, mais c'est comme, non, si t'avais pas un rendez-vous, t'aurais pas eu l'idée parce que t'aurais pas senti la subtile pression de devoir compléter quelque chose. Donc, souvent, puis c'est comme un peu comme des heures au gym que tu mets en t'assoyant puis en jouant avec des idées parce que ça rentre dans ton inconscient, puis les clés, les solutions des trucs auxquels t'as pas encore les réponses, ils vont pas venir nécessairement dans le bureau. Mm-hmm. Ils vont venir quand tu vas marcher dans le métro, ils vont venir dans la douche, ils vont venir dans... C'est comme très souvent observable parce que ton cerveau continue de travailler, ton inconscient, quand toi, consciemment, t'es plus nécessairement en train de travailler parce qu'il cherche encore les solutions, puis c'est pour ça que tu vas te réveiller, pas te réveiller, mais tu vas prendre ta douche, puis tu vas faire « Ah, c'est ça qui manque au numéro. »
Moi, ça m'arrive souvent, c'est en route pour aller à un show, je pense à la vanne qui manquait.
Voilà.
Ou pile, je vais devoir passer... Et je me dis, ah, mais en fait, je pourrais dire ça, mais c'est au moment où je passe. Donc, des fois, si je suis à l'aise, je vais l'essayer. Si je suis pas à l'aise, je la fais pas. Mm-hmm. Parce que j'ose pas encore. Je suis pas encore assez à l'aise de faire quelque chose qui est pas préparé. Mais après, je suis très, très carré.
Ouais.
Mais c'est souvent, genre, je vais en route et je me dis, mais cette blague-là, pourquoi j'y ai pas pensé? C'était évident, mais c'est, je suis en voiture, généralement, pour aller à un show. Par exemple, le show tout à l'heure qu'on disait sur le Seigneur des Anneaux, il y a 3 vannes, j'y ai pensé dans la voiture en allant. Et c'est probablement celles qui ont le mieux marché.
Ben oui.
Et je la mets enfin.
Ouais, parce que les spectacles produisent quelque chose que tu ne peux pas reproduire dans ton salon. Il y a une urgence, il y a un instinct de survie, il y a une vérité là, qui s'installe de « Ok, non, ça c'est de la merde, je vais jamais... » Tu sais, genre ça c'est pas drôle. Il y a comme un genre de lucidité qui vient avec le danger de « Non, ok, ça, ok, telle affaire, c'est plus drôle. » Puis, tu sais, le nombre d'humoristes dont les blagues sont venues dans les 15 minutes avant d'aller sur scène, c'est parce que c'est comme, ben non, t'étais complètement en survie, là, tu savais que t'avais besoin de plus de blagues ou il y en a qui vont naître sur scène, t'sais. Mais tu peux pas improviser un numéro d'humour, donc là, c'est là qu'il faut que tu mettes le travail avant. Donc c'est un genre de jumelage habile des deux qui fait que tu peux, je pense, produire du matériel. Là.
On a parlé un petit peu de tous tes projets du moment, mais est-ce qu'il y aurait des projets dont je n'ai pas connaissance?
Pas pour le moment, non. Pas pour le moment. Ultimement, la scénarisation, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais j'essaie de pas trop m'éparpiller, justement. Donc, j'essaie de rester vraiment avec le spectacle. Mon spectacle à moi, le podcast On The Side. Et éventuellement, j'aimerais ça écrire des trucs et jouer dedans. Mais ouais, j'essaie de rester concentré parce que déjà, c'est déjà pas mal.
OK. Ben donc, vous pouvez aller voir le spectacle le 17 mars au Théâtre Sainte-Catherine à Montréal. Et le 19 mai à Longueuil, je continue la pub. Parce que... Je veux que vous alliez voir ce spectacle parce que moi je l'ai beaucoup aimé. Mais en fait, tous les invités que je reçois, c'est que des spectacles que j'ai aimés. Si j'avais été voir ton spectacle et que je l'avais pas aimé, j'aurais été un petit peu gêné parce que j'ai demandé la place pour aller voir ton spectacle.
Ouais,
et j'avais déjà booké le podcast. Ça aurait
Imagine.
Fait... Ah bon, ben finalement, j'ai d'autres obligations.
je peux plus.
Ça aurait été gênant. Mais après, j'aimais déjà ce que tu faisais, donc je pense que j'allais aimer le spectacle. Tu vois, c'est comme quand tu fais un spectacle avec que des gens qui te connaissent déjà, c'est plus facile parce qu'ils sont déjà acquis à la cause, quoi.
Il y a comme un fit, là,
C'est comme tu fais un bon coke, je suis content.
Ah ouais, voilà.
Donc déjà, ça aide.
C'est là que je t'ai gagné.
Ce qui est à la fin du spectacle.
C'est ça.
Je remets en perspective tout ce que j'ai vu. Et maintenant qu'on est revenu sur ton actualité, on va remonter le temps et revenir sur tout ton parcours. Donc toi, tu es né le 6 mai 1989 à Montréal.
Le 5.
Oh, ça y est. Et tu sais, parce que le jour d'anniversaire, je ne le trouve généralement pas, j'ai souvent l'année. Et alors, je vais sur le Facebook de la personne et je vois quand les gens lui ont souhaité bon anniversaire. Et il y a beaucoup de gens qui t'ont souhaité bon anniversaire en retard. Ou alors, c'est avec le décalage horaire peut-être. Et
du coup, c'est ça.
Ah, peut-être.
Probablement ça. Ouais.
Probablement ça.
Ouais, le 5. Voilà.
Cherchons des excuses. À l'hôpital Maisonneuve à Rosemont.
Oui.
Ouais, yes. Est-ce que enfant, tu étais déjà quelqu'un de drôle?
Bonne question. Hein? Je serais curieux de demander aux gens qui m'ont fréquenté quand j'étais jeune. Mais c'est une bonne question. Je pense que ça, il y avait une racine de quelque chose, oui. Parce que je pense qu'on est beaucoup formaté par notre environnement. Puis moi, tu vois, je suis le 3e de 4 enfants. Puis,
moi aussi.
Toi aussi, tu es 3e de 4?
Je suis de 5.
De 5, wow, tu vois.
Je suis vraiment l'enfant du milieu.
Exact. Et puis, c'est souvent le cas que les humoristes sont les enfants du milieu ou...
Virginie Fortin aussi. On avait cette théorie-là qu'on avait fait le podcast avec elle. Elle disait, les enfants du milieu, c'est les plus drôles.
Les glue person, qu'ils disent en anglais, c'est-à-dire la colle qui unit les... Je pense qu'il y a comme un rôle naturel de tension relief, le genre de défaire la tension, tu sais, dans... Tu sais, l'aîné, souvent... avoir des caractéristiques d'aîné. Tu sais, c'est lui qui va s'occuper des plus jeunes. Il y a quelque chose de plus grave. Un aîné, c'est plus grave.
Plus sérieux. Et oui, il y a comme responsabilité.
Oui, les parents avaient encore des ambitions quand ils l'ont eu. Tu sais, puis ils l'ont cassé. Puis il y avait. Tu sais, puis occupe-toi de tes frères. Puis il y a une responsabilité qui vient avec l'aîné. Tu sais. Après ça, le deuxième, bon, tu sais, j'avais un numéro à l'époque sur le rang familial, mais le deuxième, souvent, bon, il y a comme un autre truc, dépendamment de combien, puis le bébé, ben, c'est le bébé, hein, tout le monde s'occupe du bébé, il l'a facile, il peut tout casser, on passe en arrière. Tu sais, je dis pas que ça détermine l'entièreté de la personnalité de quelqu'un, mais c'est quand même des tendances qu'on retrouve souvent. Puis moi, j'étais le troisième, puis je pense que ça explique un peu que, tu sais, souvent, tu viens un peu dédramatiser des choses. Je pense que ça concordait aussi avec ma personnalité. Mais oui, il y avait un peu ça, je pense, chez moi, tu sais, genre de faire rire à ma mère, puis à l'école, tu vois, c'est drôle parce que j'avais peu de souvenirs, tu sais, du primaire, des trucs comme ça, puis j'en avais une réunion du primaire quand je suis sorti de l'école de l'humour, donc c'est quand même déjà 10 ans, mais quand je rentrais à l'école de l'humour, dans le fond, c'était mes 10 ans du primaire, puis là, je revoyais des gens que j'avais pas vus depuis 10 ans, puis ils me racontaient des trucs, tu sais, comme, ah, tu faisais ci, ben oui, je rentrais à l'école de l'humour, fait que je leur disais, ah, je rentre à l'école de l'humour, puis ils me disaient, ben oui, évidemment, puis j'étais comme, ok, pourquoi, évidemment, ben, ils me racontaient des trucs dont j'avais aucun souvenir, tu faisais des connes, tu mettais tes bas par-dessus, tes souliers, tu faisais ci, ils me racontaient tous des trucs que je faisais, tu sais, qui, eux, se souvenaient encore, et qui me disaient rien, mais oui, évidemment, hein, puis, tu sais, des gars aussi à qui je jouais au hockey quand j'étais plus jeune, ah oui, on sait bien dans le vestiaire, tu faisais tel, tu sais, c'était un peu toi le bout en, pas le bout en train, mais tu faisais des blagues ou à l'école ou des, pas nécessairement être le clown de la classe, mais juste de faire des blagues pour ton ami à côté ou des, il y avait comme un peu cette affaire-là, tu sais, donc, ouais, je pense qu'il y avait cette petite, comment dire, il y avait quelque chose de la genèse là, là-dedans, dans le trait de personnalité, je pense.
Est-ce que toi aussi, parce que c'est une réponse qui est revenue dans beaucoup de parcours d'humoriste, essayer de faire rire le professeur aussi?
Pas nécessairement, ça dépend, parce que j'étais pas un très bon étudiant au secondaire, donc j'avais un rapport assez trouble avec certains professeurs. Il y en avait que j'aimais beaucoup, tu sais, il y en avait que j'aimais beaucoup, mais moi, j'étais celui, en fait, qui allait... Ça, il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça dérangeant, mais moi, les professeurs que j'aimais, ça, j'aimais bien je discutais avec eux, tu sais. Mm-hmm. Moi, j'étais celui qui allait parler au prof comme, ouais, ça, en fait, ça. Tu sais, genre, puis là, souvent, ils pensent, ah, ok, il lèche cul, ça, mais moi, non, j'étais comme, j'étais pas, parce que tout le côté académique m'intéressait très peu, les notes, tout ça, okay. C'était pas pour ça que j'allais voir, c'était vraiment le côté, j'aimais ça, j'aime les humains, je pense. Donc, il y avait un côté de quoi, ah, ouais, tu fais du ski. Quelque chose de, fait que j'aimais un peu parler, alors que souvent il y a des profs qui me détestaient au secondaire, là, particulièrement, donc j'étais pas un bon étudiant, donc des faire rire, c'était le plus loin possible de mes intentions, mais c'était plus faire rire les amis qui sont pas loin, tu sais. Et non, nécessairement être le clown de la classe, tu sais, ça, souvent, les humoristes, quand les gens pensent à humoriste, ils pensent à la personne qui crie une blague, là, pour la... Ça, c'était comme trop gros, je trouve, à mon goût. Ça manquait de... J'aimais ça, il y a un petit côté un peu plus clever, comme on dit en anglais, un petit peu plus intelligent, ou un petit peu, pas intelligent, mais un peu plus smart, puis de juste dire la joke que juste ton ami a entendu, là, tu sais, puis il y avait quelque chose de ça que j'aimais plus, mais non, c'est ça. Je sais pas si je pouvais dire que j'essaie de faire rire les profs. Non.
Et est-ce que tes parents, tes frères et sœurs sont des gens drôles? Je sais qu'ils sont des gens qui ont fait des études, qui ont fait des hautes études, qui sont des gens intelligents, très académiques. Ouais. Mais est-ce que ce sont des gens drôles?
Bonne question. Je pense qu'ils ont tous un très bon sens de l'humour, ça c'est sûr. Ils ont dû cohabiter avec moi agressivement au fil des années. Mais est-ce qu'ils sont drôles? Je pense... Je sais pas s'il y avait des, tant que ça, des gens qui faisaient beaucoup de, tu sais, parce que tu sais aussi, moi, c'est que je pense que j'ai toujours cette pensée-là, là, de blague, puis de penser en joke et de penser en drôle, mais c'est ça, c'est une maladie propre aux humoristes. T'sais, les gens normaux vivent leur vie, ils s'en portent très bien, là, tu sais. Mais c'est des gens qui étaient très bons, sont très bons publics, ma famille. À part mon père, il est un spectateur plus, faut aller le chercher, mais ma mère est très, très ricaneuse, mes sœurs, tu sais, une de mes sœurs, l'humour français, c'est sa talle. Mon autre sœur, qui habite en Belgique, justement, elle venait à tous mes spectacles. C'était ma fan numéro un. Dès le départ, même quand on est, surtout quand on était pas très bon. Puis mon frère, c'est lui avec qui je suis le plus proche en âge. On a seulement 14 mois de différence, donc on a beaucoup les mêmes référents, on rit beaucoup à des trucs. Mais tu sais, c'est un ingénieur, tu sais, donc lui, il est vraiment une autre personnalité, type de personnalité que moi. Mais donc c'est ça, je pense. C'était, tu sais, je pense que la personne qui serait le plus proche, ça serait mon père, je pense. Tu sais, qui était beaucoup dans les Monty Python, puis qui, tu sais, comme l'humour noir, tu sais, l'humour British. Mon père aime beaucoup l'humour British. Tu sais, fait mon père, il a ce côté-là, mais il est plus intellectuel, mon père. Tu sais, c'est ça. Il y a quelque chose de cérébral à l'humour, mais aussi quelque chose de très instinctif. Je pense que mon père est peut-être un petit peu plus cérébral, mais il est quand même... il joue, tu sais, mon père, c'est un très bon comédien. Tu sais, mon père, si tu lui dis, là, il y a quelqu'un avec un gun dans la pièce, il faut rentrer, puis jouer, il va le faire.
OK.
Très bien, tu sais, je me souviens, quand il faut jouer des rôles ou, entre guillemets, il faut, tu sais, mentir ou des... Enfin, c'est ça, jouer, c'est mentir. Mm-hmm. Il est très bon pour ça. Tu sais, il est vraiment capable de le faire. Puis il a un casting, là, il a une face très grave, là, puis... Les gens qui le rencontrent la première fois sont comme, mon Dieu, tu sais, qui est cet homme couvert de corps du roi? Puis... Mais il y a comme un bagage culturel, puis il y a comme un sens du, ouais, de ça. Puis ma mère aussi, elle aime beaucoup faire des blagues dans, aussi, tout ça. C'est dans un autre style, là. Mais je pense pas qu'il y a des gens qui étaient comme, qui pensaient en termes d'humour comme moi dans ma famille, tu sais. Mais c'est rare d'ailleurs. Si t'en as plus qu'un dans la famille, déjà, c'est bizarre.
C'est particulier.
S'il y en a un, c'est déjà.
Mais est-ce que vous alliez voir beaucoup de spectacles ou vous en regardiez beaucoup à la télévision ou pas spécialement?
Tu vois, c'est drôle, pas particulièrement, mais moi, mon père, ses référents d'humour, c'était pas très québécois. C'était vraiment très British. John Cleese, que j'ai amené mes parents voir en spectacle il y a quelques années.
Dont le livre est juste
derrière. Oui, exact. C'est Pierre-Yves, avec Pierre-Yves, ouais, son autobiographie, So Anyway, c'est le titre. Tu sais, les Fawlty Towers, tu sais, des trucs aussi plus... ouais, c'est vraiment British, même plus qu'américain. Mais après ça, tu sais, mon père, c'est sûr, Yvon Deschamps, on n'y échappe pas, tu sais, le Québec, ça a été tellement énorme au Québec. Mais ma mère, tu sais, ils m'ont beaucoup... Tu sais, les Cynics, c'est un groupe des années 60 québécois qui avait été très influent. Donc, il y avait ça, mais on n'allait pas voir beaucoup de spectacles. Mon père m'a légué un bagage culturel très important en termes de musique. Tu sais, il écoutait toutes les sortes de musique. Mon père, c'était un lecteur boulimique. Donc, il y avait toutes ces affaires-là. Côté show d'humour, c'était pas particulièrement présent. Tu sais, mes parents, on n'allait pas voir des spectacles d'humour. Je me souviens d'aller voir Martin Matt à 19-20 ans, c'est moi qui avais acheté les billets, puis on était allé voir un show de musique après, puis mon père, je pense qu'il a oublié le show d'humour au show de musique, tu sais. Donc c'était plus vraiment à la télé que je regardais ça, tu sais. Il y avait, je me souviens, tu sais, Anthony Cavana, qui est très connu en Europe, mais
c'est ton premier DVD d'humour.
Ouais, exact, que j'ai encore, qui avait signé quand je l'ai rencontré des années plus tard à l'école de l'humour pour
en deuxième année.
Exact, pour l'entrevue de Antonio Dilala, qui est le prof de français à l'école de l'humour. Donc non, c'est ça, j'ai plus été chercher ça, mes influences plus à travers la télé québécoise, les humoristes américains, British aussi, les films. Donc c'est ça, c'est plus de là qu'est venue mes influences que mes parents qui allaient voir Mario Jean. Je dis des référents très précis, mais bref, donc voilà.
Okay. Mais est-ce que quand tu regardais par exemple Anthony Cavana, puisque c'est le premier DVD d'humour que tu as eu, est-ce que tu te disais « je vais faire ça, j'ai envie de faire ça »
C'est comme, tu es tellement jeune que c'est dur de prendre la mesure de ce que ça représente à cet âge-là. Tu es comme « ah, c'est cool, ah ouais ». Qui fait ça, tu sais, puis de comprendre, là, c'est un job à temps plein, c'est ça son métier, tu sais, il fait pas d'autre. Tu sais, c'est quand même assez particulier, déjà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement médiatisé, plus, tu sais, avec Internet, avec les réseaux sociaux, que je pense que maintenant, les jeunes de 7, 8, 9 ans sont comme, mais oui, humoriste, ils sont très conscients, je veux être humoriste, tu sais. À l'époque, on se gardait un... Puis, tu sais, je suis pas très vieux, mais on se gardait quand même un peu plus une gêne, il me semble. C'était comme, ah ouais, humoriste, ok, ouais. Ok, l'école de l'humour aussi, qui est légitime... qui légitimise ça quand même au Québec. C'est un passage connu. Les humoristes à succès sont passés par là. Donc, ça peut rassurer des gens, autant eux que leurs parents. Donc, il y a toute cette notion-là, tu sais. C'est plus tard, je pense. Je pense que j'avais ça en moi, mais je pense que je me l'avouais pas non plus parce que moi, j'allais dans les écoles privées. Mm-hmm. Tu sais, moi, les gens de mon secondaire sont tous devenus avocats ou médecins ou ingénieurs, tu sais, mais comme littéralement tous. Tu comprends? Genre, il y a pas de... Oui, non, sauf... Non, ils ont coché l'une des cases. Fait que j'étais pas dans un environnement qui me disait « Humour! » Non, tu sais, ça me disait « Trouve-toi un métier. » Donc, c'est un peu... C'est comme si inconsciemment, j'ai mis ça sur le rond dans l'arrière, puis c'est plus vieux que je fais « Non, attends, faut pas t'oublier. » Tu sais, puis je suis revenu à ce que j'étais, mais j'étais pas très... Mais je sais que je réalise avec le recul que ça me tentait, mais je pense que je me donnais pas la permission, tu sais, okay, de faire ça. Donc, voilà.
Ok, moi j'ai déjà dit souvent dans le podcast, d'ailleurs désolé pour les auditeurs qui écoutent les épisodes, mais moi quand je voyais les humoristes, je me disais c'est le meilleur métier du monde, mais je suis pas capable de faire ça.
Ah ouais.
Plutôt ça, ce serait ah c'est mon rêve, c'est mon rêve, c'est mon rêve, mais je suis pas capable.
Je
pensais ça très longtemps.
Ouais, non, c'est bizarre, tu sais, il faut être. Qui va devant des gens, tu sais, être mauvais pendant longtemps en public avant d'être. Tu sais, c'est quand même un peu fou. Puis, je serais curieux de savoir, c'est comme si en vieillissant, on oublie, mais je serais curieux de savoir qu'est-ce que je pensais, tu sais. Je pense que je le convoitais, mais je pense que je gardais ça pour moi, tu sais. Je pense que j'avais comme cette curiosité-là, puis je la nourrissais, puis je pense que je... C'est parce que aussi, quand t'es jeune, t'essayes tout, tu sais, c'est rare que tu sais ce que tu veux faire. Moi, je pense que c'est comme si ça se traduisait plus dans ma vie de tous les jours, tu sais, faire rire mes amis, tout ça. C'est plus en vieillissant que tu fais comme, ah, mais là... Et si c'était ça, mais tout le temps, tu sais.
Okay.
Donc, mais ouais, mais voilà.
Moi, c'est vraiment un truc qui était en fond dans ma tête. Genre, dès que je regarde un spectacle, oh, c'est trop bien. Mm-hmm. T'es pas capable. Okay. C'est la petite voix dans ta tête qui te dit généralement des bonnes choses. Hein.
Mm-hmm.
Enfin, je sais pas comment fonctionne ta voix dans ta tête à toi, mais.
Ouais, non, c'était.
C'est rarement, oui, tu as beaucoup de talent.
C'est très bien.
Continue.
C'est ça, bravo. Continue. Non, c'est la critique, mais en même temps, c'est parce que je pense que c'est pour se protéger aussi, tu sais, c'est du danger, si on veut, mais non, faut se donner le droit.
C'est ça. Mais après, très tôt, t'as découvert le hockey qui est dans tes gènes depuis longtemps, parce que tes grands-parents se sont rencontrés à une game de hockey
oui.
au Forum de Montréal.
Oui.
Ton père a joué également. Toi, tu as commencé à jouer vers 5-6 ans
ouais.
Grâce au père de ton ami Julien qui a accepté de te faire des lifts. Et c'est le moment creepy où tu te dis, mais où est-ce qu'il a trouvé tout ça?
Vraiment, c'était impressionnant, bravo. C'est drôle en plus parce que j'étais en train de faire un ménage dans ma bibliothèque puis j'ai trouvé une carte de hockey de lui, mon ami Julien, quand il avait 6 ans. Donc, j'étais comme, oh, mon Dieu, c'est il habite à Québec là maintenant. Puis j'étais comme, mon Dieu, une carte de mon ami de qui avait 6 ans à l'époque, c'est drôle. Mais oui, absolument, complètement. C'est son père Richard, que je salue, qui habite, je pense, en France, si je me trompe pas, aujourd'hui. Puis que ma mère, on était quand même 4 enfants. Donc, mon père travaillait beaucoup en France aussi à l'époque. Il allait en France, aller-retour, donc il était souvent parti. Donc, tout ce qui était coordination de l'horaire de 4 enfants, les repas, l'école, les devoirs, patin artistique, karaté, hockey, ma soeur, bref. Mmh. Et donc, ma mère était comme, ah, écoute, je sais pas là, si je vais pouvoir... Tu sais, le hockey, c'est très complexe parce que, un, l'équipement est coûteux, faut se déplacer avec une auto parce que faut avoir l'équipement, faut aller aux arénas, c'est fou, il fait froid... Tout est problématique dans le hockey, tu sais. Et Richard était comme, non, je vais m'en occuper. Il habitait pas très loin de chez moi. Non, je vais le ramasser, tu sais. T'es-tu sûr? Parce que moi, je pourrais pas te rendre la faveur. Non, non, c'est correct. Mm-hmm. Donc, finalement...
Merci, Richard.
Oui, merci, Richard. J'y dois ma carrière.
Mais du coup, c'est devenu vraiment ta passion première à ce moment-là. Est-ce que tu rêvais de faire ça dans la vie? Et est-ce qu'à un moment donné, tu as dû renoncer à ça ou pas spécialement?
Ouais, ben honnêtement, je pense que c'est le rêve de beaucoup de petits... Québécois, Canadiens, qui sont comme « Ah, wow! » Puis le Canadien de Montréal, c'est très fort, hein, comme marque au Québec. C'est comme... C'est plus fort, le Canadien, que le hockey, si je pouvais dire. Même. Parce que le hockey... Le Canadien, c'est énorme. Le hockey au Québec, beaucoup d'équipes à Montréal qui n'ont jamais fonctionné, junior, par exemple, ou des championnats juniors, ou ça, parce que le Canadien est trop fort comme marque. C'est comme... C'est dans l'imaginaire collectif, mais enraciné... C'est depuis tellement longtemps. Donc, oui, évidemment, c'était mon rêve. Puis, j'étais pas un mauvais joueur, tu sais. Mais quand tu vieillis, tu te ramasses dans les catégories les plus. Tu fais, oh, OK. Puis, je me suis arrivé en 13 ans quand je suis arrivé au secondaire, qui est comme après le primaire. C'est quoi en Europe, le lycée ou le...
En Belgique, c'est première secondaire, deuxième secondaire.
Ah bon.
1, 2, 1, 6. Au Québec, je pense.
Ouais, ben.
En France, c'est collège puis lycée. Nous, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6.
OK.
Vous allez au cégep en 6. C'est ça?
Ouais, dans le fond, nous, on a, au lieu d'avoir 6, on a le cégep. Donc, vous, dans le fond, c'est comme le reste du Canada, 12e année qu'ils appellent.
C'est ça.
Donc, je me suis arrivé au secondaire, première année, puis il y avait des joueurs de grande qualité qui arrivaient au secondaire, puis j'ai fait. Oh! Ah, OK. J'ai pas ce qu'il faut. J'avais 13 ans, j'avais 12 ans, 13 ans. J'ai fait, ah! OK, j'étais bon dans mes équipes, mais j'ai pas ce qu'il faut. Comme c'est, ils ont de la barbe. Et je sais les tirs les plus forts que j'ai vus de ma vie. Ils patinent comme le vent. Okay. Puis moi, j'étais très petit. Moi, j'ai grandi très, très tard. J'ai toujours été un late bloomer dans tout, mais j'ai grandi là, pratiquement au cégep là, à 17, 18 ans, 19 ans. Tu sais, ça a été long. Là. J'étais toujours le plus petit dans mes équipes. Puis là, quand ça commence à jouer contact, ça devient un problème, tu sais, parce que là, tu peux pas te défendre. Donc, je me souviens arriver à la première pratique au secondaire et dire, ah, OK, je pourrais pas jouer. Mais je trouve que ça s'est fait quand même en douceur pour quelque chose qui me passionnait autant. J'ai jamais été amer ou j'ai jamais été... Je trouve un peu que ça s'est fait comme le Père Noël. Quand t'apprends la vérité, okay. T'sais, je demande souvent aux gens est-ce que tu t'en souviens quand tu l'as appris, puis souvent les gens s'en souviennent pas parce que je pense que ça se fait comme naturellement.
Moi, pour le coup, je m'en souviens.
Ouais, t'en souviens, ça a été un trauma peut-être.
Mais pas vraiment, mais c'était beaucoup trop tard.
C'était il y a 2 ans.
Hein. Non, quand même pas. Mais je me rappelle vraiment du moment en salle de gym où mon meilleur ami me dit, parle avec un autre pote et dit, bah ouais, de toute façon, le Père Noël, je sais bien, c'est nos parents qui cachent les jouets. Et moi qui suis là, qui écoute la conversation, quoi? Ouais. Pardon?
T'avais quel âge?
J'avais 11 ans, quoi. C'est vraiment tard.
Waouh!
Mais je suis très naïf, moi. Et j'ai vraiment appris ça et j'ai dit, mais enfin. Mais ok. Et tu sais, genre toutes les pièces du puzzle qui s'alignent. Mais je suis vraiment débile, en fait. Depuis tant d'années. Et tu sais, après, parce que c'est la période un peu avant Noël, tu vois. Mm-hmm. Et donc là, Noël est arrivé. Il était nul en comparaison. Tu vois, toute la magie était partie, ouais. Mais c'était tard.
Tu pourrais faire un numéro là-dessus sur ta candeur extrême. T'as appris.
C'est peut-être une bonne idée.
Ouais, il y a quelque chose comme bref. mais non, fait que non, quand j'ai appris, j'ai réalisé ça assez rapidement. Puis j'ai toujours à la blague que quand j'ai assisté à cette pratique-là, je me suis dit, il va falloir que je sois plus drôle que ce que je pensais. Finalement, donc je pense que la transition s'est faite aussi beaucoup à l'adolescence. T'sais, bon, il y a beaucoup de bon, là, identitairement, tu sais, ça se développe. Puis moi, c'est comme si enfant, c'était très, très sport, hockey. Puis à l'adolescence, toutes les portes artistiques se sont ouvertes un peu de ah, attends, la musique, j'ai commencé à jouer la guitare à 14 ans, j'ai commencé à m'intéresser à des groupes, etc. Tu sais, il y a une année en secondaire 4 où j'ai arrêté de jouer au hockey. Cette année-là, j'ai pas joué au hockey. Puis mes parents m'ont pensé que je faisais une dépression. Ils m'ont dit est-ce que t'es correct? Mais moi, en fait, je voulais plus de temps pour
la musique.
Pour faire de trucs que j'avais pas le temps de faire à cause du hockey. Donc, j'ai dit non, ça me tente juste de faire d'autres trucs cette année. Ah, ok, parfait, bon, très bien. Ouais. Mais c'était tellement une grosse partie de ma vie qu'ils se demandaient si. Là, j'ai commencé à faire des spectacles de musique. Juste m'intéresser. C'est un peu là aussi que j'ai. C'est ma curiosité culturelle que mon père avait initiée, mais là, de découvrir plus de groupes, découvrir plus de, tu sais, l'humour, tout ça, de juste me ramasser du bagage. C'est là que ça s'est passé un peu la transition, si on veut, à l'adolescence, vers le côté beaucoup plus artiste que jock, comme on dit, là, sportif. Donc, ouais, voilà.
OK. Et en 6e primaire, tu as écrit ton premier texte humoristique pour Madame Ward.
Oui.
Aucun lien avec Mike Ward.
Non.
Et tout le monde a ri dans la classe. La prof t'a même demandé de garder le texte.
Ouais.
Est-ce que tu sentais que l'écriture, que la scène t'attirait à ce moment-là?
Ah mon Dieu, c'était tellement embryonnaire, honnêtement. Puis tu sais, c'était probablement excessivement mauvais, mais c'était... En plus, c'était même pas dans la classe, c'était devant public. Je pense que c'était devant les parents, puis tout ça. Et j'aimais bien cette professeure-là, Madame Ward. Je sais pas, je serais très curieux de savoir si elle est encore en vie. Ça, mais bref, elle était venue.
Si elle écoute le podcast, elle peut te contacter également.
La salue.
Et t'acheter au passage les mousquetons.
Exact. Je pense que c'était Diane Ward. Et puis, elle était très gentille. Puis, elle nous encourageait beaucoup dans nos trucs. Puis, je me souviens juste, ce qui m'impressionne le plus, en guillemets, impressionné, mais qui me surprend, c'est que j'avais vraiment le désir d'écrire un texte, alors que j'avais comme 11 ou 12 ans. Puis je me suis même dit, ah, là, un truc, ouais. Puis je me souviens être assis, il me semble, sur la table de la salle à manger, puis d'écrire ces trucs-là, puis pendant que ma mère fait à manger, puis avec, tu sais, une candeur, parce que, tu sais, aujourd'hui, on regarde ça en rétrospective, parce que là, je suis humoriste, on fait à rebours, mais à l'époque, c'est comme, OK, tu sais, pourquoi t'écris un truc pour ça? Puis tu sais, c'était pas très long, là, c'était probablement quelques lignes, avec quelques clins d'œil, mais je pense aussi dit dans la bouche d'un enfant de 12 ans, il y avait quelque chose d'un peu drôle, cute, là, tu sais, en rétrospective. Puis elle, ça l'avait très touchée, puis elle m'avait dit, non, tu me donnes le texte, moi je garde ça, tout ça. Puis on était resté en contact quelques années, justement, puis bref. Donc, mais oui, ça, c'est des affaires comme ça qui arrivent. Toi, là, tu me rappelles, très bonne recherche, encore une fois, je sais pas où j'ai mentionné ça, mais tu sais, c'est comme... j'ai retrouvé aussi dans mon ménage, là, à côté de la bibliothèque, derrière, j'avais écrit un sketch aussi, je pense, cette année-là, puis c'est la première fois que j'écris un sketch de ma vie, tu sais, puis je l'ai encore, mais tu sais, c'est des choses que, tu portes pas beaucoup d'attention, tu portes pas, t'accordes pas beaucoup d'importance à ça quand ça se passe, tu fais juste le faire, puis tant mieux, parce que c'est la magie. Mais c'est en rétrospective que tu te dis, oh mon Dieu, je me souviens, j'avais écrit ce sketch-là, ça avait fait beaucoup rire mes collègues, j'avais eu un sentiment d'approbation, puis ça, c'est des petits, des micro-succès qui nourrissent la possibilité que... Tu comprends? C'est comme ça un peu que tu te construis, puis après ça, bon, le numéro de Madame Ward, puis là, j'imagine que je vais pas y venir, mais j'allais dire, au secondaire, il est arrivé un autre numéro qui par hasard, puis donc, c'est tout ça qui, j'ai l'impression, sont les espèces d'étapes qui m'ont mené à un jour essayer pour l'école de l'humour, tu sais. Parce que bref, fait que oui, c'est drôle que tu me rappelles ça, mais ouais, le Madame Ward, j'avais écrit, comme quoi, il n'y a pas de petits spectacles, tu sais. C'est comme, ça me semblait si banal, tu sais, puis... Ouais. Maintenant, je fais ça, tu sais.
Ça serait génial que le sketch que tu as retrouvé, ce soit le sketch que tu fais mercredi au bordel.
Ah, mon Dieu! Non, écoute, c'était une parodie, je pense, de Notre-Dame de Paris, qui impliquait Dan Bigra et Luc Plamondon. Dan Bigra, c'est un chanteur, puis Luc Plamondon, c'est un auteur. Il écrit des chansons pour Céline Dion, puis... C'était, encore une fois, des marionnettes. C'était avec des marionnettes, c'était pas très bon parce que j'avais 11 ans, mais, mais ça avait la valeur à l'époque que ça avait, donc ouais.
Après, t'as fait ton secondaire au collège privé Jean de Brébeuf.
Ouais, qui est juste à côté ici, pas très loin.
Ah, ok. Ouais. T'as commencé la musique, tu as commencé avec la guitare sur les temps de midi. Tu voulais faire de la batterie, mais ton père t'a dit non.
Non.
Par contre, il y avait une guitare dans le garage qui appartenait à son frère Gilles.
Oui, mon Dieu, c'est stupéfiant. Stupéfiant, ça dit-tu, de détails?
C'est ça. Je sais pas s'il y a beaucoup trop de détails, ouais, mais ça me fait rire de l'impressionnant. J'aime bien le regard de « mais enfin, oui, c'est ça ». Mais c'est marrant parce que maintenant, la guitare, c'est vraiment... Allez, quand on pense David Bocage, moi, je pense guitare. Mm. Donc, c'est marrant que ça te soit devenu un peu ta marque de fabrique alors que toi, tu voulais faire de la batterie.
Ouais, ben, en plus, ma tante, la femme de mon oncle, était là, elle dirait, en fait, c'était ma guitare. J'ai appris des années plus tard. Mes parents disaient, c'est la guitare de Gilles, mais on a appris finalement que c'était celle de Fabienne, sa femme, qui était dans un groupe de musique. Elle dit, non, c'était ma guitare. J'ai fait,
j'ai pas assez bien fait mes recherches, là.
Non, mais en fait, je l'ai appris moi-même des années, plus que 15 ans plus tard. Elle était dans un groupe dans les années 60 au Québec, tout ça. Donc, j'ai fait, waouh, c'était ta guitare, ok. Puis, elle m'a dit, ouais, tu peux l'utiliser. Ça faisait 20 ans que je l'avais, t'sais. Et donc, donc, dans le fond, oui, c'est ça. Ben, la batterie, c'est encore un rêve inassouvi, là, en passant. Tu vois, là, j'ai un piano ici que j'ai monté. Hier, j'ai appris une chanson piano pour la première fois.
Ah, trop bien.
Ouais, parce que ça m'intéressait. Mais j'aime explorer musicalement. Tu vois, là, j'ai un petit keyboard là-bas aussi que je m'étais commandé. Mais la batterie, c'est comme le rythme. Il y a quelque chose de... Il y a beaucoup de... C'est un truc que je vois revenir beaucoup en humour, les batteurs, tu sais, Louis-José, Johnny Carson. Je pense qu'il y a quelque chose avec la rythmique, la musicalité. Bref, des blagues sont très musicales, des fois, dans la rythmique. Mais... ouais, donc mon père était comme non, on n'avait pas de place pour mettre une batterie, c'est beaucoup trop bruyant, c'était impossible. Puis mon père trouvait que c'était pas un instrument assez noble, puis je trouvais ça un peu intense comme statement, mais ouais. Je pense que je comprends ce qu'il voulait dire au sens où c'est pas un instrument que tu peux jouer seul, tu sais.
Oui.
La batterie,
mais tout seul, c'est vrai que ça donne moins bien que dans un groupe.
C'est ça, tu sais, c'est plus il m'a dit une guitare, tu sais, on a fait mettre des cordes, puis je suis quand même content en rétrospective parce que c'était quand même... tu sais, maintenant, je fais des chansons... Tu sais, je compose des chansons. Oui. La portion mélodique, la portion... Tu sais, si j'avais pas joué la guitare, je n'aurais jamais écrit des chansons. Tu sais, ça a été vraiment ma porte d'entrée.
Mousqueton à la batterie, plus compliqué.
Exact, exact. T'sais. Puis le petit mousqueton, ultimement, c'est ça, c'est... Ça m'a mené à
des... J'ai pris vraiment la seule chanson où il n'y avait pas de guitare.
Pas de guitare, mais... Non, mais c'est ça que j'allais dire, c'est que ça m'a quand même mené à la création de chansons qu'après ça, je peux transposer, tu sais, puis après ça, que je peux faire électro, je peux faire ci, je peux faire ça, mais ça m'a quand même développé, tu sais, une partie de mon cerveau de création musicale que après ça, ben quand j'ai l'idée de Mousqueton, je m'envoie en studio chez Pierre-Yves, puis ce que j'entends, c'est ça, puis il dit « OK, on va le faire », mais c'est parce que j'ai ouvert la porte avec la guitare. Tu sais, t'accompagner, chanter à la guitare, tu sais, c'est tout des trucs... qui vont mener à mon premier... J'imagine que tu vas m'en parler, tu connais ma vie mieux que moi. Mais ça a quand même été un point marquant. Puis des fois, j'y repense aujourd'hui, je suis mon Dieu, tu sais, si je jouais pas de guitare, je pense à mes chansons, je pense à tout ce que j'ai fait, je suis comme, mon Dieu, il y aurait rien de ça. Donc, c'est un peu épeurant, mais
Grosse. Donc, on remercie maintenant ton papa.
Ouais. D'ailleurs, mon professeur de guitare sur l'heure du midi, il s'appelle David Bussière, dont la sœur était très connue, Pascal Bussière, qui est comédienne. Et David Bussière, il fait partie d'un groupe qui s'appelle Alpha Rococo aussi, par la suite, qui a eu beaucoup de succès sur les radios québécoises. Fun fact, je le lance, voilà. Et je le salue.
Tu l'as dit, t'as jamais été très scolaire. T'as même quitté ta remise de diplôme en secondaire pour aller voir Arctic Monkeys.
Oui, exact.
Alors que tes parents, eux, sont restés.
Oui, à l'image de mon éducation, c'est-à-dire que mes parents étaient plus volontaires que moi.
Mais c'est au secondaire que tu fais ton premier numéro d'humour dont on parlait. T'as écrit une chanson pour un directeur qui part à la retraite. Une chanson qui s'appelle Sweet Dennis.
Sweet Dennis, oui.
Dans laquelle tu roastes ton directeur. Comment s'est passée ta première scène, du coup?
J'adore, comme je suis en train de faire un podcast avec un Belge qui me dit « Donc, tu écris la chanson Sweet, Denis? » Tout ça est surréel. Excuse-moi, ta question, c'était?
Comment s'est passée ta première scène?
Ah, mon Dieu, écoute, c'était encore une fois, des moments clés dans ma vie, mais improbables, qui ont failli pas avoir lieu. Mais alors là, ça, c'est mini jeunesse, c'est que j'avais commencé dans un party avec des amis. On était chez un ami, puis je pense qu'on prenait une bière, puis j'ai commencé à jouer ça comme un peu à la blague. Puis c'était pas complété du tout, là, c'était comme un fragment d'idée. Puis quelqu'un m'a dit « Non, non, tu dois absolument faire ça. » Puis tu sais, si c'était pas arrivé, puis qu'est-ce que je faisais avec ma guitare à ce soir-là, fouille-moi. Mais là, pour ça, j'ai complété la chanson, puis je pense que quelques amis m'ont aidé avec quelques paroles. Puis finalement, c'était pour un talent show qui était, je pense qu'on était supposé ramasser de l'argent pour Centraide, pour une fondation. Puis le spectacle avait tellement pas vendu de billets que le spectacle avait perdu de l'argent. Okay. Donc on était devenu notre propre cause. Et finalement, oui, non, écoute, ça avait été super. J'avais embarqué mes amis. Donc on avait fait un full band. Mon ami batteur, un ami à la basse, un ami au keyboard. Et on avait fait de la chanson. Puis écoute, c'est un moment très particulier. Je me revois dans les coulisses là, t'sais, de la salle de spectacle de mon secondaire. Puis tu sais, je m'en fais une chanson, c'était un peu une chanson roast aussi, tu sais, il y a quand des blagues au deuxième degré, là, j'étais, mon Dieu, vas-tu comprendre, on va-tu avoir des problèmes ou peu importe, mais tu sais, avec l'espèce de canevas de la musique, puis écoute, pendant la chanson, il riait vraiment fort, les professeurs, il y avait quelque chose de très satisfaisant, les professeurs trouvaient ça très drôle aussi, puis ils étaient conscients aussi que le directeur en question était un peu un personnage. Donc, non, ça avait été extrêmement grisant comme moment. Je vais t'avouer, j'étais quand même très nerveux. Puis je pense que j'ai trouvé quelque part une fois une photo de cette affaire-là. Je sais pas où, mais c'est comme... ça a vraiment été l'élément là, déclencheur de... Pas déclencheur, mais très, très point tournant de « wow, OK ». Parce que j'aurais jamais eu le courage de faire du stand-up, tu sais, ou des trucs comme ça. Tu sais, ça demande... beaucoup de courage à 16 ans d'aller faire des blagues à sec qui marchent pas, puis très bizarre. Donc la chanson, ça m'a comme permis, c'était comme un genre de lubrifiant comique, ok, ça, cette joke-là, ça marche pas, la toune continue. Puis, donc non, ça avait été vraiment particulier, puis je l'avais senti pour moi, mais je l'avais senti aussi dans le regard des autres, puis ça c'était particulier de revenir à l'école, puis que... un autre directeur me fasse une blague. Il est comme ça, hein? Puis j'étais comme, hein, quoi? Puis il faisait référence à la chanson qu'il avait vue, puis mm-hmm. Il avait aimé ça, mais tu sais, de voir le rapport qui change, puis ok. Puis des profs qui viennent me dire, j'ai jamais ri comme ça, tu sais, ça c'est hilarant, blablabla. Puis mes parents étaient là, mes parents étaient à ce show-là, donc, puis je me souviens, mon père m'avait laissé un long message sur le répondeur, comme, waouh, c'était vraiment cool. C'était vraiment toi, puis c'était un message très, très senti où il parlait de la réaction du public, comment il a senti que j'avais... qu'il y avait une écoute, tu sais, puis qu'il y avait... Quelque chose s'est passé ce soir, tu sais, il y a eu une étincelle, il y a eu une petite magie, puis il voulait juste s'assurer, tu sais, je l'ai vu, tu sais, on l'a vécu, puis je me souviens, je pense qu'il s'en allait en Gaspésie, puis il m'a laissé un long message sur le répondeur, ma mère m'a dit un message pour toi, puis c'était un message... où il parlait de ça, puis il reconnaissait mes influences, oh, les trois accords, ta-ta-ta-ta, puis il y avait un peu de ci, il y avait un peu de ça, puis comme quoi, tu sais, en tout cas, donc ça aussi, ça m'avait beaucoup marqué, de, OK, je suis pas fou, là, tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé ce soir-là, il y a eu une étincelle de quelque chose qui fait dire que c'est peut-être possible, ou j'ai peut-être le millième de... peut-être ce que ça prend pour peut-être faire ça. Donc, ça a été un élément qui m'a beaucoup marqué. Puis, tu sais, ultimement, tu sais, j'étais encore très jeune, là, j'avais peut-être 16 ans, j'étais encore au secondaire. Donc, tu sais, j'ai pas commencé à faire de l'humour le lendemain, puis faire des bars, puis faire des. Tu sais, OK, je m'en vais à l'école de l'humour, tu sais, c'était pas ça, mais ça a quand même.
ça restait en arrière de ta
tête. Ouais, tu sais, c'est comme des piliers fondateurs de waouh, ok, puis c'est probablement aussi d'avoir la tu sais, le fait qu'un de tes parents aussi te donne l'approbation, ça a sûrement aussi eu un rôle inconsciemment, mais ouais, ça a été vraiment quelque chose qui m'a marqué positivement, puis qui a été un genre de point tournant.
Mais c'est chouette de te voir le raconter, parce qu'on revoit les ouais. émotions un peu...
Ouais, c'est vraiment... ouais, c'est quelque chose.
Ouais, c'est chouette de pouvoir faire en direct, parce que j'ai les épisodes québécois, mm-hmm. habituellement, je suis à distance.
Ouais.
Donc là, c'est chouette de pouvoir le faire en direct. C'est
mon petit les gens ne voient pas, mais on n'a pas de pantalon.
J'allais préciser que c'est faux, mais...
mais les gens ne nous croiront pas.
C'est ça.
Ils savent détecter la vérité.
Au cégep, après le secondaire pour la Belgique et la France, le cégep c'est entre mm-hmm. le secondaire et l'université. C'est quelque chose qui n'existe pas en Europe et en France.
Qui n'existe même pas au Canada, hein, c'est seulement au Québec.
Juste au Québec.
Ouais.
C'est vraiment pour tester des choses entre l'université, entre le secondaire et l'université.
Si ouais, c'est, ça se veut d'une part pré-universitaire si tu prévois l'université ou. Mm-hmm. Formation professionnelle si tu penses apprendre un métier. Donc, okay. si tu veux faire plomberie, si tu veux faire électricien, si tu veux faire une technique, tu l'as fait en 2-3 ans, infirmière, tu peux faire ça.
Okay.
Donc, si, mettons, tu peux faire ça au cégep, puis après ça, aller sur le marché du travail. Donc,
okay.
c'était le cours 101 du cégep pour les gens qui écoutent.
Merci beaucoup. Mais c'est au cégep que tu fais de l'improvisation pour la première fois? Ce que ouais. tu n'avais pas fait en secondaire et tout ça, parce que et en plus, tu n'avais pas les codes quand tu as commencé à en faire.
Ouais.
Est-ce que ça t'a plu? De faire de l'improvisation?
Oui, ben honnêtement, c'était... Moi, c'est quelque chose que je regardais à la télé, on avait ça. Hein. Okay, ils mettaient ouais. ça à la télé, Télé-Québec, la LNI. C'était des grosses années, la LNI, puis c'était très populaire. Et j'étais « waouh! » Puis je me suis sur l'air 1, 2, dire « ah, j'aimerais ça commencer », mais c'était pas un, comme je l'ai dit, j'avais un secondaire où là, il y en a maintenant. T'sais, aujourd'hui, il y a de l'improvisation dans mon secondaire, mais à l'époque, c'était comme « non, il n'y a pas d'improvisation ». Donc, je me souviens que je voulais vraiment commencer à en faire plus jeune, puis j'avais pas eu l'opportunité, puis là, mais tu sais, entre 13 et 17 ans, là, tu changes beaucoup, tu sais. Donc mm-hmm. là, il y a beaucoup plus de conscience de soi et d'égo dans le sens où t'es comme, wow, là, OK, il faut que j'aille faire ça, mais j'en ai jamais fait. Puis t'es très inconfortable, t'es très, comment dire, t'es pas sûr du tout. Très stressant. Donc, j'avais commencé à en faire au cégep, mais tu sais, souvent, les gens arrivent, mettons, des Arnaud Soli, ça fait de l'impro depuis que ça a 13 ans, ça torche, tu sais, le monde arrive du secondaire, ils connaissent le monde de l'impro, ils connaissent les règlements, les catégories, les... Donc moi, j'en avais vraiment pas fait, mais je me suis pointé au camp d'entraînement. J'ai été pris avec mon ami Julien. On est allé là un peu la dernière minute à la blague, puis on s'est ramassé à être pris. Puis je suis comme, OK. Fait que là, on en a fait un peu. Tu sais, j'en garde quand même des bons souvenirs, parce que c'était quand même un moteur créatif très fort. L'impro, tu rencontres beaucoup de gens aussi. Tu sais, la première fois que j'ai rencontré Arnaud Soli, c'était dans des tournois d'impro. Puis tout ça, donc c'était cool, mais j'étais pas... tu sais, je le dis avec vraiment sincérité, là, j'étais pas très bon, là, tu sais, je veux dire, j'étais... Mais ça te force à jouer, à écrire, puis à faire ta propre mise en scène, ce qui est quand même une école assez formatrice. Donc, ouais, je l'ai fait, tout ça. Puis, c'est que moi, j'avais un rapport un peu particulier à l'impro, parce que c'est comme un micro-star system aussi, l'improvisation, donc c'est très particulier. La Ligue de l'improvisation collégiale au Québec, c'est, si je ne me trompe pas, la plus grosse ligue d'impro au monde.
Okay.
Parce que, tu sais, l'impro, évidemment, c'est pas partout qu'il y en a, puis il y a beaucoup de cégeps au Québec, il y a, tu sais, différentes ligues, le Pamplemousse, Tangerine, tout ça, fait que c'est comme très big, mais dans un contexte très petit, fait qu'il y avait beaucoup de... C'est ça, il y a comme un star system de l'impro.
Okay.
Ça, j'aimais moins ce côté-là, tu sais, les dans les tournois, tout ça, puis j'étais pas vraiment dans cette gang-là, fait que c'est pour ça que pendant quelques années après, j'étais un peu comme, ugh, l'impro, tu sais, comme, parce que ça m'avait un peu marqué négativement, mais aujourd'hui, ça me fait beaucoup rire, parce que je fais comme, tu sais, c'était des enfants de 17 ans, 18 ans, 19 ans qui expérimentaient, tu sais, c'est une forme de pas de fame, mais de point, il y avait comme un côté très... Fait que ça, c'est un peu drôle en rétrospective, mais ça me parlait moins de l'impro, fait que c'est pour ça que ce côté-là de l'impro me parlait moins, mais la portion créative, la portion artistique de ça était quand même m'a quand même apporté des choses que m'a certainement apporté beaucoup plus de choses que ce que j'en prenais conscience à l'époque, ça c'est sûr.
Ok, mais c'est encore une fois un élément qui s'ajoute à la chanson,
exact.
À tout ça qui font que tout doucement t'avances vers la scène. Et autre élément, après tu passes 3 mois à Vancouver,
ouais,
et t'écris des gags sur ton colloque, t'as même acheté des carnets de notes,
ouais. Absolument.
Est-ce qu'à ce moment-là, tu commençais à envisager d'être humoriste ou...
Je parle, ben, c'est drôle parce que visiblement, il y a des il y a des choses qui se placent dans mon parcours. On dirait que venant de toi, c'est plus clair, on dirait de plus en plus clair. Mais parce que t'as comme épuré, t'as comme gardé les éléments. Fait, ah, c'est vrai, une chose mène à l'autre. Mais ouais, écoute, ça, c'est, j'habitais avec mon ami Julien Rion, mais qui habite pas très loin.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
C'est encore derrière, puis qui je parle encore, qui... ben oui, qui, on habite, écoute, on avait 19 ans, on habitait à Vancouver, deux jeunes cons, on travaillait, ça, puis on vivait notre vie, puis il me faisait tellement rire, Julien, je pense que pour les humoristes, tout le monde sont des personnages, puis tout est comme observable. Fait, c'est la première fois de ma vie où j'ai acheté un cahier de notes pour vraiment prendre des notes, parce qu'il disait des choses, il faisait des choses qui me faisaient tellement rire. Je me disais, mon Dieu, mais je peux pas oublier ça, tu sais, comme... Je donne un exemple, mais tu sais, après souper, il sortait dehors puis il essayait de commencer à fumer. Il était comme, ah, j'essaie de commencer. J'aime pas vraiment ça, mais tu sais, je trouve que ça a de la classe. Il magasinait par paquet de cigarettes. Je trouvais que des paquets beaux. Il voulait que son... Je vais prendre ce paquet-là parce que je trouve qu'il est beau, le Camel, tu sais. Il faisait rire, tu sais, puis il disait des choses. Puis on était très différents, tu sais. Moi, j'étais comme bordélique. Lui, il était très tidy, là. Il était très propre, puis tu sais, fait qu'il y avait beaucoup de clash, mais pas négatif, mais juste qui faisait que ça donnait des situations un peu comiques. Fait que j'avais acheté un premier cahier où je notais des notes, puis tu sais, ultimement, je sais pas où ça allait mener, mais tu voyais qu'il y avait déjà une genre de pulsion de création humoristique là-dedans. Puis c'est drôle que tu me parles de ça, parce qu'en fait, j'étais jamais retourné à Vancouver depuis cet été-là, 2008, puis je suis retourné à l'automne 2021, et ça faisait 13 ans, puis je suis retourné un peu à travers où j'habitais, puis où j'ai travaillé. Puis je me suis même booké un show à Vancouver. Okay. Pour moi, c'était comme, tu sais, c'était pour le fun, c'était sans prétention, puis c'était une petite soirée d'humour, mais je trouvais ça drôle de revenir 13 ans plus tard à l'endroit où, je veux pas dire où ça a commencé, mais où j'avais comme, où j'ai acheté mon premier cahier de notes, tu sais. Donc pour moi, de revenir, de faire un show en anglais, c'était un peu spécial, puis ça avait été super agréable, tu sais. Mais ouais, c'est drôle, mais oui, c'est là que ça a commencé à prendre des notes d'affaires qui me font rire.
Après, t'es allé à l'Université de Montréal, t'as fait une mineure en arts et sciences, mais tu détestais ça profondément, l'université?
Ouais, mais j'avais pas de direction, j'avais aucune direction, je savais pas ce que je voulais. C'est des années très très floues dans ma tête, parce que, puis pas parce que j'étais sur le party, mais bien parce que j'ai...
pris de la coke.
Exactement, j'ai fait des drogues dures. C'était avant que la kétamine soit à la mode, j'étais dans les précurseurs. Non, au contraire, c'est comme si mon cerveau était en mode self-preservation, là, autodéfense. Donc, écoute, j'étais dans un genre de flottement où t'es comme, en anglais, le mot c'est numb, là, tu sais, comme, t'es comme un peu anesthésié, un peu comme... gelé, mais pas au sens drogué, gelé au sens je sais pas trop, ouais, c'est pas. J'étais comme dans un entre-deux très particulier. Je me souviens, je regardais les épisodes d'une vieille série qui s'appelle Lance et Compte. Ah, t'as ça. ça me faisait rire, puis ça m'a sauvé. J'allais à l'école, à l'université, puis j'ai vu que je savais pas ce que je voulais faire. Je me suis dit, bon, je vais art et sciences, mais tu peux prendre des cours en tout. Donc, tu peux prendre des cours de communication, tu peux prendre des cours de psychologie, de cinéma, tu peux faire un peu tout essayer. Fait que là, j'ai fait cette première année-là. Puis je fais « OK, on va faire ça ». Puis là, après ça, je me dis « Ah, faut que j'aie un champ d'expertise. Là, je vais aller en cinéma ». Fait que j'ai fait une majeure. Mais tu sais, c'était très théorique à l'Université de Montréal. C'était, le nom du programme, c'est « Études cinématographiques ». Et c'est le cas de dire « C'est études ». Donc, il n'y a pas de... Je pense que si t'es au bac, tu peux faire un projet de création. Mais tu sais, moi, je voulais écrire. Puis, c'était juste... encore plus clair que ce que je voulais faire, c'est de la création. Puis là, tout ce qu'on faisait, c'était étudier les mouvements, les courants, ce qui est très cool, mais à un moment donné, t'es comme...
Tu veux faire, quoi. Tu veux être dans l'action.
Exact. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, c'est ça, c'est des années un peu... tu sais, dans les musicographies, après la pause, l'enfer, les années perdues, les années noires, ou l'enfer de la drogue. Moi, ça n'a pas été la drogue, ça a été genre, l'université, cette période un peu nébuleuse. Puis j'en parlais avec plein d'amis, puis tu sais, t'as reçu Simon Gouache au podcast. Tu sais, c'est un truc qui revient souvent de fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. T'as comme l'impression d'être en retard sur tout le monde parce que, mais tu sais, maintenant, à l'âge que j'ai aujourd'hui, en rétrospective, là, début trentaine, je suis comme, mais oui, mais c'est normal, tout le monde. Tu réalises que la plupart du monde qui disent, qui savent qu'est-ce qu'ils font au début vingtaine, ils font en semblant. Ils sont comme, ouais, non, je le sais. Mais certains le savent, là, puis tant mieux pour eux. T'sais. T'as des Xavier Dolan qui sont à Cannes à 20 ans, puis tu fais, lui, il savait ce qu'il voulait. T'sais. Parfait. T'sais. Mais c'est normal aussi d'être comme, hey, j'ai 20 ans, je sais pas ce que je suis, je sais pas ce que je veux. J'ai 20 ans. Mais quand t'as 20 ans ou 21, 22, peu importe, tu te dis, ah non, je suis vieux. N'étais pas vieux, tu sais. Donc, c'est ça, c'est ce que j'ai dû vivre pour... c'était mon passage obligé pour le reste.
Mais tu connaissais Simon Gouache, qui était à l'école avec ta sœur, et tu savais qu'il avait fait l'École nationale de l'humour. Tu l'as contacté pour aller le voir en show, et tu t'es dit que tu devrais faire ça aussi. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'École nationale de l'humour?
Je pense que c'était une manière de légitimiser... pour moi, pour... parce que si tu dis, je fais de l'humour, c'est comme là, il faut que tu ailles dans les bars, faut que tu ailles... tu sais, il y a quelque chose avec l'école de l'humour de très formel, pas formel, mais très protocole. Tu sais, je te l'ai dit, moi, je suis allé à des écoles privées toute ma vie, tu sais, donc j'étais très encadré. On dirait que j'étais très habitué au cadre scolaire. Même si j'étais pas académique, j'étais habitué au cadre scolaire. Puis je pense qu'il vient avec ça une certaine sécurité. Et je pense que l'école de l'humour, ça m'amenait ça. Puis Simon, ben, ça m'amenait ça en tout cas dans ma tête avant d'y aller. Puis une fois que t'es là, après ça, c'est à toi de faire ce que tu as à faire. Mais Simon, pour moi, c'était le contact humain avec l'autre, pas l'au-delà, là, c'est trop fort, mais avec un monde que je ne connaissais pas. T'sais, Simon, c'était comme, ah, OK, il y a quelqu'un que je connais qui l'a fait. Donc, il faudrait que je lui demande, tu sais, ça se peut-tu? Puis Simon... je pense, ça, il faisait un spectacle, puis j'avais écrit, puis j'étais allé le voir, puis là, ça m'avait vraiment rappelé. Ah oui, c'est vrai, c'est ça que je veux faire, tu sais. Puis là, un peu derrière la minute, je m'étais inscrit, puis ça avait fonctionné. Mais ouais, je pense que c'était comme, si j'avais quelque chose à dire à mes parents, si j'étais accepté à l'école de l'humour, tu sais. Je peux dire, je suis accepté à l'école de l'humour, puis ils sont comme, ah, it's a real thing, c'est vrai, tu sais. C'est... Alors que si tu dis, ouais, je suis à l'université, je veux faire de l'humour. OK, par où tu commences?
Ouais, comment tu vas faire?
Exact.
Quel est le chemin, quoi?
Exact. Donc, l'école de mots, c'est comme, ah, OK, non, OK. Tu sais, Simon, sa mère était bien avec ma mère. OK, moi, Simon, tu sais, puis l'école de mots, c'est très connu au Québec, évidemment. Donc, c'est comme, ah, OK, tu sais, OK. Il essaye de quoi? Il essaye d'autre chose, tu sais. Mais il y avait au moins, tu sais, puis probablement que mes parents, s'ils avaient fait des bars, ça, peut-être ça aurait été correct aussi, tu sais. Mais je veux dire, je pense que c'était pour peut-être me rassurer ou quelque chose.
C'est plus facile, quoi.
Puis t'es pris en charge aussi, tu sais. C'est comme, ben, tu rentres à l'école de l'humour, donc. Tu as un cours de création par ici. C'est vraiment un cadre. Puis, je pense que ça m'a comme peut-être soulagé. Ou en tout cas, ça m'a rassuré. Ouais, je pense que c'est le bon terme.
Mais tu avais fait des auditions pour l'école une première fois.
Ouais.
Auxquelles tu n'avais pas été pris.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'avait manqué cette année-là?
Je pense que, c'est drôle, on en a parlé tantôt au début. Je pense que j'avais peut-être. Surréfléchi la chose, peut-être. Tu sais, tantôt, on en parlait, ça prend des cadres, ça prend un peu... pas ça prend des cadres, ça prend des deadlines. Je pense que j'avais peut-être eu trop de temps pour réfléchir.
T'sais. OK, ouais.
J'avais fait un numéro, à l'époque, c'était sur... c'était un peu sur le jeu. Mais le sujet, tout ça, je trouve, ça me fait encore... je vois encore le potentiel que j'y voyais à l'époque, mais c'était sur le tout ce qui était, tu sais, ça dénote de l'âge que j'avais. J'avais quoi, 20, 21. Mais, tu sais, sur Saint-Laurent, à Montréal, le monde allait clubber à l'époque. Il allait dans les clubs, tu sais. Puis c'était vraiment un truc très populaire que j'ai toujours trouvé excessivement... le terme, je pense que ringard, là, c'est le bon terme. Puis c'est les gens, ils s'habillaient, puis ils se croyaient, puis il y avait des fils devant les clubs, les gens achetaient des bouteilles. C'était comme tout un écosystème qui était un peu... qui me faisait beaucoup rire, je trouvais pathétique, en fait. Puis les gens disaient, ah, on va clubber. Puis moi, j'étais zéro dans ce truc-là, mais je m'étais déjà ramassé dans un club, sur un whatever, avec des amis, parce que t'as 19 ans. Puis ça me faisait tellement rire, puis j'avais écrit un truc là-dessus. Mais, tu sais, puis je me souviens, Simon m'avait un peu guidé, il avait pas écrit rien, mais il m'avait un peu guidé sur, bon, voici ça. Puis il m'avait dit, tu sais, oublie pas ce qu'ils cherchent dans ton audition. Tu sais, oui, ils vont évaluer l'efficacité humoristique, puis la proposition, tout ça, mais ce qu'ils cherchent, c'est quoi ton essence? Tu sais, ils veulent voir qu'est-ce qui est toi. Qu'est-ce qui est toi, tu sais, puis là, quand tu fais ça, quand tu joues de telle manière, ça, c'est vraiment toi, tu sais, garde ça. Mais tu sais, je pense que j'avais un peu trop, réfléchi le truc, puis je pense que c'était vraiment pas assez drôle. Puis, ce qui est arrivé, c'est que là, j'ai été refusé de la première audition. Donc, tu sais, j'ai pas accédé à la deuxième ou rien de ça. Puis là, j'ai fait comme, ah, OK, bon, OK. Et là, mais ça, j'avais dit à mes parents, tu sais, aussi, j'avais dit à mes parents, OK, je vais prendre, parce que j'avais arrêté l'université pour me préparer. Mm-hmm. Tu sais, j'avais vraiment mis l'enfance. Fait que là, les gens savaient aussi dans ma famille. Donc, j'avais aussi cette pression-là inconsciente de, il va falloir que je leur dise si je suis pas accepté. Ah, fuck, je suis pas accepté. Donc, l'année d'après, je m'étais dit, ah, mais non, je vais pas faire l'école de mots, je vais finir mon bac, puis après, j'essaierai. Mm-hmm. Mais finalement, j'ai vu le show à Simon dans la minute.
À Saint-Cyboire.
Au Saint-Cyboire, qui est brûlé depuis, qui n'existe plus, mais qui était le premier bar où il y avait des soirées à l'époque. Et je n'ai pas dit à personne. Puis j'ai juste. J'avais pris des cours aussi du soir à l'école de l'humour à l'automne. Donc j'avais peut-être écrit quelques gags. J'avais peut-être. Puis à la dernière minute, j'ai décidé d'envoyer mon truc. J'étais même en retard, puis j'avais renvoyé mon enveloppe. En tout cas, peu importe. Finalement, elle m'a donné un spot. Écoute, je ne sais pas, je pense que c'était un lundi que. Suzanne Murphy, la secrétaire, m'avait appelé, m'avait dit là, jeudi, j'ai peut-être un moment. On était un lundi, là. Tu sais, j'ai pas de numéro, puis j'étais complètement zen. J'ai dit, ah, pas de problème. J'avais tellement rien à perdre. Tu sais, j'étais tellement pathétique à l'université que j'étais comme ça peut pas être pire que ma vie en ce moment, probablement okay. Inconsciemment. Donc, j'ai dit, ouais, jeudi, c'est parfait. Puis je me suis raccroché ici, là, dans le salon juste ici de l'appartement, raccroché le téléphone, et après avoir déposé le téléphone, ramassé ma guitare. Puis. J'étais dans le parfait mood de création, c'est-à-dire que j'étais en mode jeu. Je m'amusais avec des idées, j'avais aucune pression. Okay. Je prends ma guitare, puis j'ai commencé à faire un riff de guitare qui, finalement, est le riff que j'avais gardé pour l'audition. J'avais trouvé quelque chose de très bien que j'aimais, tu sais. Puis là, je m'étais dit, bon, le truc est dans 3 jours, donc j'ai pas le temps d'écrire un numéro comme une histoire. Je vais faire des liners. Je vais faire des blagues, puis je vais faire des liners à la guitare. Tu sais, j'aimais beaucoup Zach Galifianakis à l'époque qui faisait des blagues au piano, donc je me dis, ah, je vais faire des blagues à la guitare. Ok, je vais prendre mes meilleurs gags sur le soir, je vais en écrire des nouveaux. Puis j'étais, honnêtement, j'y repense, c'est ça qui était drôle, j'étais pas particulièrement stressé. Puis là, je peux mettre un aide-mémoire sur le dessus de ma guitare, donc si jamais je sais pas ce qu'on va prendre. Tu sais, donc c'était comme, ok, cool, je vais faire ça. Puis j'avais même un ami qui m'avait laissé son auto qui était parti à l'aéroport, fait que je m'étais rendu à l'audition en auto avec ma guitare, donc tu sais, j'étais pas arrivé en métro, j'avais chaud, tout ça, j'étais arrivé comme. Très tranquille, d'avance. Puis, je me souviens, je pense que j'avais même improvisé un petit bout dans mon audition tellement que j'étais détendu. Puis, personne savait que j'étais là. J'avais rien à perdre. Puis, finalement, j'ai été pris à la deuxième audition, qui était en avril. Et puis, je me suis pointé là. Puis, il y avait, dans mon journée d'audition, il y avait un gars qui s'appelait Jérémy du Temple-Quirion. Il y avait une fille de l'Ontario qui s'appelait Catherine Levac. Jay, puis moi, on avait tout de suite parlé un peu, puis tout ça. Alors, on avait connecté. Donc, ça a été la deuxième journée d'audition. Puis, à un moment donné, j'étais dans cette pièce-ci, parce que mon bureau était ici à l'époque. J'ai reçu un courriel de l'école de l'humour, puis j'étais comme, oh non. Là, je voulais pas l'ouvrir parce que je ne sais si jamais. Puis là, j'ai fini par l'ouvrir. Puis ça disait, félicitations, vous êtes accepté à l'école nationale. Puis j'étais comme, oh mon Dieu. Puis mes parents étaient tellement pas au courant. J'ai forwardé le courriel à mes parents. Puis ma mère a dit, ah, t'as accepté à des cours du soir? C'est quoi? Puis j'ai dit, non, je suis accepté en fait à l'école de l'humour. Hein? Mais là, elle essayait de comprendre. Elle savait même pas que je faisais des auditions, tout ça. Donc, c'est ce jour-là qui a été le début du reste de ma vie.
Tu l'as dit dans pas mal de podcasts, mais t'es super content de pas avoir été pris la première fois parce que tu t'es retrouvé dans la cohorte avec tes meilleurs amis.
Ouais, absolument.
Donc tu l'as dit, bah il y a Jay Dutemple, Catherine Levac, Sam Breton qui sont devenus vraiment tes amis encore maintenant, avec qui tu as travaillé énormément après aussi, tu as fait leur première partie, tu as écrit pour eux. Mais qu'est-ce qui fait que ça a cliqué entre vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes si bien entendu dès le départ?
Ah, c'est bien honnêtement, c'est ce genre d'affaires qui sont durs à expliquer, tu sais, c'est comme un peu ça se passe ou ça se passe pas, tu sais. Puis je pense que on arrivait de background tous très très différents, mais on avait, je pense que on avait des valeurs communes. Mm-hmm. Puis on avait des, tu sais, Jay arrivait du cégep, il était quand même assez jeune, il avait 19-20 ans, il arrivait du sport, donc nous très rapidement on a connecté sur le hockey parce que c'est un gars qui joue au hockey. Sam Breton arrivait de la région, travaillait dans une épicerie, il animait des mariages. Il arrivait avec une ambition puis une fougue qui était... il savait où il s'en allait, là, tu sais. Puis l'école, ça aurait pu durer un an, puis c'était assez pour lui, là, tu sais.
Ouais, lui, il disait pas de plan B. Je l'ai eu dans le podcast.
Ouais.
Et il disait pas de plan B. C'est l'humour ou sinon, c'est 2 balles dans le nuque. Et...
Ouais, ouais. Mais je pense qu'à l'époque, Jay avait dit, c'est quoi ton plan B? Il avait dit, mon plan B, jouer aux cartes avec Jésus. Et j'étais comme, hey, con. Ce qu'il voulait dire, 2 balles dans le nuque. Et donc, Catherine arrivait de l'université avec une, en littérature, avec, en pensant aller à la maîtrise. En création littéraire et finalement en rentrant à l'école de l'humour. Donc, tu sais, puis moi, j'arrivais à l'université de Montréal. Donc, moi, je venais de Montréal. C'était très hétéroclite, mais on était comme, c'était comme un timing dans nos vies où on était au même endroit, là, tu sais. On arrivait, puis, tu sais, on se rencontrerait aujourd'hui, ce serait probablement, on serait sûrement amis, mais ce serait différent, tu sais. Là, c'était des années tellement, tu sais, des années charnières dans nos parcours, dans nos, autant identitairement qu'artistiquement, tout ça. Donc, c'était comme le perfect storm, puis, tu sais, dans notre cohorte aussi, il y avait des Mehdi Boussaïdan, il y avait beaucoup de talent quand même. Donc, ouais. Donc, c'est ça qui fait qu'on s'est rencontrés, puis qu'on est encore amis aujourd'hui parce qu'on s'apprécie, puis je pense qu'on a des valeurs communes.
Ben, j'ai eu Sam Breton et j'ai eu Catherine Levac. Je pense que les deux t'ont recommandé toi dans l'épisode. Sam Breton, je vais voir son spectacle samedi à l'Olympia. J'ai hâte de le voir.
Puis appel. Ouais. Très hâte que tu m'en donnes des nouvelles, mais ouais, je suis pas inquiet.
Moi non plus.
Je pense qu'on était beaucoup dans la collaboration aussi. Puis je le mentionne parce que ça peut arriver dans des contextes comme ça où des fois les gens deviennent en compétition. Mm-hmm. Et c'était pas notre cas. C'était vraiment pas notre cas. Je pense qu'on était aussi... On est très différents dans nos styles. Puis on en était conscients. Puis personne se sentait menacé par personne d'autre, tu sais. Personne n'a jamais mélangé Jay du Temple pour Sam Breton ou pour moi ou pour Catherine, tu sais. On avait nos identités claires. Puis on s'est beaucoup aidé, je pense, là-dedans. Pas nécessairement dans l'écriture, tu sais. Bon, oui, j'ai travaillé avec Catherine ou des trucs comme ça, mais... Plus on s'encourageait dans un moment, tu sais, c'est très difficile de commencer en humour, là, tu sais, je veux dire, c'est beaucoup d'échecs, c'est beaucoup de rejets, c'est beaucoup de doutes, donc c'est beaucoup d'incertitudes, donc je pense qu'on était, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont fait le cas de l'humour, puis il y en a qui me racontent de l'expérience positive de collaboration, puis des fois tu entends, ah non, nous c'était très compétitif, donc il y a ce côté-là, nous je pense que c'était... On voulait bien faire, mais on voulait tous être bons, évidemment. Je pense qu'on prenait tous ça à cœur. Puis je pense qu'on savait les quatre qu'on ferait ça dans la vie. T'sais. Alors que des fois, il y a des gens qui se disent, oh, ils font pas ça, puis c'est pas grave. Là, l'école de l'humour, c'est comme il y a des gens qui étudient en droit qui ne deviennent pas avocats, puis c'est bien correct. Hein. Donc, la portion collaboration a été vraiment la clé. Puis je le dis parce que c'est ça qui fait que tu as des expériences plaisantes ou pas dans des contextes comme ça.
Okay. C'est resté comme ça dans la collaboration, même après, quand il y en a eu qui ont eu des succès dans certaines choses, d'autres moindres dans certaines choses.
Oui.
Est-ce que
oui.
Vous avez resté ce truc de collaboration et pas de envier ce que l'autre avait à un certain moment, que l'autre a eu après
Non, ça a été beaucoup en collaboration. Vraiment, j'ai les envies. Il n'y a pas d'envie parce que tout le monde veut des trucs différents, tu sais. Je veux dire, je serais jamais envieux de Jay qui anime OD. Moi, j'animerais pas Occupation Double, moi, personnellement, tu sais. Fait que ça m'enlève...
C'est très marrant.
C'est ça. Comment il s'appelle déjà le participant? Je me souviens... Quoi? Kev? Je sais pas son nom, je m'en souviens pas. Mais non, mais tu sais, c'est ça m'a jamais enlevé rien. Tu sais, au contraire, je suis content pour lui. Tu sais, Catherine, quand elle a eu du succès... ben souvent beaucoup on travaillait ensemble, tu sais, pour SNL tout ça, puis quand la tournée a commencé, ben j'ai embarqué sur son spectacle où j'étais auteur et je faisais la première partie. Mm-hmm. Tu sais, puis c'est quand le spectacle à Catherine est sorti que j'ai vraiment commencé à gagner ma vie avec l'humour. Tu sais, avant ça c'était assez moyen, puis une chance j'avais des parents qui m'aidaient, mais quand son spectacle est sorti, ben là j'ai commencé à gagner ma vie avec l'humour, parce que avec les droits d'auteur tout ça. Donc ça c'est pas de la collaboration, c'est quoi? Sam Breton, quand on est sorti de l'école de l'humour, on a parti une soirée ensemble à Saint-Nicolas sur la rive sud de Québec. Puis tu sais, Sam, il croyait en moi, avant moi, il disait « Non, là, on va faire une soirée, tu vas être mon chroniqueur, tu vas faire 15 minutes. » Tu sais, 15 minutes, là, quand tu commences un humour, c'est énorme, là.
C'est énorme.
Tu vas faire 15 minutes à chaque mois de nouveau matériel. Je vais te donner du temps de glace. Il savait comment me parler, il me parlait en métaphore de hockey. Il disait « Tu vas avoir du temps de glace, là, tu vas faire 15 minutes par mois. » Je me disais « Il est fou. » Mais tu sais, je l'ai fait à chaque mois, puis je faisais toujours plus que 15 minutes en plus. Donc, c'est tous des gens qui, tu vois, qui m'ont aidé, tu sais, à Jay, quand il a fait un gage juste pour rire, j'ai écrit avec lui, puis il m'a présenté, donc ça a été mon premier gage juste pour rire, c'était sur le gala à Jay. Donc finalement, je leur dois tous, beaucoup de... Mais donc, non, c'est ça, donc on s'est tous entraidés, puis encore ce jour, tu vois, là, je pensais plus, mettons, faire de première partie où j'avais pas pensé, puis là, Jay sort un nouveau spectacle, mm-hmm. puis on revient de 3 jours à Québec, puis je fais comme, hey, on a passé 3 jours entre amis à faire des spectacles à Québec, je veux dire... Quoi de mieux, là, tu sais, c'est le rêve, là, donc...
Eh ben, je te verrai en première partie, alors, probablement, parce que j'ai pris ma place pour aller voir Jay du Temple aussi.
Ah oui, quand oui. C'est... ouais, je partage avec Charles Pellerin, donc c'est soit moi ou Charles.
Okay. OK, c'est au Main Line, mais je saurais plus te dire la date comme
ça. OK, bon, génial. Si t'as la chance d'aller voir le spectacle de Charles Pellerin aussi,
Ouais.
Parce que quand t'es venu voir, il était en première partie pour moi.
Non, c'était Daniel Grenier.
C'est ça. Mais c'est rare que c'est Daniel, en fait. C'était parce que Charles avait un autre spectacle, mais tu revois le spectacle de Charles, il en est dans ses dernières dates, mais c'est faut que tu le vois ça avant que ça
termine. Okay. Mais j'étais très tenté d'aller le voir, donc...
Oui.
Mais j'ai une liste assez longue de spectacles. C'est ça. À un moment donné, j'ai dû faire des choix. Je me suis dit, bon, qui je veux absolument voir, quel est le budget.
Allez,
c'est parti. J'en ai sélectionné quelques-uns. J'en ai d'autres, je me suis dit, je les ai déjà vus, donc je vais peut-être pas prendre. Il y avait Jimmy Carr qui venait aussi.
Jimmy Carr, ouais.
Et je l'ai vu déjà, donc je me suis dit, j'ai déjà vu en live, donc je le verrai son spectacle quand il sortira.
Ouais.
Jay, je l'ai jamais vu. Il y a Shuge Sammy aussi, que je me suis dit, j'ai jamais vu en live, mais j'ai pris ma place. Et je ne sais plus quels autres spectacles j'en ai pris plusieurs comme ça. J'en ai même pris en Belgique après. C'est vraiment ce que j'adore faire.
Ouais, c'est super.
Je pense que ce qui pourrait être dur, si un jour ça marche, c'est que si j'ai une date le même jour que d'aller voir un spectacle, je ne sais pas ce que je préférerais.
C'est ça, le contrepoids de faire des shows, c'est on manque beaucoup d'événements de soir, là, les shows, tout ça. Mais c'est le prix. C'est ça. Le prix à payer.
Mais comment tu décrirais, toi, ton expérience à l'École nationale de l'humour et est-ce que tu recommanderais à ton tour de faire l'école?
Ah, moi, j'ai eu une super expérience à l'École de l'humour. Moi, ça a été le point de départ. Tu sais, souvent, j'entends les gens qui disent « Ah, ta carrière commence après l'École de l'humour. Mais ta carrière commence en rentrant à l'École de l'humour. » Tu sais, c'est là que tu commences à rencontrer des gens, à collaborer, à écrire, à développer un style. Tu sais, les gens à qui tu travailles là, ça se peut que ce soit avec eux que tu travailles pour des années, tu sais. Donc... c'est un peu là que tu décides, selon moi, si c'est quelque chose qui te parle ou pas, tu sais. Puis moi, j'ai beaucoup adoré. Comme je te dis, c'était un contexte que je trouvais vraiment favorable parce que moi, j'avais jamais fait de spectacle d'humour. Donc, Sam Breton, lui, il y en avait des spectacles dans la cravate, puis d'arriver chez des étrangers, puis animer leur mariage pendant 6 heures de temps. Ça, il l'avait fait des nuits et des nuits de temps, là. Donc, lui, il arrivait avec un bagage différent. Catherine, non plus, jamais fait de spectacle d'humour. Jay avait fait quelques secondaires en spectacle. Donc, nous, on était comme, hey, nous, on a besoin de se développer dans un contexte sécuritaire, en guillemets. Là, c'est drôle parce que certains diraient que le milieu de l'humour n'est pas très sécuritaire. Mais je voulais dire dans le contexte artistique, de pouvoir faire des vendredis, d'écrire, de se planter, d'explorer avec juste ses collègues qui peuvent nous observer. Donc, c'était vraiment, moi, j'ai adoré. On touchait au jeu, à l'écriture, aux vidéos, aux cours de voix, au français. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis le fait que c'était 2 ans aussi, c'était comme... Tu sais, t'avais vraiment un truc complet pour t'améliorer, pour vraiment avoir une courbe de progression. Quand tu pars vraiment de zéro, là, t'as besoin d'un peu de temps, là, tu sais, pour... Tu sais, mon premier spectacle de la vie, c'était à l'École de mots, puis je revois la feuille que je lisais, puis ma main tremblait, là, tu sais, ça prend un... Puis là, deuxième année, troisième session, ça avait vraiment bien été, puis là, ben, quatrième session, ben... Tu vas en tourner l'École de l'humour, puis là, on avait tous nos numéros, puis... Donc, non, moi, j'ai vraiment adoré l'École de l'humour, puis, tu sais, ne serait-ce que aussi, comme on l'a mentionné, mais les gens que tu rencontres, c'est pas banal. Juste ça, en soi, ça vaut la peine pour tout ce que ça apporte par la suite, tout ce que tu développes comme relation, puis après ça, ben, tout le côté artistique, travail, développement. Donc, non, moi, j'ai adoré. Après ça, je le recommande. La réponse est toujours la même, c'est que l'École de l'humour, c'est super. Est-ce que c'est pour tout le monde? Probablement pas. Moi, je pense qu'il faut que tu sois conscient de ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu vas aller chercher avec l'École de l'humour, où tu es rendu dans ton parcours. Christine Morancy est acceptée à l'École de l'humour. Mais elle avait quoi? Dans la trentaine? Elle avait déjà des heures d'impro et de show sous la cravate. Elle s'est dit, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Finalement, elle a dit, ah non, je pense que ça va me ralentir. Et comme de fait, elle était déjà rendue ailleurs dans sa vie. Puis là, son show est sorti. Déjà, elle est à radio. Elle a vendu 50 000 billets. C'est beau, là. T'sais. Elle avait pas besoin. T'sais. Puis c'est parfait comme ça. Je pense pas qu'elle regrette. T'sais, au contraire. Mm-hmm. Alors que des gens, mettons, t'sais, Jean-Michel Martel avait fait un comédia avant d'être accepté. Puis là, il a fait, ah, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Mais bon, tu vois, lui était début vingtaine, mi-vingtaine. Non, j'ai envie de le faire. J'ai envie d'explorer, j'ai envie de vivre l'École de l'humour.
Il voulait avoir accès aussi au vendredi de Jean-Thomas Jobin.
Exactement. De Jean-Thomas, son idole. Donc, moi, je suis comme... C'est tout ça, là, tous les chemins sont possibles. Il y en a qui n'ont pas fait l'école. Moi, des fois, j'en croise qui n'ont pas fait l'école, qui ont comme un complexe. Puis je suis comme, arrêtez, je t'arrête tout de suite. Là. Il n'y a aucun complexe à avoir. Moi, je vois pas les humoristes en catégorie ont-ils fait ou pas l'école. Mm-hmm. T'sais, il y a juste à être drôle puis être pas drôle. C'est les deux seules choses qui comptent au final. Donc, non, moi, j'ai eu une super expérience. Puis Si jamais ça vous tente, ça vous parle, ben, essayez-vous. Puis, comme je vous dis, il y a toujours les cours du soir, si on veut se tremper les...
Mais moi, c'est pour ça que j'ai pris les cours du soir, parce que j'ai toujours rêvé de faire l'école nationale. Mm-hmm. Mais le budget freine.
Ouais, puis le budget pour les étrangers est plus cher.
Plus cher. Là, c'est 17 500 dollars canadiens.
Ouais.
Ça fait mal.
C'est combien en euros?
12 000 quelque chose, il me semble.
Le faut avoir le statut d'artiste en Belgique, ça peut aider.
Et puis, il faut savoir... Allez, c'est compliqué de faire l'école et de faire quelque chose à côté, travailler et tout ça. J'avais demandé à Étienne Serre, comme on en a parlé, InnoJP, qui ont fait l'école, est-ce que c'est possible de travailler à côté? Ils m'ont tous les deux dit, c'est possible, mais je te conseille pas, parce que t'as quand même beaucoup de choses à travailler, et c'est important de te concentrer là-dessus. Mais ouais, donc ça, le financier a beaucoup freiné. Je me suis dit, je vais faire les cours du soir. Ouais. Quand je suis arrivé dans les couloirs de l'École nationale de l'humour, moi, je capotais.
Ouais.
Pour utiliser la meilleure expression québécoise, c'est vraiment un mot qu'on n'a pas en français européen, et c'est dommage. Mais voilà, j'étais trop content d'aller à l'école déjà. Mais oui, j'espère qu'il y a d'autres moyens que l'école. Parce que là, j'ai fait mon deuil sur le fait que je ne ferai pas l'école nationale. J'ai fait les cours du soir, j'étais déjà très content.
Et en plus, il y en a beaucoup de cours du soir. Tu peux en faire beaucoup. Là, tu peux en faire plusieurs par... c'est parce qu'il y a création, impro, écriture, jeu. Comme, souvent, il y en a qui vont aller chercher ce qu'ils veulent là, puis c'est assez. Donc, explorer.
Et en première année, tu as fait ton premier show au Club Soda. Il y a toute ta famille qui habitait à l'étranger, qui n'ont pas pu venir te voir. Il y avait juste ta sœur qui habitait à Ottawa qui est venue voir le show.
Exact.
Comment s'est passé ton premier show d'humour vraiment? Parce que là, c'est le tout premier où tu fais vraiment dans un contexte d'humour avec l'École nationale.
En fait, le premier spectacle de la première session, il était à l'École de l'humour. Puis le Club Soda, c'est le deuxième.
Ah, ça y est, les recherches sont...
Non, mais comme ça, en fait, c'est comme ça pour tout le monde. Tu vas le savoir. C'est le premier l'École de l'humour, c'est dans la salle à l'École de l'humour, là, qui est une genre de salle, je sais pas comment dire, de spectacle.
Salle de spectacle, oui. C'est là qu'on on faisait les cours de présentation de numéro.
Oui, très, très, très petite salle, peut-être une cinquantaine de places. Donc ça, la première session, le numéro de fin de session, c'est là. Là, c'est vraiment... Ils nous gardent encore en milieu protégé. On fait, je pense que c'est vendredi, samedi ou samedi, dimanche. En tout cas, bref, on fait deux spectacles par soir. On a quatre billets chacun par spectacle. Donc, c'est très famille et amis. Ça, c'était mon premier. J'avais fait un personnage. Puis, c'est là que je shakais avec ma feuille. Puis, un numéro d'ouverture. C'est terrible. Donc, ça avait été correct. Puis, c'était en milieu très protégé. Donc, c'était très, tu sais... Il n'y avait pas de grosse foule. Là, après ça, deuxième session, là, tu fais ton premier Club Soda à la fin de ta première année. Là, c'est comme, oh, OK, là, c'est plus gros. Là. On parle de, tu sais, quoi, 500 places au moins, là, peut-être plus même. Peut-être plus proche de 1000, ça se trouve.
Ouais. C'est une grosse salle.
Hein. Ouais. Et donc, ça avait été plus difficile. Pas comme tel, mais je veux dire, je me souviens que la deuxième session, j'avais un numéro qui était très, très précis. C'était un numéro, en tout cas, je ne rentrais pas dans les détails, mais je pense que mon numéro n'était pas particulièrement clair. Donc, la proposition était peut-être trop ambiguë. Alors que, mettons, ce qui avait vraiment bien fonctionné, j'avais vraiment bien fonctionné pour la première session. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui avaient un succès à la première session, ils essayaient quelque chose à la deuxième, des fois ça marche moins. Puis ceux qui avaient moins de succès à la première session, ils ont tellement le couteau entre les dents qu'ils ont un meilleur numéro à la deuxième. Là, des fois, il y a des... Puis, tu sais, deuxième session, je pense qu'on nous encourageait beaucoup à faire des personnages avec Luc Sonné et tout ça. Donc, un vibe un peu différent. Donc, ouais, ça avait pas mal été, mais ouais, c'était pas mon... Je pense pas que c'était mon meilleur spectacle.
Après, en deuxième année, donc, t'as un cours où tu dois faire une entrevue avec un humoriste établi. Donc, t'interviews Anthony Cavana, dont on a parlé tout à l'heure. Si tu devais le refaire aujourd'hui, à qui tu voudrais parler? À quel humoriste?
Il y en a plusieurs. C'est sûr que genre si je pouvais parler à Bo Burnham, on aurait beaucoup de choses à discuter. Je le suis depuis longtemps aussi, je le suis depuis 2009, 2010, fait que j'ai comme vraiment suivi la courbe de sa carrière, humour, tu sais, cinéma, jeu, poèmes, il a fait des poèmes. Tu sais, il y a comme vraiment musique, tu sais, il y a vraiment comme j'aurais beaucoup de choses à discuter. Mike Birbiglia, c'est un gars que je pense qu'il a l'air vraiment cool à parler. Je l'ai croisé au Comedy Cellar une fois à New York avec Jay, puis Jay il a parlé quelques secondes, quelques minutes, là, tu sais, pour lui dire, il était très, très, très gentil. Fait que, ouais, ça en est une couple que j'aime bien. Zach Galifianakis aussi, je serais curieux. On le voit pas beaucoup, tu sais, il parle pas beaucoup du stand-up, mais il vient du stand-up, puis il était très, très original à son époque. Donc, ça serait peut-être sûr que, ouais, que j'aimerais voir, mais sinon, il y en a plein, tu sais, des John Cleese de ce monde, ils ont des bonnes histoires, ils ont des bons points aussi, ils sont très, des bonnes réflexions, des fois, sur beaucoup de choses, donc, sur la créativité, ça, c'en est quelques-uns, là, tu sais, que j'aime, mais là, tu sais, quand on va finir, je vais en penser à mes autres, tu sais, Jim Carrey, tu sais.
Ah oui.
Tu sais, qui aimerait pas rencontrer Jim Carrey, là, il est un peu zouzou, il part dans plein de directions,
Oui. Donc, oui, si, d'office, je voudrais lui parler. Okay. Mais c'est vrai que maintenant, j'aurais un petit peu peur de où partirait la conversation.
Ouais.
De, est-ce que je peux suivre
Ouais, c'est ça. On dirait que j'embrasserais, moi, ce chaos. J'embrasserais le chaos de Jim. Et j'embarquerais dans la luge sans aucune raison. Mais donc, il y en a plein. Mais je vais en penser à mille autres là, quand on va avoir fini. Mais
okay.
Pour le moment, c'est. John Mulaney aussi.
Quel souvenir tu as de la tournée de l'école et c'était quoi ton numéro de tournée?
c'est très facile, mon numéro il est encore disponible sur YouTube, c'était mon numéro du prof de gym.
Ah voilà.
Qui était la captation sur on YouTube, c'est dans le route, ouais, qui était dans le fond le printemps d'après, mais là, donc c'était mon numéro ça, puis ça j'avais fait, en plus généralement pour la tournée il faut que tu prennes un numéro que tu as fait en fin de session, une des trois sessions précédentes, puis moi j'ai dit non je vais faire un autre numéro, puis ils m'ont dit ok je sais
t'es
pas,
sûr?
Non, non, j'ai dit non je suis très sûr, je fais ça que je veux faire, ah ok parfait, fait que je l'ai fait, puis non c'est écoute des super souvenirs, on a eu une très belle tournée, premièrement on avait pas les numéros de l'école, les shows de l'école c'est par définition extrêmement inégal, c'est normal, on commence, il y en a qui sont plus forts, moins forts, bon, peu importe, mais on avait quand même, je pense, une bonne moyenne au bâton, parce que je pense que tout le monde s'était tiré vers le haut, et encore une fois, je répète le mot-clé, collaboration, donc tout le monde avait collaboré au numéro des autres, ou en vraiment très grande partie, fait qu'il y a plein de gens, plein d'humoristes que les gens connaissent peut-être pas aujourd'hui, ou qui font peut-être plus d'humour, mais leur numéro pour la tournée de l'école de l'humour était très bon. Il fonctionnait très bien. Tout le monde avait comme... Il y avait beaucoup d'affaires aussi, d'exercices où on écrivait des gags pour d'autres. Donc là, ça générait des bons gags que les humoristes pouvaient garder. Donc, on tirait vraiment tout le monde vers le haut. Puis on avait eu un metteur en scène, Dominique Anctil, aussi, qui savait comment nous prendre, comment nous motiver, comment nous driver. Donc, lui, il avait fait une bonne job à ce niveau-là de nous fouetter de la bonne manière, tu sais, mais dans le plaisir. pour lui, non, c'est vrai. Donc, ça avait été vraiment une belle expérience. Puis, je pense qu'on avait un spectacle qui était quand même, somme toute, assez bon pour un spectacle finissant. Tu sais, Catherine, c'est un gros hit. Tu sais, des Midi. Moi, c'était un peu plus genré comme numéro. Pas genré dans le sens des genres, mais dans le sens de c'était plus niché. Comme numéro un peu plus précis, mais ça marchait. Bon, Jay du Temple avait la job ingrate d'ouvrir le spectacle, qui est vraiment désagréable. Puis si tu lui demandais, il va te dire qu'il y a eu un terrible souvenir de la tournée parce qu'il n'y avait pas de plaisir sur une base régulière. Mais il a quand même accumulé du métier. Sam Breton, tu sais, comme on avait vraiment un show très varié et qui, je pense, avait une bonne moyenne, ce qui fait qu'on a fait plusieurs spectacles. T'sais, souvent la tournée. Il n'y a pas un nombre prédéterminé, mais nous, on en avait fait quand même une trentaine, si je ne me trompe pas, ou peut-être même 40 ans. En tout cas, on en avait fait quand même pas mal pour un show, puis on est allé partout quand même, à beaucoup d'endroits au Québec. Donc, puis tu sais, on a 23, 24 ans, on est toujours ensemble, les hôtels. Tu sais, nous, la chambre d'hôtel, c'était par quatre, c'était avec 4, Jay, Sam. On était dans la même auto ensemble, on voyageait juste nous quatre, avec les décors. Fait que les autres avaient d'autres vannes. Puis nous, on disait, on va prendre les décors comme si on va être juste nous quatre. Donc, c'était des super souvenirs, tu sais, d'être en Gaspésie, de faire ton show à Petite-Vallée, de faire ton show en Abitibi, de faire ton show. Tu sais, puis il y a quelque chose que la directrice de tournée avait dit avant la tournée qui va sonner extrêmement intense, va sonner peut-être incisif pour certains, mais elle a dit, hey, vous savez, vous devriez en profiter parce que pour plusieurs, ça va être votre dernière tournée. Puis là, tu vas dire, mon Dieu, mais pourquoi est-ce qu'elle dirait ça? C'est bien méchant, mais. Elle le disait pas méchamment, elle le disait en connaissance de cause. Et elle disait, écoutez,
c'est purement honnête quoi.
Ouais, puis c'était même pas pour diminuer personne, c'était pour dire profitez-en. Hey, vous avez c'est une vraie tournée là, vous avez des techniciens qui vous suivent, vous avez des cues, tout va être tight. Là, nous on le sait pas, mais on s'apprête à finir l'école, puis on va se retrouver dans les bars. Là, on va prendre une solide débarque là. Les cues, ils rentreront pas, la guitare marchera pas une fois sur deux.
Il n'y aura pas de gâteson, il n'y aura pas de micro parfois.
Et les gens dans la foule vont être beaucoup plus bruyants, ça va être des conditions de bord. Donc, tu sais, profitez-en, là, les amis. Et comme de fait, les gens, faut en être conscient. Puis juste en fin de semaine avec Jay, on était à Québec, puis les shows magnifiques, puis les shows complets. Puis je disais, tu réalises-tu, on est chanceux, là. C'est pas tout le monde qui vit ça, puis il disait, c'est incroyable, on est béni parce que... Donc, tout ça pour dire, l'École de l'humour, ça a été... La tournée, ça a été une expérience formidable, puis surtout parce que je pense que j'aimais mon numéro, puis je pense qu'il était... il me représentait bien. Je le dis parce que des fois, il y a des gens qui se disent, pour la tournée, oh, quel numéro je dois prendre? Je devrais prendre le plus sécuritaire, le plus safe. Puis souvent, c'est le début de la fin parce qu'ils respectent pas leur cœur artistique. Puis finalement, c'est comme, oh, tu sais. Alors, même si certains doutent, numéro 6 que t'es vraiment fait là, tu sais. Puis j'ai vu des fois des gens faire, ah, oh, mon numéro que je dois faire marche moins bien, j'abandonne. Je vais prendre l'autre numéro qui me parle pas, mais qui, entre guillemets, est plus sécuritaire. Donc, non, moi, j'ai fait un numéro que j'aimais, que on m'a dit, t'es-tu sûr, tu l'as jamais fait, hein? Il va falloir travailler. Puis finalement, je l'ai fait en route, puis il est sur Internet, puis c'est vraiment loin de ce que je fais aujourd'hui. Là, c'est un personnage, mais certains m'en parlent encore de ce numéro-là parce que ça les a fait rire, fait que tant mieux, tu sais. Donc, non, que des bons souvenirs de la tournée.
Ça s'est comment passé, du coup, pour toi, l'après-école? Une fois qu'on a arrêté de vous tenir par la main, de vous mettre dans des bonnes conditions, tout ça, comment ça s'est passé pour toi?
Et ça a quand même assez bien été. Ça a bien été. Je pense qu'on commence au bas de l'échelle, puis c'est parfait comme ça. Moi, j'étais pas... là, je pense que ça a beaucoup changé, mais je vois pas vraiment dans les bars quand j'étais à l'école de l'humour. Donc, puis l'école était pas très favorable à l'époque à ce que tu joues dans les bars. Ils préféraient que tu finisses ta formation. Puis, je comprends, il y avait leur raison aussi. Puis, je pense qu'aujourd'hui, ça a changé. Les gens essaient de varier, jouer, tout ça. Donc, quand tu sors de l'école de l'humour puis tu joues pas dans le bar, t'es vraiment à zéro, là. Tu sais, il faut vraiment que t'écrives au booker. Il va donner un spot dans tant de temps. Il faut que t'arrives avec ton meilleur matériel qui est pas nécessairement super, donc ça se peut que ça rentre pas très bien, donc là il va être un peu hésitant à te rebooker bientôt, donc ça prend vraiment une année complète pour passer à travers pas mal toutes les soirées, tu sais, c'est l'automne, la session d'hiver, tu sais, de vraiment dire je vais aller à la soirée dans Rosemont, il va me donner, tu sais, donc c'est quand même assez assez laborieux à ce niveau-là, mais t'écris, tu joues. Quand on est sorti de l'école de l'humour aussi, on a eu des timings aussi plus chanceux, comme tu vois, les SNL Québec est arrivé. Donc cet automne-là, j'avais fait les auditions, j'étais allé en deuxième audition. Catherine a été prise, donc à partir de là, Paige Beaulieu, tout ça, j'avais écrit ça avec elle, donc ça avait bien marché. Elle faisait Papa Ragile aussi, donc j'écrivais. Elle avait
écrit ses chroniques.
Exact, donc j'écrivais avec elle ses chroniques. Donc, il y avait comme des trucs qui se passaient, tu sais, c'était pas comme « Ah, qu'est-ce qu'on fait? On attend, tu sais. » Donc, évidemment, je faisais pas d'argent, tu sais, genre si mes parents m'avaient pas aidé, je serais peut-être pas ici aujourd'hui, tu sais, parce que, tu sais, tu commences vraiment à zéro, puis heureusement, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, tu sais, j'aurais fallu que j'aille travailler à quelque part de jour, mais là, c'est plus difficile d'écrire, c'est plus difficile de tu sais, donc tout devient plus difficile, donc pour me permettre de me consacrer à 100%, ben j'ai pu comme le faire, donc ça, je suis vraiment chanceux aussi. Mais c'est ça, ça se passait. Il se passait des trucs, SNL est arrivé. Bon, je l'ai pas eu, mais tu sais, c'est une belle expérience. Je suis passé proche, j'avais jamais fait d'audition de ma vie. Aujourd'hui, genre, ça me fait rire parce que j'avais pas les codes, mais bon, t'apprends. Catherine, ça marche bien, donc on était très contents. Et Catherine, ça a décollé très rapidement. Oui. On savait que ça décollerait, mais.
Avec le personnage de Paige Beaulieu, exact. Qui est tellement drôle,
j'adore. Qui est franco, qui est le personnage d'une franco-ontarienne. Puis, donc, on écrivait ça ensemble. C'est devenu comme un peu connu du jour au lendemain. Donc, le Papa Ragile, tout ça. On continue à jouer dans les bars, continue à faire des spectacles. En redonnant au premier gala qui arrive. Aujourd'hui, ça semble banal, mais c'est un énorme concours à l'époque. C'était très vu. Ça jouait à la télé. Et ça a été la dernière édition, en fait. On ne savait pas à l'époque, mais ça a été la dernière édition télé. Il y a eu des éditions après web, dont une où j'étais en finale, mais personne n'en a entendu parler parce que c'était sur le web. Donc, en route à ce moment-là, télé, c'était énorme, tu sais, le numéro de mon prof de gym, plein de gens m'en parlent encore parce qu'ils l'avaient vu à l'époque à la télé. Donc, c'est des trucs qui avaient un certain impact. Donc, il se passait des trucs, on jouait, on travaillait, on partait nos propres projets. Champagne May West, j'ai parti une soirée de sketch parce que je voulais faire des sketchs, des chansons. C'est là que certaines de mes chansons, comme Le Go Weird, est née. Donc, on crée. Quand tu commences, il faut que tu sois proactif, il faut que tu crées tes occasions. C'est pour ça que les gens créent leur soirée d'humour, ils veulent jouer, c'est normal. Tu crées ta propre soirée, anime-la, t'apprends en même temps à faire de la création, de la production, de l'écriture, de l'animation. C'est fou, là, tu sais, tout ce que t'apprends en commençant. Donc, non, ça c'était pas facile, mais c'était nécessaire.
Bah, en fait, tu fais mes transitions pour moi. Tu as mentionné plein de choses. Ouais. Il y a un show que tu as pas mentionné qui s'appelait le show J'aime, qui était un show pour sensibiliser les jeunes sur le cyberharcèlement dans les écoles.
Qui était vraiment bien fait tes recherches.
T'as essayé de l'étouffer et je l'ai ramené.
Oublié, en fait. Je l'ai complètement oublié. Ben, ça, en fait, tu vois, ça, c'en était un projet de, qui était relié à l'école et à l'après-école, c'est-à-dire, Kevin Montreuil, qui était dans ma cohorte, c'était dit, on va faire un spectacle pour les écoles parce que l'intimidation était vraiment dans l'air du temps. Puis qu'il avait parti ce show-là, puis je pense que c'était lui, Mehdi, je pense qu'il y avait Marie-Lise Dominguez aussi, qui était à l'école avec moi, qui était là-dedans. Puis qu'on allait, puis il voulait, ah, fais ton prof, tu feras ton professeur de gym dans ce show-là. Tu sais. Donc, on avait fait quelques représentations, mais honnêtement, c'est très flou dans ma tête. Là, on n'en a pas fait tant que ça. Mais ouais, ça fait partie des expériences après-école. Okay. Mais là, surtout, là, ça va nous mener, j'imagine, au ZooFest aussi. Là, c'est...
On y arrive,
ouais. Voilà, c'est ça. Qui est vraiment un tremplin, là, parce qu'à l'époque, tu vois, il y a des trucs qui ont changé aussi depuis. Ça fait presque 10 ans, mais il y avait un énorme sélection de spectacles au ZooFest. Comme tu pitchais un show, si tu proposais un spectacle, les chances étaient qu'elle allait le prendre. Parce qu'il y avait beaucoup de salles. Là, je pense qu'ils ont un peu plus réduit, puis ils choisissent un peu plus. Puis la pandémie aussi a changé certaines choses, puis il y a moins de salles, je pense. Mais à l'époque, tu sortais, puis tu faisais des spectacles, puis tu n'étais pas connu, là. Tu n'étais pas connu, mais tu avais quand même ta salle, tu avais quand même tes dates. Donc, mine de rien, tu peux monter ta première heure, ta deuxième heure, ta troisième heure, des shows concept auxquels on a participé, là, des shows 2000, tout ça. Donc, ça, c'est à cause du ZooFest qu'on a pu faire ça. Puis, je suis content qu'on ait commencé à cette époque-là parce qu'on avait la plateforme pour le faire.
Tu avais lancé la soirée Champagne May West. Ouais. Là, c'était une soirée où vous faisiez des sketchs, des chansons, des personnages, des monologues. Et vous aviez aussi pris donc, les meilleurs sketchs pour faire un show au ZooFest. Donc ça, le ZooFest qui était super important, t'as fait plein de shows au ZooFest, j'en ai vu plein avec...
J'en ai fait énormément.
Il y a un show sur la nostalgie, il y avait un show sur le hockey, il y en avait plein, je me suis dit waouh, mais ils ont été super productifs avec le ZooFest, c'est assez incroyable.
Ouais, c'était à chaque année, c'était qu'est-ce qu'on fait au ZooFest, c'était comme Champagne May West, ben j'avais parti ma soirée, puis...
Juste pour préciser pour les Européens, les May West, c'est une friandise
que
vous lanciez. En arrivant sur ça.
Exactement, c'est un petit gâteau de marque Vachon avec une crème costarde de bon marché au milieu.
Parce que moi, j'ai fait la recherche pour pourquoi champagne May West? Champagne, ça va. May West, j'avais pas.
Ouais, j'arrivais avec une coupe de champagne puis un May West. C'était la combinaison entre le Deluxe et le très, très bas de gamme. Puis on faisait ça, des sketchs, des chansons, de ça. Puis on avait fait un genre de best-of au ZooFest qui était le spectacle Champagne May West. Maintenant, à chaque année, c'était comme, tu sais, JP4 a fait un 2x30, 2015, ça a été la plus grosse année, je pense, parce qu'on faisait le show des refusés, donc tous les gens qui n'étaient pas pris sur des gages pour rire avec Jay, on faisait le show 2000, qui est un show nostalgique qui avait été un énorme succès, on l'avait même fait au Club Soda, après le ZooFest à l'automne, sold out, complet, à guichet fermé, deux fois le même soir,
wow.
C'était vraiment la folie, là, tu sais, des...
Show spécial Harry Potter aussi.
Ouais, disons, celle-là.
Avant 2014.
Exact. Lui, moi, j'avais seulement fait des caméos, mais Catherine Bidjé était dedans. Ça avait été un énorme succès. Club Soda aussi complet plusieurs fois. Puis on avait comme une rencontre parfaite entre notre âge et les gens qui ont l'âge du ZooFest. Mm-hmm. Tu sais, c'était tous des gens dans la vingtaine, un peu universitaires, début, milieu, vingtaine. Donc, on avait cet âge-là, les gens avaient cet âge-là. C'était comme parfait, tu sais. Avant que tout le monde ait des enfants ou des trucs. C'était comme la rencontre dans le ton, dans la forme, dans le fond. Donc, le ZooFest faisait ça. 2016, on avait fait un show à thématique de hockey avec Jay, avec Kat, avec Sam, avec un ami qui s'appelle Sébastien Mathieu. Donc, c'est comme si c'était, fallait... 2017, j'ai fait mon premier solo. T'sais, c'était comme... Il y avait l'opportunité de faire des trucs. J'ai fait des enregistrements de Ritual Tape Live. Donc, ouais, le ZooFest, c'était comme... Il est là, donc profite-en, tu sais.
Mais c'est assez fou. Moi, je voyais tous les shows, j'étais là, mais ils s'arrêtent à un moment donné.
On travaillait, tu sais, toute l'année où on écrivait, OK, qu'est-ce qu'on a en tête, tu sais, puis c'est comme ça que Jay a construit son premier show. Il faisait une heure par année aux ZooFest. Mm-hmm. Fait que t'écris, puis non, c'était cool. C'était vraiment, c'est vraiment des très belles années, puis j'espère que les humoristes qui commencent ont comme la chance de faire ce qu'on a eu la chance de faire, tu sais.
Après, en janvier 2015, t'as signé avec le groupe Faneuf pour ton booking. c'est eux qui s'occupent, qui sont tes gérants et tout ça.
Ben, il y a ça, j'étais même pas en gérant, c'était vraiment en termes de booking.
Juste booking ouais. À ce moment-là.
Okay. Mais ça a pas duré très longtemps. Genre, c'était quelques. C'est d'autres, tu me ressors ça. C'est toutes des affaires que j'ai comment oublié, mais ouais, j'étais en booking un peu là.
Mais c'est parce que c'est un pan du métier d'humoriste que j'ai jamais abordé dans le podcast, mais comment on choisit un peu ses gérants, les groupes qui vont s'occuper de notre booking, tout ça, comment ça se passe? Parce que c'est vraiment tout un pan que je connais pas du tout.
Ouais, ben écoute, ça c'est, il y a plusieurs volets. Premièrement, la gérance c'est un volet, la production c'est un volet de spectacle et le booking c'en est un autre. Donc c'est tous des trucs différents qui sont pas nécessairement reliés. Tu peux être avec un gérant qui est pas affilié à ton producteur, qui est pas affilié à ton booker nécessairement.
Okay.
Mais vraiment, ça se fait beaucoup par des rencontres, c'est-à-dire des fois des humoristes, des gérants vont approcher les humoristes qui veulent signer, qui pensent qu'ils peuvent accompagner, aider, puis gérer la carrière. Des fois, des humoristes vont approcher des gérants, dire « Écoute, je voulais te rencontrer, savoir si tu peux m'aider de ça. » Puis c'est ça, puis des fois, certains gérants sont associés à des boîtes de production, comme Faneuf, tu sais, comme Ben Faneuf, il gère Louis-José, puis il produit également. Mm-hmm. Alors que, mettons, moi, ma gérante, Mylène, est avec Eno, donc c'est de la gérance, mais ils font pas de production, donc certains de leurs artistes vont travailler avec Faneuf, d'autres vont travailler avec, tu sais, je me souviens plus c'est qui les autres qui ont, mais tu sais, tu peux travailler avec la tribu, peu importe, tu sais, donc, mais généralement, c'est des coups de cœur personnels, professionnels, puis les gens se rencontrent, voient s'ils ont les mêmes objectifs, même manière de travailler, puis là, ouais, okay. Ça se passe.
Mais dédicace à ta gérante qui est géniale, parce qu'à chaque fois que je l'ai contactée, elle m'a permis de faire plein de podcasts, et elle me répond toujours super gentiment. J'envoyais plein de mails pour avoir plein d'humoristes parce qu'elle les a bien choisis, les humoristes qu'elle a sélectionnés aussi. Mais vraiment, si elle écoute, merci beaucoup parce que ça.
Merci Mylène.
Ouais, ça facilite vraiment les choses. Enfin, pour moi, c'était assez super parce que pour avoir envoyé pas mal de messages à plein d'humoristes, beaucoup je n'ai pas de réponse.
Ah oui,
ou des réponses
ça.
Très
sec
de non. Quand même pas bonjour monsieur. Non.
Ouais, ouais.
Mais non, un peu plus. Mais vraiment, on me fait bien comprendre, ça se fera pas, que elle a vraiment été super cool. Donc,
merci Mylène. Ah, oui.
Après, en 2016, tu joues dans ton premier court-métrage qui s'appelle Richard Superstar, qui est réalisé par Alec Provonos.
Pronovo.
Ouais,
voilà.
Merci. Parce qu'en fait, je ne sais pas lire, parce que c'est clairement écrit là. En 2018, tu joues dans un autre court-métrage du même réalisateur, Tony Speed. Tu as également joué dans les deux saisons de la série The Killing,
ouais,
qui est disponible sur Nouveau. Et qui est vraiment le fun, parce que ça, j'ai pu le voir. Les deux autres, j'ai essayé de les trouver, j'ai pas trouvé.
Les cours, ouais, c'est plus difficile, ouais. Je sais pas s'ils sont encore. Ils étaient sur tout.tv, mais je sais pas s'ils sont encore disponibles. Bref, le Killing sur nouveau.ca, ouais.
Ouais, le Killing, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'adore quand tu dois expliquer au téléphone que tu n'es pas un gros lait. C'est un gros fou rire sur ce passage-là. Est-ce que pour Alec, tu serais pas un peu comme le Johnny Depp pour Tim Burton? Tu es dans tous ses projets.
C'est un beau compliment. j'aimerais ça, oui, j'aimerais ça. C'est assez touchant. Écoute, on a beaucoup travaillé avec Alec dès le début. Alec a fait beaucoup de nos pubs pour le ZooFest. Le pain aux bananes dont tu parlais.
Okay.
La pub de la soirée du hockey. Donc, on commençait en même temps, et puis on s'est rencontrés, puis encore une fois, je parlais tantôt du numéro dans la rue de mon premier gala du prof de gym. C'est ça, en fait, qui fait qu'Alec m'a approché.
Okay.
Parce que lui, il avait vu ça, puis il a dit « Ah, ce gars-là, je pense qu'il pourrait jouer dans mes trucs. » Il aimait de l'énergie comique, donc il m'avait approché pour Richard Superstar. Après ça, il a fait « Ah, j'aimerais ça que tu fasses le rôle principal d'un autre truc, Tony Speed. » Puis après ça, ben le Killing, là, c'était son projet avec c'est Rosalie, tout le monde. Donc là, il m'a donné un rôle. D'ailleurs, Alec, qui est présentement à Sundance, au festival prestigieux, avec son nouveau court-métrage qui s'appelle Piscine Pro. Okay. Donc, on est très contents. Puis, complètement lycée aussi, qui est très drôle, qu'Alec aussi a réalisé. Et co-écrit, je pense. Donc, oui, donc écoute, c'est juste ces genres de rencontres que tu fais, ça, que tu peux pas prévoir, mais que si tu travailles fort, si tu travailles bien, il y a comme des alliances comiques, tu sais, de la chimie, puis on a beaucoup les mêmes référents, Alec, on a le même âge, hockey, humour, tout ça. Donc, puis Alec, c'est un des rares réals qui... Parce qu'au Québec, on fait beaucoup de drames, tu sais, les gens connaissent Xavier Dolan, tu sais, tout ça, puis à l'international, puis en cinéma, en général, on valorise beaucoup le drame, puis c'est très correct, tu sais, mais la comédie, c'est comme un peu vu de haut. Puis Alec, lui, il en a comme fait sa mission de faire, non, la comédie, c'est une forme d'art en soi, c'est très difficile à faire. Puis au Québec, il y en a quelques-uns, tu sais, Émile Gaudreau, tout ça, qui le font, mais dans la nouvelle génération, moi, je trouve qu'Alec, c'est un peu le porte-étendard, tu sais, de comme, non, tu sais, voici un gars de la génération Y qui fait des comédies, qui veut les faire grand public, qui veut que ça soit drôle. Puis je trouve qu'à date, il fait très bien. Puis j'espère travailler avec lui puis ça. Mais prochaine fois, je vais lui dire que je suis son Johnny Depp. Non, c'est pas vrai. Mais ouais, on aime beaucoup travailler ensemble.
Mais est-ce que le métier d'acteur, c'est quelque chose que tu veux développer? Tu veux jouer plus de rôles ou pas spécialement?
C'est un truc que sur lequel je travaille en ce moment parce que j'ai fait plus d'auditions, plus de trucs que j'en avais fait avant. Donc, ça m'intéresse, mais souvent, c'est beaucoup dans un contexte de ce que j'écris que je réalise. Mm-hmm. J'ai comme une espèce de déformation d'humoriste. C'est-à-dire que, tu sais, un comédien pur, lui, il veut jouer des rôles. Donne-lui mm-hmm. des rôles, puis il va aller amener son truc. Moi, c'est vraiment, si le texte, je le trouve pas bon ou si j'aime pas l'idée, je suis comme, pourquoi je jouerais ça, t'sais? J'ai pas le tu comprends le
ouais, je comprends,
qu'un comédien il est comme non moi genre je vais me donner pour ce rôle là donc moi ça part beaucoup de la création. J'ai réalisé c'est ça qui m'allume vraiment, donc faut que ça soit des trucs que j'ai écrit ou des trucs auxquels je peux apporter quelque chose. Donc ça c'est quand je te parlais tantôt scénarisation, tu vois, je pourrais jouer, mais on dirait que j'ai la vue d'ensemble, la patente m'intéresse plus que de juste jouer un rôle dans, tu sais, moi je veux que tout le truc soit bon, tu sais. Okay. Ou en tout cas m'intéresse ou dans la direction, dans l'identité. Donc, non, j'aime ça jouer du comique, puis c'est un truc sur lequel j'essaie de travailler un peu, mais ouais, c'est ça. Je réalise que on dirait qu'il faut que ça parte de l'écriture
okay.
pour moi, pour que ça m'intéresse sincèrement, tu sais.
Okay, donc tu préférerais potentiellement écrire tes rôles pour
exact.
Toi qu'on t'impose un rôle exact. De jouer, quoi.
Mais il y en a des fois, des fois, tu fais des auditions, tu fais « Ah oui, ça, je le vois, où il y a des atomes crochus, puis on a la même comme vision comique. » Mais souvent, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une genre de... Pas juste pour avoir le contrôle créatif, mais d'avoir un peu une direction. C'est ça que je trouve qui est stimulant. Fait que...
En 2017, c'est l'année où tu fais le plus de premières parties. Tu fais la première partie de Jay du Temple, de Sam Breton, de Catherine Levac, de Adi Balkhalidé. Est-ce que ça te plaisait de faire les premières parties? Parce que c'est généralement pas ce qu'on préfère faire, parce que les gens sont pas là pour toi. Donc il y a une attente différente du public, c'est pas toujours les scènes les plus chouettes, j'ai l'impression.
Ouais, moi j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à faire des premières parties, parce que c'était toujours des belles conditions, premièrement. Mmh. C'est des salles remplies, c'était des vraies salles aussi, c'était J4 puis Adib, il y avait déjà un public, donc c'était toujours souvent des belles conditions. Puis je sais pas pourquoi il y a quelque chose dans le défi de « Ah, ils me connaissent pas », mais dans 12 minutes, ils vont peut-être aimer ça. Tu commences, ils vont peut-être... Okay, ouais.
Ils voient plus comme un défi qu'un stress de « Ah, ils sont pas là pour moi ».
Exact. Puis moi, je trouve ça... En tout cas, peut-être c'est juste ma vision, mais je trouve que ça enlève une certaine pression. T'sais. Ils sont venus voir... Tu sais, l'humoriste qui vient nous voir, il y a une heure et quart à faire, puis ils ont payé pour lui, pour elle, donc ils ont peut-être plus d'attente. Moi, ils sont comme « Ah, oh, il y a une première partie ». Bon, dans la plupart des cas, ils savaient pas. C'est comme « Ah, première partie, OK ». Mais j'étais pas, tu sais, je suis pas là très longtemps, là, tu sais, pour eux, j'étais là, je pense, des 10 minutes, 8, 10 minutes, 12 minutes. Donc, t'as comme le temps d'établir tes trucs. Je pense que ça peut juste être une belle surprise, tu sais, ça se passe bien. Alors que, tu sais, bon, si ça va pas, ça marche pas bien, OK, tu sais, c'est plate, peut-être pour le moment, mais c'est vraiment une opportunité, en or des premières parties, tu sais, d'accumuler beaucoup de scènes. C'est des sprints aussi, c'est pas comme un, tu sais, on parlait tantôt, je suis en train de faire des shows d'une heure, c'est des marathons, tu construis quelque chose de très long dans la forme. Première partie, c'est un sprint, c'est comme, faut qu'il rit beaucoup, faut qu'il comprenne bien qu'il rit dans tant de minutes. C'est ça le défi. Donc, c'est une autre approche. Après un certain temps, j'en avais fait assez aussi, là, quand j'ai, après la tournée Catherine, c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que je voulais travailler sur un spectacle, travailler sur la longue forme, puis plus explorer. Mais ça reste que faut que t'aies comme joué pour un peu en arriver là. Donc ça, c'était un peu là où j'ai mis mes heures, puis j'ai joué. Donc non, j'ai beaucoup aimé. Tu sais, des publics très différents aussi. Catherine, c'était très grand public, en salle. Après ça, à dire, il attire un public tellement large. Jay, quand il a commencé, c'était plus jeune féminin, mais ça a changé avec les années. Donc j'ai vécu des shows tellement différents d'un artiste à l'autre que... Non, c'était vraiment le fun. Okay. J'étais chanceux, je suis chanceux qu'il m'ait demandé.
Tu viens de me détendre un petit peu sur la première partie.
Ah, ben oui.
Ça y est, je peux en faire. Bon, ben voilà, les humoristes, invitez-moi.
Non, puis aussi, non, la première partie, tu sais, comme c'est un rôle aussi dans le spectacle, tu sais, dans le sens que je suis pas en train de dire qu'il faut être mauvais, tu sais, au contraire.
Non, au contraire, mais moi, je le voyais vraiment plus stressant que toi, tu viens de le voir comme une opportunité. C'est juste... voir la même chose de façon différente.
Ouais, ce sont des belles conditions. Les gens sont comme déjà un peu le spectacle, on est en salle, les lumières sont fermées, le son est bon. Donc moi je prenais ça quand même très au sérieux dans le sens où je n'ai pas rodé en première partie. Je suis comme non, faut que tu sois bon, parce que ça m'est arrivé de voir des humoristes qui étaient un peu tout croche. J'étais non, attends, tu sais, si avant que le spectacle commence, les gens sont à zéro, quand l'humoriste principal arrive, ils peuvent pas être à moins 10. Tu comprends?
Oui.
Il faut que tu, quand même que tu les amènes peut-être à 10, 12, 15, 20. Alors, on veut qu'il y ait un air d'aller. Ça, moi, je le prenais très au sérieux. Tu sais, j'étais comme, j'essayais pas d'être comme, ouais, là, je comprends pas, pourquoi ils ont pas. Non, non, comme, attends, comme, l'humoriste principal te fait confiance pour donner le ton avant qu'il rentre sur scène. Rends-lui justice, puis fais ton travail le mieux possible. Puis, heureusement aussi, c'était tous des artistes qui sont très gentils et compréhensifs. Eux, ils me donnaient carte blanche, puis ils disaient pas, ah, moi, t'étais pas bon à soir, ou tu sais, ils mettaient les chances de mon côté, mais c'est quand même une chance de faire la première partie. Fait qu'il faut que tu prennes le travail au sérieux parce que c'est une belle opportunité.
Mais donc, en 2017, tu lances ton show Échapper le gâteau à la balustrade du Monument National dans le cadre du Zoufest également.
Ouais.
T'en avais fait la promo avec la célèbre vidéo « Tu veux goûter à mon pain aux bananes ?»
Exact.
Qui, maintenant que je l'ai dit, va rester dans ma tête jusqu'à la fin de cette interview. Mais donc, tu fais ce show-là. Qu'est-ce qu'on pouvait retrouver dans ce show et pourquoi ce titre au départ?
C'était ma première heure. Hein. Ça, c'était quand même un moment pas charnière, mais c'est un moment très excitant là, pour un humoriste. Sa première heure, tu présentes... ce que tu juges être ton meilleur matériel à ce moment-là, que, bon, après coup, tu vas peut-être pouvoir en rire, mais non, c'était vraiment un moment très, très, très important. Puis, ça s'appelle échapper le gâteau parce que j'essayais de mettre le doigt sur c'est quoi mon style, tu sais, dans le sens que tu te fais souvent demander ça quand tu sors de l'école de l'humour, c'est quoi ton style? Ah ouais, c'est quoi ton style, toi, tu sais, puis les gens veulent une réponse un peu clé en main, tu sais, puis je comprends, les gens posent la question en bonne foi, là, ah, tu sais, ils s'intéressent à c'est quoi ton style d'humour, tu sais. Puis c'est dur à répondre parce que, un, c'est une question de style, mais deux, tu le sais pas nécessairement, c'est quoi ton style, il est en pleine formation.
Ça évolue, ouais.
Comme en gestation, puis bon, en mode essai-erreur. Puis je sais pas comment j'avais pensé à ça, mais à un moment donné, j'avais eu cette pensée-là, échapper le gâteau. Tu sais, il y avait quelque chose dans mon humour qui était très confortable dans l'inconfortable, puis l'espèce de côté, un peu à côté de la traque, puis j'aimais l'image, comme échapper le gâteau, puis... de moi qui souris, puis l'affiche c'était ça, là, c'était un gâteau renversé à l'envers, puis j'étais assis dans une chaise berçante avec un habit, les jambes croisées, puis j'étais comme très heureux. Il y avait quelque chose de... Ouais, je sais pas, j'ai comme même la misère à mettre des mots dessus, mais dans le ton que c'était comme « Ah, ok, ouais, je vois le truc. » Puis on dirait que c'était l'image que je trouvais qui rassemblait le plus, tu sais, mes chansons, mes sketchs, puis l'espèce de ton un peu qu'il y avait dans mon spectacle.
Mais c'est vrai que « Échapper le gâteau », quand j'ai vu le titre, parce que ce spectacle-là, je l'ai pas vu, je me suis dit « ça lui va bien ». Ce qui est... j'arrivais pas à expliquer pourquoi, mais je vois ce que tu veux dire. Mais tu l'as pas joué tant que ça, ce spectacle, en termes de nombre de représentations, par rapport à des spectacles qui jouent pendant plusieurs années.
Non, en effet.
Est-ce qu'il y a une raison pour ça?
Ben, plusieurs raisons. Premièrement, j'avais pas un public énorme, là, dans le sens que comme je l'ai joué au Zoufest 6 fois... Mais c'était une petite salle, c'était à balustrade, donc c'était toujours complet. Après ça, ben, ça avait créé une demande, ben, je l'ai refait au Lion d'Or 2 fois. La première fois, c'était complet à 100%. La deuxième, c'était presque complet. Donc déjà, tu sais, pour un humoriste qui était pas très connu, de faire 8 fois, dont 2 Lions d'Or, c'était comme, hein, cool. J'étais allé faire Québec, au Comédia. Je l'avais un peu roulé. Donc, il y avait une partie de moi qui était content avec ça, mais aussi, en anglais, on dit « outgrow », là, mais tu outgrow ton matériel à un moment donné aussi. Ton matériel, tu le dépasses. Là. Tu deviens probablement...
Tu passes à autre chose, quoi.
Tu deviens meilleur que tes blagues, dans le sens que comme tes nouvelles vont être définitivement meilleures que tes vieilles. Donc, tu te ramasses peut-être à être un meilleur pilote que ton bolide. Et là, à un moment donné, c'est comme qu'il faut que tu enchaînes et que tu crées un autre bolide parce que là...
T'as plus le même plaisir à jouer les jokes.
Exact.
Tu dis, elles sont moins fortes que les nouvelles que j'ai.
Exact. Je peux en écrire des meilleures. J'en ai des meilleures. J'ai d'autres filons, tout ça. Donc, aussi, là, rapidement, je suis parti en première partie de Catherine. Le 2017, on rodait. Puis 2018, la tournée officielle a commencé. Puis j'ai été là-dessus jusqu'en mi-2019, certainement. Donc, ouais. Donc, c'était comme le début d'une nouvelle ère parce que les premières parties à Catherine, c'était du temps plein, là. C'était beaucoup de spectacles, parties tout le temps, donc ouais, c'était une autre phase.
En juillet 2018, tu participes au gala spécial des 10 ans du festival Zoufest avec Sam Breton l'animation. C'est ta 6e participation au Zoufest. Bah, tu en as parlé tout à l'heure que tu adorais le Zoufest parce que ça t'a permis pas mal d'opportunités. Après, en 2018, tu as aussi travaillé sur 2 émissions de télé, Dans ton sel sur Vrac et Halt sur Vrac également avec Pierre-Yves Roy Desmarais.
Ouais.
Est-ce que tu as aimé travailler pour la télévision?
Ouais, j'avais pas fait beaucoup de télé, donc c'était comme mes premiers. mes premières expériences, tu sais. Puis Alt, c'était de la chronique, c'était avec Pierre-Yves que je connais bien. Donc, ouais, j'ai vraiment aimé, tu sais, ça, c'est comme tant que t'as pas exploré un format, tu sais pas vraiment comment ça marche. Mm-hmm. Tu sais, moi, j'étais beaucoup trop long, là, pour la télé. J'arrivais, c'était comme, ok, des chroniques de 2 minutes. Je suis comme, quoi, 2 minutes? Mes intros sont plus longues que 2 minutes, tu sais, comme. Donc, ça te force à t'adapter, puis à explorer des trucs. C'était pas quelque chose qui avait des... On m'en parle pas vraiment, tu sais, je pense pas que ça avait des énormes cordes d'écoute ou rien, mais c'est quand même beaucoup de métier. C'était aussi, tu sais, tu gagnes ta vie, tu sais, tu t'es payé, tout ça, donc t'accumules beaucoup d'expérience. Donc, non, j'ai aimé ça, faire ça, tu sais. Tu sais, les autres, ça a été des trucs aussi... c'était ça, de la chronique, tu sais, des trucs qui ont des shows qui ont pas duré longtemps, mais quand tu commences, tu veux tout essayer, puis tu veux en faire, tu veux faire de la télé, donc ça, c'est parfait pour commencer la chronique. Donc, non, j'ai vraiment aimé ça, puis... Il n'y avait pas tant de budget, tu sais, 5 règles, on faisait notre maquillage nous-mêmes, tu sais, c'était comme vraiment let's go, tu sais, fait que non, c'était des belles expériences.
OK. Et si on te donnait un budget illimité pour une émission télé, qu'est-ce que tu ferais comme genre d'émission?
Ouh! Oh, mais ça, là, ça pourrait durer, ça pourrait être un autre podcast de 2 heures.
Mais plutôt dans le style, ah, est-ce que ça serait des chroniques, des entrevues?
Ah, tu veux dire...
Peu plus le format, qu'est-ce que tu ferais? Des sketchs?
Je pense qu'il y aurait plusieurs choses. Il y aurait... C'est sûr qu'une émission de sketch, ça serait cool. Après ça, si tu me dis un talk show complètement réinventé, ça me tente. Après ça, si on parle de fiction, faire une fiction, ça pourrait être super. Faire un sitcom, faire une comédie, faire une comédie dramatique, faire un thriller comique, tu sais, il y a tellement de possibilités, faire un musical. Okay. Donc non, écoute, s'il n'y avait pas de budget ou de contraintes, ouais, ça pourrait aller dans plein de directions.
Ok, ouais. Et si tu voulais vraiment une émission télé, tu regardes le soir à la télévision, pas une fiction, ça serait plutôt émission à sketch, talk show?
C'est une bonne question parce que la télé est comme en train d'être en transition depuis longtemps, mais on dirait maintenant plus que jamais, là, je sens qu'on a comme... passer un certain cap, donc il faudrait que j'y pense sincèrement parce que tu sais déjà le talk show ça a évolué, je pense qu'on peut plus le faire comme avant, donc faudrait trouver une nouvelle manière de créer un rendez-vous qui vaut vraiment la peine de le regarder à la télé parce que les gens regardent moins la télé, donc ça serait dans le comique, c'est sûr, mais faudrait que j'y pense de trouver une manière que ça réunit un peu les trucs que je trouve cool, puis comment les gens... Pourquoi les gens l'écouteraient, puis est-ce que moi, je l'écouterais? Ça serait ça, les questions que je me poserais.
OK. Okay, voilà. Donc, si quelqu'un a un budget limité, qui te contacte,
s'il vous plaît.
C'est parti. Le 14 novembre 2018, tu sors un mini-album qui s'appelle Une émotion dans la nuit, avec les chansons que tu faisais en show. Pourquoi cette envie de sortir cet album?
En fait, c'était comme un peu pour les endisquer, parce que je voulais avoir des bons enregistrements des chansons que j'avais faites, qui dataient de Champagne May West, tu sais, un gars weird, j'avais fait un bon coke avec Catherine Levac, un beau programme aux Office en 2015 aussi, qu'on avait fait ensemble, donc il y avait plusieurs chansons là-dedans que j'avais fait dans mon solo aussi, que j'étais comme, ah, si je les enregistre pas là, tu sais, il n'y a pas d'enregistrement de mes spectacles ou rien, donc je voulais les faire, puis je voulais faire des vidéoclips. Mm-hmm. J'aimais beaucoup les vidéoclips de Lonely Island ou des trucs comme ça, donc c'est pour ça que des fois, ça a pris des années avant que les chansons entre la création, puis le vidéoclip, c'est de les enregistrer et tout ça, donc d'avoir plus de budget. Donc voilà, donc c'est un peu pour comme conclure cette espèce de chapitre-là, le musical.
OK. Mais les chansons sont disponibles sur Spotify, ouais, pour ceux qui veulent aller écouter... Ouais. Il y a vraiment des bonnes chansons, moi, que j'aime beaucoup. Mais je crois que ma préférée, ça reste un bon coke avec de la glace. Ouais, c'est peut-être parce que c'est ma boisson préférée. mais j'aime beaucoup.
Un coca.
Oui, c'est ça.
Un coca avec de la glace. Si j'allais en France, fallait que je...
C'est ça,
en
un
Europe,
coca, avec, un de coca avec de la glace. Un bon coca avec de la glace, ça ne marche plus.
Les gens sont comme...
Tu dois le dire plus rapidement.
Ouais, ouais. Exact.
Et après, t'as fait aussi d'autres chansons. T'as fait donc Noël Noël, Gosser sur mon sel, Mousqueton.
Ouais.
Qui est aussi une de mes préférées parce que ça fait tellement rire. Ça part tellement d'un truc banal que j'aime beaucoup l'idée au départ. Mousque qui, mousque quoi, mousqueton. Clic, clic, clic. Et te voir avec
tes mousquetons
sur les tétons, c'est un concept. Maintenant, je te vois avec tes...
Je pense que ça va être le titre de mon spectacle, Mousquetons sur les tétons.
Ça peut marcher aussi.
Génial.
Bah, t'as déjà l'affiche, c'est bien.
Oui, c'est ça. On a déjà le sang qui coule.
Ah, magnifique. Quel esprit créatif dans ce podcast. Après, t'as aussi animé un podcast qui s'appelle Passion Secrète dans le cadre du ZooFest.
Ah, c'est vrai, j'avais oublié, c'est vrai.
Dans lequel tu as interviewé des personnalités québécoises pour parler de leur passion secrète, comme Jean-Thomas Jobin qui est venu parler de l'émission Survivor. Après, on en a parlé partout.
Ouais. Mais ça.
Et pourquoi cette envie d'avoir ce podcast-là et pourquoi t'as pas continué le projet?
C'était un peu un pilote, en fait. C'était un test que je faisais. J'ai failli les rendre disponibles pendant la pandémie. Hein. Tout le monde cherchait du contenu, mais c'était vraiment un pilote. Je voulais vraiment m'amuser. Cet été-là, je faisais pas de spectacle comme tel, si je ne m'abuse. Puis je m'étais dit, ah, faut que je cherche toujours à être allumé, à essayer des trucs qui m'intéressent. Puis je m'étais dit, ah, j'avais cette idée-là de comme faire un podcast qui est à l'opposé de mon podcast. T'sais, mon podcast, c'est un podcast sur la longue forme, pas nécessairement humoristique et plus niché. Et là, je me suis dit, et si je fais un podcast où c'est court, plus comique et grand public? Puis je le faisais pas juste pour faire le poser, mais j'aimais l'idée que des gens, tu sais, je pense que des gens sont jamais aussi bons que quand ils nous parlent de quelque chose qui les passionne. Puis j'étais comme, tout le monde a des espèces de champs d'expertise absurdes, tu sais, Lord of the Rings, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, le hockey, telle télésérie, les pierres précieuses, tout le monde a des trucs de, ouais, je suis tombé là-dedans, là, puis j'en sais trop sur un sujet. Puis tout le monde a ça, tu sais. Donc, j'avais reçu Jean-Thomas, j'avais reçu Catherine Levac, est une férue d'apiculture. OK, qui l'eut cru? Jean-Sébastien Girard était dans le fan club de Céline Dion, mais à l'époque où Céline Dion, c'était une chanteuse québécoise qui parlait de rêves américains dont tout le monde riait d'elle. Donc, tout le monde avait des backgrounds différents. Puis j'avais auto-financé un pilote, puis j'avais pitché après à des plateformes, puis finalement, ça avait pas été retenu, puis honnêtement, tu sais, moi, j'en étais pas plus triste, là, je continuais à la scène, tout ça, mais non, ça, c'est juste que j'avais été au bout de ça, puis peut-être qu'un jour, ça va revenir dans une autre forme, parce que j'avais quand même développé un format de trucs avec lesquels j'étais quand même assez satisfait, puis qui je trouvais assez efficace, mais c'est ça, fait que c'est Passion Secrète, tu vois, je l'avais même oublié, mais ça a été vraiment cool.
En fait, je connais plus ta vie que toi.
Oui, vraiment, pour vrai, tu me rappelles des bons boules.
Après, en 2019, tu participes à ton premier gala Juste pour rire avec la carte blanche de Jay du Temple, sur laquelle t'écris également. Dans ton passage, t'as deux Joe qui me tuent. J'avais envie de te le dire. C'est l'aveugle qui peut pas s'empêcher de mentir. Me fait beaucoup rire.
Ah, mon Dieu.
Et le journal intime de tes 9 ans qui fait partie encore de ton spectacle.
C'est vrai. Ça, c'est un des rares que j'ai gardé, ouais.
Eh bien, j'adore cette vanne. Ça m'éclate à chaque fois. mais voilà. J'avais envie de te le dire. J'en profite.
Merci. C'est gentil. C'était toujours agréable.
Parce que c'est le podcast du compliment également. oui. À chaque épisode, je fais des compliments. Je t'en ai pas encore fait assez, donc je te trouve très drôle.
Merci beaucoup.
Voilà. Comme ça, t'es un petit peu gêné, non?
C'est très gentil, oui. Je ne sais que dire que merci.
Avec grand plaisir. Comment t'as vécu ton premier gala Juste pour rire? Est-ce que c'était quelque chose, un moment important pour toi ou...
Ouais, c'est très particulier Juste pour rire parce que c'est comme ça a également marqué beaucoup l'imaginaire, surtout les gens de mon âge, comme à la limite de ah, on a regardé les galas à la télé, tu sais. Parce que je pense que les gens plus jeunes que moi, c'était plus.
On a regardé les extraits, quoi.
Ouais, c'était le web, tu sais. Mais tu sais, moi, je me souviens voir les galas à la télé, puis ça créait des stars, là, Juste pour rire. C'était du jour au lendemain, tu sais. C'était vraiment un gros impact, ça créait des carrières. Donc c'est sûr que ça reste, bon, c'est plus ce que c'était pour plein de raisons, mais ça reste que c'était un espèce de saut, tu sais, pas dire saut d'approbation, mais un saut qui a marqué beaucoup d'humoristes. Donc le fait que ça soit mon premier, le fait que ça soit avec Jay Canim, que Jay me présente, le fait que j'avais aussi un petit peu aidé Jay sur la création du numéro d'ouverture, il y avait beaucoup de niveaux. Donc non, c'était très particulier. C'est des galas aussi, c'est des opportunités où... pas des opportunités, mais des occasions où c'est aussi très stressant. C'est dur des fois de profiter des galas parce que t'es trop nerveux. Donc je pense que là, j'avais comme fait le numéro assez souvent en première partie de Catherine, que j'avais une mémoire musculaire. Mais tu sais, mon père était là, ma sœur était là, une de mes sœurs était là, donc... C'était quand même cool, tu sais. C'est juste que c'est des moments tellement pas longs que c'est dur d'avoir du plaisir si t'es trop stressé. Mm-hmm. Fait que avec l'expérience, t'apprends à... J'ai de la misère à me détacher aussi comme de la portion écriture, tu sais. Si ça va mal pour l'animateur, ou pas, ça va mal parce que ça a pas mal été, mais je veux dire, t'as comme le stress de... Si lui, ça marche pas, j'aurai pas de plaisir là, parce que je vais me sentir trop mal. Fait que non, ultimement, ça a bien été... autant avec lui qu'avec Pierre-Yves, mais c'est dur des fois de faire la part des choses. Puis, parce que la journée même, il faut que tu arrives seulement comme humoriste. Comme auteur, il faut que tu le laisses aller parce que là, c'est déjà écrit et puis c'est plus entre tes mains. Mais c'est dur des fois parce que je veux que ça aille bien pour tout le monde. Donc, mais non, c'est super, super souvenir. Premier gala, télévisé, mon père qui était là avec ma sœur. parce que ma mère gardait l'enfant de ma sœur. Qui était celle qui venait me voir à l'époque, qui habitait à Ottawa, mm-hmm. et là, qui était rendue en Australie. Donc, le fait qu'elle était à Montréal, c'était comme très exceptionnel. Donc, tout ça, le fait qu'elle avait vu le premier, littéralement, à l'école de l'humour mm-hmm. en décembre 2011, puis que là, elle me voyait 8 ans plus tard à la Place des Arts à Montréal.
Avec la progression.
Exact. C'était comme, ah, oh, wow, tu sais, comme, c'est vraiment le fun qui était là, tu sais. Donc, ouais, c'était spécial.
Et moi, ici, quand je suis rentré en Belgique, j'ai fait quelques shows et c'était agréable parce qu'il y a des amis qui sont venus me voir, mais qui ne m'avaient plus vu depuis le tout début. Mm. Donc, il y avait presque 10 ans entre la toute première scène. Je n'ai pas joué beaucoup à ce moment-là, mais et le moment où ils m'ont vu, et ils me disent, bah, t'es meilleur. Je fais, bah, j'espère.
Merci.
Ce serait tellement vexant. C'était mieux avant.
Ouais, c'était mieux il y a 10 ans. Quoi.
Donc, ça fait plaisir quand les gens n'ont pas vu pendant un moment ouais. et qu'ils voient la progression. Donc, je peux comprendre que ça a dû te faire plaisir. Après, en 2020, tu fais ton dernier show au Terminal le 12 mars.
Oui.
Comment t'as vécu, toi, la pandémie, l'absence de la scène, les scènes via Zoom, la reprise avec les réglementations, enfin, toute la patente.
Toute la patente est bien intégrée, c'est
bien. Merci.
écoute, ça a été particulier, ça a été très particulier, parce que moi, j'avais laissé la tournée de Catherine pour me concentrer sur la création d'un spectacle solo. Puis depuis l'automne, j'étais vraiment en mode création. Puis là, c'était comme, ah! OK, finalement, non. parce que là, ça a arrêté très sec. Donc, ça a été difficile pour tout le monde. Puis, c'était pas non plus des moments où tout le monde disait, ah, là, t'as du temps. Mais tu sais, il n'y avait pas d'oxygène non plus qui rentrait. C'était dur d'être créatif. Donc, c'était... Non, mais ça a été difficile, mais ça a apporté plein de bonnes choses. C'est là que je me suis plus intéressé à la scénarisation, que j'ai eu le temps de lire là-dessus. Tu sais, c'est quand même là aussi qu'est né BFF à distance, tu sais, pour lequel on a même gagné un prix à un moment donné.
L'Olivier dans la catégorie capsule ou sketch web humoristique de l'année.
Exact.
Et c'est Thomas Levac qui a été chercher le prix.
On pensait pas gagner. On avait dit, en tout cas, si on gagne, on tira Thomas, puis on a gagné, on le fait, merde. ça a créé BFF à distance, qui a amené d'autres choses. Je travaillais beaucoup avec Pierre-Yves aussi pendant ces années-là. Puis là, Pierre-Yves, ça a levé aussi en même temps. Donc, ça aussi, c'était super cool. J'ai un peu fait ses premières parties du rodage. Je l'ai un petit peu écrit avec lui aussi sur son spectacle. Donc, toutes ces affaires-là sont nées beaucoup de la pandémie. On avait beaucoup de temps. Donc, non, ça a été dur tout ça. Les spectacles virtuels, c'était pas le meilleur, mais c'était quand même... On a réussi à continuer à gagner notre vie au moins. Puis, 2021... Là, ça a commencé. Tranquillement, je faisais des spectacles au Terminal. Il y a eu beaucoup de on and off là, en termes de ouvre, ferme. Mais non, ça a permis de peut-être recalibrer c'est quoi tes priorités et qu'est-ce que tu veux vraiment faire. Donc non, c'est on est content que ce soit fini quand même.
Oui.
Ben fini. Certains diraient que ça va durer 10 ans, mais bref.
Pouvoir moins... jouer en tout cas.
Ouais, exact, c'est ça.
C'est ça. En 2021, donc tu testes enfin ta nouvelle heure. Tu fais des 2 fois 40 minutes avec Sam Boisvert. Tu fais ton deuxième gala Juste pour rire dans le gala de Simon Gouache. Parmi toutes les scènes que tu as faites depuis le début de ta vie, quelle serait la pire et la meilleure scène?
Oh boy! Bonne question. En plus, j'en ai vécu beaucoup, mais j'en oublie beaucoup aussi. Mm-hmm. C'est sûr que les corporatifs, là, les spectacles corpos, là, c'est dans les...
Juste pour ceux qui ne connaissent pas les spectacles corporatifs, ouais. C'est des spectacles qu'on fait pour des entreprises qui
exact.
Ont pour un show de Noël.
Des spectacles privés.
C'est ça.
Pour lesquels on est engagé et généralement bien payé. C'est la raison pour laquelle on les fait, pour gagner notre vie. Puis c'est une option qui est quand même pas négligeable parce que, par exemple, des comédiens ne peuvent pas beaucoup vraiment faire des corporatifs. Mmh. C'est une option qui s'offre aux humoristes qui est quand même une belle manière de payer son loyer, mais qui est toujours des spectacles. Pas toujours, c'est pas vrai, parce qu'il y en a des spectacles corporatifs qui peuvent être agréables. J'en ai vécu d'ailleurs cette année. Mais des fois, c'est des endroits où il ne devrait pas avoir de spectacle. Il n'y a pas de système de son, il n'y a pas de stage, il n'y a pas. Les gens ne savent pas qu'il y a un humoriste. Là, il apprend qu'un humoriste, il pense que c'est Louis-José Hood. Finalement, c'est David Bocage. Ils savent pas c'est qui David Bocage.
Les gens ont trop bu. Beaucoup d'histoires de gens trop bu dans les corpos.
Exact. T'sais, fait que ça, les corporatifs, là, j'en ai déjà fait un où j'animais, puis c'était comme... Ma loge, c'était dans une arène. En tout cas, je me souviens plus trop. Puis il y avait quelqu'un qui sur le show qui... C'était du yodeling. Puis c'était les gens, il y avait comme pas beaucoup de monde dans le public. Il y avait en moyenne d'âge de 106 ans. T'sais, c'est sûr que c'est pas des bons souvenirs, mais c'est en même temps des très bons souvenirs. Donc, ça, c'était difficile. Les meilleurs, c'est difficile. Parce que, tu sais, on pense beaucoup aux galas, on pense aux gros événements, mais c'est difficile d'accoter les shows solo, je trouve. Parce que, tu sais, quand les shows solo, c'est que t'as vraiment un show complet, tu sais, 1h15. les gens viennent pour toi, tu sais, puis quand ça va, ça fonctionne, c'est comme, ah, oh, wow, tu sais, c'est vraiment cool. Tu sais, la première fois que j'ai fait le Lion d'Or, tu sais, c'était particulier, les gens venaient pour moi, c'était la première fois que je remplissais une salle de cette grandeur-là, même si c'est pas énorme, mais tu sais, quoi, 230 places de, tu sais, je suis sorti des gars de Lemont il y a 3 ans, 3-4 ans, peu de gens me connaissent, mais...
En plus, c'est une belle salle.
Très belle salle, tu sais, très... je pense que c'est Edith Piaf a joué là, tu sais, à l'époque, c'est très vieux, là, c'est ça, il y a du velours rouge, puis c'est comme... Ça a vraiment une âme. Les gens qui se déplacent pour me voir en solo, si un jour, je suis blasé de ça, ben, comme dirait Sam, mettez-moi 2 balles dans le nuque, parce que tu peux pas prendre ça pour acquis, ça peut pas être banal, c'est fou, là, c'est comme... Attends, je vais faire des blagues ce soir pendant 1 heure, puis les gens sont venus, puis je suis payé pour ça, OK, wow, comme, c'est hallucinant. Mais... peut-être qu'il y en a qui vont me revenir plus tard, mais non, c'est ça, les spectacles solo, c'est très, très, très cool. Il y en a eu à Montréal, j'en ai fait au Terminal, j'en ai fait au Bordel, fait de place aussi. Non, je m'étonne pas, c'est vraiment cool.
OK. Après, en 2022, t'as rodé ton spectacle dont on a parlé en début de podcast, t'as participé à ton 3e gala Juste pour rire dans le gala de Pierre-Yves Roy Desmarais, t'as également participé à l'écriture et à la création des galas. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça se crée un gala?
Ouais, en fait, puis je l'ai fait avec Pierre-Yves aussi avec Québec en 2021. On a fait le Comédia aussi ensemble. Fait que je l'avais déjà vécu avec... Ben, je l'avais fait avec Jay un peu, mais avec Jay, avec PY, on a fait des trucs quand même assez complexes là, à Québec, là, des numéros musicaux. Donc, dans le fond, c'est qu'on on détermine qu'est-ce qu'on veut faire comme gala, parce que l'animateur doit créer des numéros d'ouverture. Dans le cadre de Québec, il y avait même des numéros de fermeture, des sketchs. Donc, c'est vraiment de déterminer c'est quoi le format du gala, de quoi on parle... puis souvent, il y en a deux. Tu sais, à Montréal, il y a 2 galas par soir. Donc, il faut que tu détermines ça va être quoi les 2 galas. Donc, c'est quoi les thématiques que tu abordes? C'est quoi la forme? Tu sais, donc, l'été dernier, tu vois, PY, il y avait un numéro chanté dans l'ouverture. Mais là, ça, c'était une chanson de 7 minutes, dans le fond, qu'on a faite avec beaucoup de caméos. Donc, ça, on a pensé à ça. On l'a écrit, on l'a repunché. Il y a Julien Corriveau qui est rentré dans le processus. Daniel Grenier qui était le metteur en scène. Audrey Rousseau également. Fait que c'est vraiment de concevoir et d'écrire ce qui va être les numéros de Pierre-Yves et les numéros, dans le fond, du gala. Et le thème, et donc le concept du gala.
Mais tu t'occupais pas de quel artiste allait participer au gala? Ou...
Non, pas vraiment. Je pense qu'on on a eu des discussions là-dessus sur nos invités de rêve. Puis après ça, on en a beaucoup parlé, mais je pense que ça, c'était... Parce que ça aussi, c'est comme très complexe, le booking, là, parce que tu veux beaucoup de monde, mais la plupart peuvent pas, puis tout ça. Donc, mais le pire, c'est qu'on a pas mal lu tout le monde qu'on voulait, je pense. L'année dernière, on était très chanceux. C'était vraiment des amis. Pour vrai, tout le monde dit ça, là, c'est mes amis, mais pour vrai, c'était tous des amis l'année passée. Non, c'était super.
T'as aussi travaillé sur le show de Pierre-Yves Roy Desmarais. Donc, Joke, Chapeau, Maman, Magie Piano.
Ouais.
Qui est incroyable ce spectacle. Ouais. Je suis allé le voir à l'Olympia. Il y a des moments que j'ai manqué parce que je riais trop. Tellement drôle. Comment tu as travaillé avec PY? Je sais pas si tu travailles beaucoup sur ce spectacle-là.
Non, pour vrai, ma contribution est vraiment pas énorme sur ce show-là. On a beaucoup travaillé ensemble en amont, plus dans la pandémie et tout ça. C'est quand il a commencé son rodage. Sa première partie qui s'appelle Sam Boisvert pouvait pas faire la tournée gaspésienne. Donc, j'avais été avec lui parce que, en plus, j'ai comme des racines gaspésiennes. Donc, là, il est en rodage. On était au printemps-été. Donc, il y a beaucoup de ces numéros qui commençaient à prendre forme. Donc, tu vois, c'est en Gaspésie qui a commencé la première mouture du numéro d'ouverture tel qu'il est dans le spectacle aujourd'hui, dans le sens qu'il était pas encore du tout fini, mais il a jeté beaucoup de tout ce qui était l'ancien spectacle, ben, l'ancienne ouverture, puis là, c'est là que certaines bases du spectacle se sont posées. Donc, on avait un peu jasé de ça. Puis moi, après les spectacles, je prenais des notes. Donc, je prenais des notes sur qu'est-ce qui fonctionne moins, qu'est-ce qu'on fait avec ça. T'sais, donc, il y a eu comme des échanges aussi là-dessus. Puis il y a une chanson dans son show qu'on a co-écrit, Paroles et musique, qui s'appelle « Grand-maman parle ». que j'avais une guitare, je me souviens la version originale, j'avais fait j'avais une guitare sur moi, puis c'est rare que je vais aider Pierre-Yves avec la musique, généralement c'est plus les paroles parce qu'il est meilleur musicien que moi, tu sais. Mais pour je sais pas quelle raison, j'avais une guitare dans les mains cette fois-là, puis j'avais j'étais avec une sorte de mélodie pour un bout de la chanson, puis c'était comme resté, puis lui il en a fait une toune électro. Donc cette chanson-là plus quelques notes ici et là sur des trucs dans le spectacle, mais c'est beaucoup plus avec Alex Forêt qui a vraiment travaillé en termes d'écriture. Évidemment, il a pas mal tout écrit tu sais, Pierre-Yves écrit pas mal de ses affaires, mais je pense en termes d'écriture, peaufinement, repuncher, script édition, c'était plus avec Alex Forêt, okay. Qui est aussi humoriste.
Et en 2022, tu es également venu jouer en Belgique, à la maison. Et donc, quand tu viens jouer en Belgique, on l'a dit tout à l'heure, moi je reçois un message pour dire « Hey, il y a un humoriste québécois », et pile, tu fais ça quand moi je pars à Montréal.
Ah, voilà.
Et comment t'as trouvé la scène belge? Je suis un peu curieux de voir.
Ben, j'en ai vraiment seulement fait une. J'ai fait un spectacle. Donc, parce que j'étais vraiment en vacances, il faut le dire. J'allais voir ma sœur que j'ai pas vue depuis 3 ans avec la pandémie, qui a eu un autre bébé depuis que j'avais jamais rencontré. Donc, c'était vraiment un moment famille. Okay. Après les festivals, donc, tu sais, j'étais vraiment à Leuven où ma sœur habite. Puis bon, c'était très tranquille. Puis j'avais pas prévu jouer, pour être honnête. Puis c'est Pierre-Yves qui m'a dit « Ah, je peux mettre en contact, Rudy... » Bilal, tout ça. Puis vers la fin de mon séjour, je me suis dit, bon, tiens, je vais écrire au gars, puis ça. Et puis Bilal m'a dit, tiens, il y a une scène dimanche, c'était un open mic.
C'était le Cercle des Voyageurs, je crois.
C'était dans un sous-sol, là, en dessous d'un restaurant. Là.
Ouais, c'est ça, Cercle des Voyageurs. Ouais.
Donc.
Qui n'existe plus maintenant. Enfin, qui font plus l'open mic okay. à cet endroit-là. Le Cercle des Voyageurs, je pense, okay. existe encore, mais bon, ils font plus l'open mic à cet endroit-là.
Puis je parlais des amis belges qui me disaient « Ah non, franchement, là, tu viens au mauvais temps, tout est fermé, les soirées. » Parce que c'était vraiment entre deux, là, c'était la session.
Oui, c'est ça, c'était entre août-septembre. Donc exact. C'était, oui, au moment où il y a un petit entre-deux, quoi.
Il était un peu genre « Ah non, mais là, c'est gênant, tu devrais venir dans les vrais trucs. » Puis j'ai dit « Ouais, écoute, c'est pas grave, j'étais pas venu pour ça. » Puis donc moi, j'ai joué là, puis... Écoute, je me sentais comme à Vancouver avant de monter sur scène. Je me suis dit, j'avais l'impression que j'allais faire le spectacle dans une autre langue. Tu sais.
Okay.
Donc là, j'avais regardé mon matériel à savoir, OK, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ça va? Est-ce qu'ils vont. Est-ce que, tu sais, je vais essayer. Tu sais, mon articulation au Québec, c'est un problème. Tu sais, souvent, j'articule pas assez. Donc les gens qu'on perd des mots, puis c'est chez nous. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je fasse attention au niveau de l'articulation, de la prononciation. Le choix des mots, évidemment. Il y a un vocabulaire qui n'est pas tout le temps le même mot. Mais. Ça avait super bien été, honnêtement. Je m'étais enregistré, je l'ai pas réécouté, pour être honnête, mais comme c'était dans un sous-sol avec de la pierre, les gens étaient super enthousiastes, il y avait du monde, c'était très intime. Beaucoup de gens sur le spectacle faisaient leur premier spectacle à vie, donc c'est quand même particulier d'être à l'étranger, d'être l'étranger et le vétéran sur un spectacle. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme un drôle de combo, parce que t'es celui qui a le plus d'expérience, mais ça veut pas dire que ça va bien...
Bien aller
pour ouais, toi. Parce qu'il y a trop d'autres éléments qui...
Ouais, tu dois adapter les exact. Mots que tu emploies, faire attention à ce qu'on comprend bien, peut-être diminuer l'accent.
Ouais, c'est ça, je voulais pas...
Faut pas dénaturer, ouais, mais en même temps, faut qu'on te comprenne.
Exact, je voulais pas prendre un français international. Ça, je me disais, ah, ça va...
Surtout en Belgique, il faut pas.
Non, tu sais, fait que je pense probablement en avoir parlé au début, tu sais, je veux dire... Je me souviens même plus que j'ai dit. Je sais pas si j'ai dit que je venais du territoire de Céline Dion là, ou quoi, mais juste dire, OK, ouais, tu sais, québécois. Les gens, OK, cool, OK. Parce que, tu sais, s'ils cherchent tout le long, c'est quoi son accent. Tu sais, OK, non, québécois, OK, cool. Puis je me souviens plus que j'avais dit, mais les gens ont fait, non, c'est beau, vas-y. Donc, j'ai commencé, puis j'ai même fait un peu plus long, tu sais. Vu que j'étais dernier, Bilal m'a laissé faire plus long, puis il y avait des trucs de James Bond sur les côtés. Donc là, je me suis dit, il y avait des photos de Sean Connery, puis Daniel Craig, je fais, ah, c'est sûr que je dois faire mon numéro sur James Bond. Donc, il y a des jokes dans mon numéro que je peux pas faire en Belgique qui sont des référents québécois, tu sais. Oui. Donc, là, je fais, OK, attends, faut enlever tel référent. Donc, juste ça, ce travail-là d'adaptation est très intéressant. Puis, somme toute, je pense que les gens avaient quand même bien compris, tu sais. Je pense pas que c'était très difficile à comprendre ou... Je pense que ça demandait un effort parce que je voyais dans la face des gens qui étaient comme, OK, on est concentré, tu sais, on écoute quand même très attentivement. Mais ça avait quand même bien été... Puis, j'avais recroisé une des humoristes sur le spectacle à l'aéroport qui m'avait dit « Ah!
Okay. »
Donc, puis c'est drôle parce que, tu vois, ça, c'est quand même assez fascinant, là, mais elle m'a vu à l'aéroport et son réflexe, c'est de venir me parler en anglais.
OK.
Ça arrive souvent. Ah, ça arrive souvent aux Québécois, en Europe. En Europe francophone, ouais. « Hey, salut, je vais te prendre. Hein. »« I'm sorry, don't speak English. » Non, j'ai dit que je vais prendre un... Ah, merde!
Okay.
Parce que les gens entendent une espèce de... Ah, okay. Ça sonnait comme de l'anglais.
Okay, oui.
Ah non, OK, attends. Ah, OK, c'était en français. Donc okay, c'est drôle parce que ça me disait qu'est-ce que son inconscient avait perçu.
Okay,
donc, j'étais gamin, c'était intéressant. Mais non, ça avait bien été, mais j'en ai fait seulement une.
Ouais, donc, tu peux pas avoir vraiment une vision.
Exact, mais j'ai très hâte de retourner. Tu sais, là, toi, Pierre-Yves est allé, mais d'y aller avec un copain puis de faire un petit réseau France, Belgique avec le King's Comédie, d'aller voir Thomas Wiesel en Suisse, faire un podcast au passage. Donc, de faire une petite virée comme ça, j'ai bien hâte là, quand même.
Mais à fond, viens.
Parce que
en Belgique, ça commence vraiment à bien se développer.
Ouais, je suis sûr.
C'est des shows de qualité, parce que par rapport à comment ça a commencé, tu peux te jouer dans des bonnes conditions. Il y a Bilal qui organise des scènes qui sont vraiment cool. Donc, des gens peuvent s'essayer dans des endroits cool, avec des bonnes conditions, tu sais.
C'est super.
Un bon micro, un public.
Déjà, ouais, c'est déjà, c'est pas rien.
C'est déjà pas rien. Et le What the Fun qui organise beaucoup de scènes. Donc, il y a moyen de jouer pas mal tous les jours pour c'est quelqu'un super. Qui a les contacts, quoi. Donc,
c'est super.
Venez en Belgique. En plus, on est accueillants.
Nous viendrons.
Est-ce que faire des shows en anglais, t'en as fait quelques-uns, est-ce que c'est quelque chose que t'aurais envie de développer ou pas du tout?
C'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, mais c'est pas une ambition. Okay.
Dans tu le dis sens pas, que... je vais faire New York.
Ben, c'est ça. Est-ce que je ferai New York un jour? Probablement, dans le sens que je pourrais avec des amis, mais. Mais encore là, jouer dans des open mic, c'est dur à New York parce que c'est comme très, ouais, très contingenté. Mais j'ai pas, mettons, d'ambition du marché américain ou ce genre de truc-là. Mais ça me fait. J'en consomme plus en anglais probablement qu'en français d'humour. Mm-hmm. Donc il y a quand même cette chose-là. Tu sais, mes humoristes préférés sont souvent américains, britanniques. J'aime beaucoup aussi les humoristes québécois, les Denis Drolet, tout ça. Mais c'est reste que c'est quelque chose. C'est comme une langue qui est très présente en humour. Qui amène une autre musicalité, un autre rythme, un autre. C'est une autre affaire. Donc, ça m'intéresse, mais c'est pas une priorité du tout. C'est très pour le plaisir, là, comme je l'ai fait à Vancouver, alors que j'allais voir un ami en vacances. J'ai joué en vacances en Belgique. T'sais, c'est des trucs parallèles et plus, évidemment, secondaires.
OK. Parce qu'il y a quand même une scène à Montréal avec pas mal de shows anglo.
Ouais.
J'en ai fait un hier soir.
Ouais, où ça?
C'était au Bass Do Pub. C'était le show, un show qui s'appelle Mondays Am I Right.
Ok.
Qui était vraiment cool. Et le dimanche, j'ai joué au Third Floor Comedy Club.
Ok.
Qui est sur Crescent Street.
C'était bien?
Ouais, c'était vraiment cool. Ah. Le Third Floor, il y avait plus d'humoristes dans le public que de...
Ouais, c'est ça.
Mais c'est vraiment une scène qui est prévue pour tester, c'est gratuit, c'est...
Bon.
Il y a 18 humoristes, j'étais le 18e.
Waouh.
Donc là, c'était un concept. Mais le lundi, Mondays Am I Right, là, c'est vraiment un plateau avec des humoristes qui viennent faire du matériel plus rodé,
ouais.
Je veux dire, que le dimanche, c'était open vraiment mic, un truc hein. Open mic, on vient tester 4 vannes... Il y en a 3 qui sont finis. Et... Enfin, c'est un peu plus cette ambiance-là.
Ouais.
Donc, il y a quand même pas mal de shows. Donc,
Ah ouais, c'est un autre univers qui s'ouvre là, quand tu vas en anglais. Ouais.
Ben, ça, moi, ça m'amuse de jouer en anglais parce que ça me permet de jouer plus, en fait.
Ouais.
Et donc, ça augmente mes scènes et en plus, ça me donne confiance. Parce que quand je joue en français, un sketch que j'ai fait la veille en anglais, je fais ça va. Hier, tu l'as fait en anglais. C'est quand même plus stressant de le faire dans une autre langue. Ça me détend un peu.
Sur... Ouais, 100%.
Je pense être revenu sur. Un bon gros pourcentage de ce que tu as fait dans ta carrière.
Ouais, pas mal, ouais.
J'ai deux petites questions générales que j'aime poser dans tous les podcasts avant de faire le name dropping. C'est qu'est-ce que toi tu aimes le plus et le moins dans le fait de faire de l'humour? C'est vraiment dans tout le métier, hein. Ça peut être la tournée, l'écriture.
C'est sûr que dans les dernières années, les choses que j'aime pas dans mon milieu, ils ont été très publiques. Dans le sens que des trucs que. Pas des trucs dont j'étais au courant, mais mettons que le milieu de l'humour québécois en a bavé, puis pour les bonnes raisons, parce qu'il y avait des choses à corriger. Ça, c'est au sens peut-être plus général de ce que j'aime moins. C'est sûr que. Parce que le style de vie, moi, je l'adore, là, tu sais, d'être humoriste, mais on dirait que j'aime pas être humoriste dans des contextes sociaux.
OK.
Comme genre, ah, salut, c'est quoi? Ah, c'est ton frère, ouais, qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis humoriste. J'ai l'impression que j'aime pas parler du fait que je suis humoriste.
Ok, ouais.
Genre, ça comprends. M'emmerde, genre, sincèrement, comme de. Ah, ok, t'es humoriste. Ah, hey, wow. Genre, pas wow, genre, tu sais, mais juste comme. Ah, cool, comme parler d'être humoriste. On dirait que, tu sais, genre, si je prends un Uber, là, puis je me demande qu'est-ce que je fais, là, c'est sûr que je vais dire une autre affaire, là, tu comprends? Comme
ouais,
d'avoir le small talk de. Ah, t'es humoriste. Puis c'est jamais de mauvaise foi, dans le sens que. Les gens sont intéressés, curieux, puis posent des bonnes questions, mais on dirait que j'ai juste tanné de dire ça. Ce qui est peut-être le cas pour tout le monde, I guess, pour leur métier. Mais... Donc ça m'emmerde. Puis ce que j'aime le plus, c'est vraiment la création. C'est vraiment comme... Ça sonne vraiment prétentieux, mais pour moi, c'est pas la création avec la création. C'est juste comme d'arriver avec une idée... Une blague, une chanson qui n'existait pas quand tu t'es réveillé ce matin. Ce sentiment-là de faire comme « wow ». Comme... Puis cette espèce de magie-là, qui est comme pour, qui est la raison pour laquelle on fait tout ça, cette espèce de « Ah, ça vient d'où? Comment ça se fait? » Je sais pas, mais c'est la raison, c'est la piqûre qui fait qu'on fait ça.
Mais c'est vraiment le moment où tu l'écris ou le moment où tu le testes et que tu vois que ça fonctionne?
Les deux pour des raisons différentes. Mais le fait que quand tu le crées, cette genèse-là, tu sais, de toi à toi, tu sais, mm-hmm. quand t'es ton premier public, si on veut, puis de faire comme « Ah, j'aime ça » ou « Je pense que ça, c'est bon » ou « Je pense que c'est drôle », ça, c'est un bon sentiment. Après ça, quand ça fonctionne en public puis ça connecte, ça, c'est comme une satisfaction aussi d'interprète, comme mm-hmm. tu sais, de bien jouer, même si aussi de d'auteur, parce que tu voulais que ça connecte au niveau... mais les deux sont des satisfactions différentes. Mais ouais, c'est vraiment la création de comme d'idées et de blagues qui n'existaient pas avant. Ça, c'est comme ce sentiment-là, même si j'imagine tout existe déjà, là, mais d'une certaine manière, mais ce sentiment-là, c'est comme « Ah oui, c'est pour ça que j'ai pas un job 9 à 5 dans un bureau. » Okay. Parce que je ne pourrais pas retrouver ce sentiment-là.
Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière?
La cocaïne, la coca, la coquille, la coquille, la coca. Non, honnêtement, juste... moi, j'ai comme une... Je suis très late bloomer. J'ai une progression très, très progressive, très, très à mon rythme. Puis honnêtement, moi, ça me convient. Fait que je dirais juste que ça continue. Tu sais, si ça continue au même rythme, moi, ça me va, sincèrement. Puis, évidemment, plus de cash. Là, c'est pas ça que je dis maintenant. Ça... Mais si ça continue dans la même tangente, moi, ça me va. Tant que ça continue de progresser, puis que ça évolue, puis que ça va dans la bonne direction, c'est super.
Et bien maintenant que j'ai posé toutes les questions que je devais te poser,
ouais.
Je vais passer à l'interview name dropping. Donc là, je vais te demander à chaque fois de me donner un seul humoriste. Ça peut être un Français, un Québécois, un Suisse, un Allemand, un Américain, un homme, une femme, peu importe. Mais une seule personne à chaque fois pour chaque sujet.
Cool.
L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré?
Je pense pas qu'il y ait personne que j'ai rencontré qui est aussi gentil que Daniel Grenier.
Okay.
Donc, Daniel Grenier, c'est la personne la plus gentille au monde, je pense. Il n'y a juste aucune malice dans cet humain-là. Il est juste excessivement gentil, Daniel Grenier.
L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus?
Probablement Bo Burnham. J'ai vu live en 2013 à Montréal. Puis j'ai fait comme « Ah, OK, c'est possible. C'est possible de tout ce que j'avais dans ma tête. » Pas que j'avais ce qu'il fait dans ma tête, mais le jumelage de humour, musique, presque théâtre. Il y avait comme un... Il arrivait avec d'autres choses. Puis le fait qu'il touche à beaucoup de sphères différentes, dont la réalisation. Ouais, ça, personnellement, ça m'inspire beaucoup par rapport à ce que moi, j'ai envie de faire.
OK. L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux?
Ah, comme comédien? Ouais. Ou sur scène?
Joue le mieux sur scène, qui, dans le thème de jeu, il vend mieux sa
ouais, ouais, ouais. Oh, God! Ça, c'est des affaires auxquelles je pourrais penser pendant des heures et des heures et des heures. Mais c'est qui me fait beaucoup rire par son jeu? C'est sûr qu'il y en a plein, là. C'est ce que là, je pense, off the top. Bill Burr me fait beaucoup rire par ses act-out, faut que je dise. Bill Burr me fait beaucoup rire. Comme... Puis il n'y a pas le casting. Tu te dis, il va juste dire des jokes puis parler. Mais quand il fait ses act-out dans... Mon préféré, c'est I'm Sorry You Feel That Way là, de sur Netflix. Il me fait beaucoup rire par ses act-out. Ouais. Fait que je changerais d'idée dans 3 minutes là, quand je vais penser à d'autres personnes. Mais puis tu vois, un autre qui est pour d'autres raisons complètement, Zach Galifianakis, qui est un personnage très pince sans rire puis qui est comme vraiment... un peu extraterrestre dans son approche, mais fait beaucoup rire, tu sais, parce qu'il est comme... Il est dans le moins que plus, puis ça donne des bons comédiens aussi, là. Donc, ouais.
L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux?
J'aime beaucoup de gens, tu sais, j'aime beaucoup la plume de John Mulaney, c'est pour ça que je l'ai nommé précédemment. Il y a souvent des angles que j'aime. C'est sûr que Bo Burnham, ça reste une de ses grandes forces. Je trouve que son écriture à la base, même avant, c'est un gars qui met beaucoup de crémage, qui a beaucoup de... qui joue, qui fait des chansons, il y a beaucoup de stock, mais je trouve que son écriture, puis avec le temps, se raffine, puis peu importe la manière qu'il décline, que ce soit en écriture scénaristique ou en humour, je suis comme « Ah! » Ouais. Pour moi, l'écriture, c'est les blocs fondateurs de ton œuvre, mais dans le sens de ton travail, peu importe la proposition. Puis quand son écriture, je fais comme « Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais, bravo. » Donc, ouais, il y en a plusieurs. Faudrait que je regarde vers ma bibliothèque. C'est quoi les livres? Ah. Burbiglia. Ouais, Burbiglia, ça va être un bon. Je viens de voir. Ouais, parce que Burbiglia amène le côté scénaristique au spectacle d'humour. Il scénarise les spectacles d'humour comme des scénarios. Ça, tu vois là, comment les vases communiquent là, par rapport à ce qu'il a appris en scénarisation. Puis ça, c'est vraiment son style. Il l'a vraiment apporté à sa manière. Fait que ça, je trouve ça très cool aussi de la part de Burbiglia.
Et un humoriste qui t'a surpris dernièrement? Soit quelqu'un que tu connaissais pas, que tu as découvert, ou quelqu'un que tu connaissais, mais qui a progressé énormément.
Colin, bonne question. Ça, c'est une bonne question. ça, c'est une bonne question.
Tout le reste du podcast, mauvais, mais cette dernière question.
J'aime ça des fois. C'est tellement cool de revoir quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Tu fais « wow », tu sais, comme écœurant. Ou quelqu'un que tu ne connaissais pas du tout. C'est parce que il y a des gens que je connais pas aussi beaucoup, que j'ai pas beaucoup vu jouer, mais l'autre jour, j'ai vu un bit sur Internet, je pense, de Charles Brunet, que je connais pas beaucoup, qui est un humoriste québécois, dont j'ai pas vu beaucoup de matériel, mais son bit me faisait beaucoup rire sur le fait que, après avoir couché avec des filles, il voulait leur donner des câlins, puis les filles, comme, arc, va-t'en. Puis je me souviens plus c'était quoi exactement, mais je me souviens que ça m'avait beaucoup fait rire. Puis je le connaissais pas beaucoup, puis je l'ai recroisé après, puis j'ai dit, ah, j'aimerais savoir ton spectacle. Je serais curieux de voir ce que tu fais là, sur une heure. Donc, ouais, ça, c'est le dernier. Ça, c'en est un, en fait, qui m'a passé par la tête. Mais encore une fois, il y en a 1000 qui vont me venir en tête là, quand on va raccrocher. Parce qu'à ce temps, sur le web, on voit tellement de trucs qu'on découvre beaucoup d'humoristes ou de trucs. Mais bref, ça ne me viendra pas de suite.
Ça marche. Et on va conclure avec le choix entre deux humoristes.
Oui, le moment déchirant du podcast.
C'est ça.
Crève-cœur.
Alors ici, je vais juste le préciser, que je le précise dans chaque épisode, mais les humoristes que j'ai choisis, déjà je prends que des gens que je trouve très bons, donc c'est que des humoristes qui ont énormément de talent. Le but, c'est pas de dire qu'il y en a un qui a moins de talent que l'autre, c'est plus celui qui te fait le plus rire sur scène. On fait vraiment que la scène, stand-up sur scène, qui te fait le plus rire. Ça veut même pas dire que c'est celui que tu préfères entre les deux, c'est vraiment celui qui te provoque le plus de rire. Parce que tu peux être plus impressionné par un, mais c'est l'autre qui va te faire plus rire. Comme ça, c'est pour essayer d'avoir un truc plus ou moins objectif.
Ok, je vais essayer. Je sens que ça ne va pas être facile. Mais
non, surtout que j'ai pris des gens que tu aimes bien et des gens que tu connais très personnellement. Entre John Mulaney et Neil Brennan.
Neil Brennan, j'ai vu son spectacle à L.A. Au printemps dernier, puis il y avait des trucs très drôles. J'ai vu le dernier John Mulaney aussi au Colorado avec Pierre-Yves. Bon, ça sonne très jet-set comme phrase, mais c'est juste pour dire que ces deux spectacles sont pas encore... Ah oui, non, Neil Brennan, il est sorti sur Netflix. Je pense que...
Blocks.
Hein?
C'est Blocks?
Je pense que oui. Ouais, alors que John Mulaney, il est pas encore sorti. Dans les deux derniers spectacles, celui de Neil Brennan m'a plus fait rire, mais en général, pour l'ensemble de leur œuvre, John Mulaney m'a plus fait rire.
OK. Entre Bo Burnham et Dan Soder.
Oh, j'adore Dan Soder aussi. Bo Burnham produit le spectacle de Dan Soder, d'ailleurs, que j'ai découvert au Comedy Cellar à New York. Probablement Bo Burnham, mais Bo Burnham, il y a plusieurs éléments parce qu'il va me faire rire, mais son œuvre est rewatchable. Là, tu peux le réécouter plusieurs fois. Puis Dan Soder me fait beaucoup rire aussi. Ceux qui n'ont pas vu son spectacle, là, il est sur Crave. Là. Crave au Canada, en tout cas, c'est une référence. Mais ouais, j'aime beaucoup les deux, mais je vais dire Bo Burnham pour...
Encore une fois, j'espère qu'il y a des Québécois qui écoutent aussi.
Ouais, c'est ça.
Entre Rosalie Vaillancourt et Yannick Demartino.
Ça fait quand même longtemps que j'ai vu les deux sur scène. Parce que Rosalie, son spectacle, c'est quand même longtemps. Puis Yannick, ça fait longtemps aussi que j'ai vu sur scène. Je l'ai pas croisé depuis un bon moment. Je vais dire Yannick parce que, un, je sais que ça va faire chier Rosalie. Puis deux, parce que Yannick, quand il est arrivé sur la... Dans l'humour québécois, il arrivait vraiment avec une saveur très, très forte et très nouvelle. Ce que les gens appellent des bébites, là, mais des gens un peu... Tu sais, avec vraiment quelque chose un peu space patate, comme on dit. Un peu étrange. Donc, moi, j'aime beaucoup ce qui est weird. Donc, je vais dire Yannick.
Entre les Denis Drolet et les Chicken Swell.
J'ai beaucoup regardé les deux à des âges très formateurs. Les DVD des Chicken Swell et tout ça. J'avais leur CD aussi de musique. Mais c'est dur de ne pas répondre les Denis Drolet parce que pour moi, c'est les Denis Drolet sont dans mon top 3 mondial, toute nationalité confondue, d'humoristes qui me font rire ou que j'admire le plus parce qu'ils me font rire du ventre. Là, c'est viscéral. Ils font quelque chose qui ressemble à rien. Puis en plus, pour les connaître un petit peu personnellement, c'est des humains de qualité supérieure. Donc, comme quoi, des fois, on dit rencontrez pas des gens que vous aimez parce que vous allez être déçus, mais eux, c'est l'inverse. Donc, non, genre, les Denis Drolet sont très haut dans ma liste.
C'est quand même trop cool parce que les Denis Drolet, t'as fait leur podcast Rince Crème, ouais. Et les Chic and Swell, t'as Daniel Grenier qui faisait ta première partie.
Exact, puis j'ai travaillé avec Daniel sur des mises en scène de gala aussi, donc non, je suis chanceux.
Entre Adib Al-Khalidé et Simon Gouache.
Ouf, quel enculé.
C'est
pas cool. Ah, oh man. Les deux, j'ai fait la première partie. J'ai fait la première partie pour Simon aussi, un peu. Mm-hmm. Simon, je le connais personnellement depuis que je suis jeune. Il vient au chalet de mes parents. On m'avait dit sur scène... Ah, écoute, c'est, Adib, c'est un des humoristes que j'admire le plus aussi. Simon, c'est un stand-up de grande qualité qui est encore méconnu au Québec, mais quand je pense à humoriste québécois stand-up, dans les premiers noms qui me viennent en tête, c'est Simon Gouache. Je pense que c'est un des meilleurs. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui doivent le découvrir. Puis je pense qu'il y a un côté, puis je dis pas ça pour mettre de la pression, mais il y a un côté valeur sûre. Tu sais, Simon, il fait des bonnes jokes. Fait que amène ta mère, amène ta soeur, amène ta blonde, amène ton beau-père, amène ton neveu, amène qui tu veux. Les chances sont qu'ils vont passer une belle soirée. Tu sais. Mm-hmm. Puis c'est pas, puis je le dis dans le sens du terme où il est bon à ce niveau-là, et non pas... Parce qu'il réussit à le faire sans être générique, c'est ça que je veux dire. Mm-hmm. Il réussit à faire une proposition précise, drôle et franchement goûteuse, puis à rejoindre tout le monde. T'sais. Puis ça, c'est vraiment pas quelque chose de facile à faire. Donc Simon, c'est tout un humoriste. Puis c'est un humoriste de scène. Là, il a fait le pari de faire que de la scène, puis il a gagné son pari. Fait que j'ai beaucoup de respect pour ça. Adib, c'est un des humoristes que j'aime le plus voir travailler au monde. C'est un gars qui a une intelligence et une sensibilité comme peu de gens. Même quand j'y parle dans la vie, je suis comme ce gars-là, une candeur. C'est un enfant. C'est un enfant adulte. Il y a comme un émerveillement. Ah, waouh! Ouais, c'est vrai! Ah, il y a comme pas de malice. Il est de bonne foi, d'une bonne foi désarmante. Et je sais pas si tu as vu son dernier spectacle québécois.
Oui, je suis allé. C'est le premier spectacle que j'avais réservé, Québécois Tabarnak. Je voulais le voir parce que. Et c'est fabuleux.
Moi, je pense que c'est un très bon spectacle. Et je dirais même que c'est un spectacle important parce que ça touche à beaucoup de thèmes et à beaucoup de problèmes qu'il y a au Québec. Et puis ça touche. Il passe par l'identité, mais ça parle d'immigration, ça parle d'identité québécoise, d'identité personnelle, collective. C'est vraiment une œuvre qui mérite d'être vue par tout le monde au Québec. Je me souviens plus ce que je voulais dire par rapport à ça, mais puis il fait d'une manière tellement singulière là, que juste lui peut faire. Donc ouais, ça c'est pas peu dire. Mais je sais pas qui je pourrais dire entre les deux. Flip a coin.
Entre Sam Boisvert et Charles Pellerin.
Ah, oh, Chris. Bon, non, encore il me frappe dans les jambes, il me cogne dans les genoux. Les deux me font beaucoup rire. J'étais avec Sam en fin de semaine, il m'a fait rire, il y avait des nouveaux bits aussi. Deux gars très intelligents qui ont fait mes premières parties aussi, les deux. Charles, faut que tu aies son spectacle. Cheveux dans le vent, s'il y en a qui écoutent ça. Cheveux au vent, je pense. Sur son alopécie, qui fait qu'il a perdu tous les poils de son corps. Lui qui était barbu, il avait cheveux frisés, bouclés longs. Donc, allez voir ça, charlespellerin.com, parce que c'est un très bon spectacle. Les deux font rire, je sais pas, honnêtement... Les deux font rire, Sam par ses idées et la précision de ses idées, puis Charles par comment dire, sa bouille, son jeu et sa dégaine. Ok, voilà.
Entre Catherine Levac et Sam Breton.
Ouais, mon Dieu, c'est drôle. Et c'est de plus en plus dur, c'est ça?
Oui, c'est ça.
sur scène, peut-être parce que j'ai tellement travaillé avec Kat, j'étais trop de l'intérieur, mais je vais dire Sam, peut-être parce que j'ai une distance, peut-être, plus avec Sam. Sam, ça reste quelque chose d'étranger, j'ai pas travaillé dans l'usine, donc je vois moins les... Mais ouais, Sam, c'est un ovni, là, tu sais, dans le sens qu'il y a des gens comme ça qui... Tu sais, Sam aussi, c'est un gars qui écrit pas... Sam, il écrit sur scène, là. Sam, il va faire un numéro sur scène, puis s'il est bon, il l'écrit. Comment est-ce que je veux dire? Et non pas, il écrit un numéro puis il va le faire sur scène. Okay. C'est un gars qui travaille, qui a une méthodologie très particulière, puis très reliée à son style, très proche des conteurs. Il est très dans la tradition très québécoise de l'anecdote, ça. Puis il y a une énergie, puis une présence scénique, puis une capacité d'improvisation qui sont, tu sais, next to none, là. Tu sais, personne qui est dans ce... Puis il rentre dans son prime, là, tu sais, il est dans ses grosses années, là. Donc, ouais, c'est quelque chose sur scène.
Et le dernier choix, entre Jay du Temple et Pierre-Yves Roy des Marais.
Tu me finis avec le couteau dans le cœur. Je pourrais jamais choisir. Les deux sont littéralement mes meilleurs amis, mais c'était quoi? C'était drôle sur scène, c'est ça?
C'est ça. C'est lequel tu fais le plus rire?
Mais c'est parce que les deux sont très drôles. Pierre-Yves, son dernier spectacle, joke, chapeau, maman, magie, piano, c'est très, très, très physique, très performatif, très burlesque, j'irais jusqu'à dire, mais très... c'est quoi le terme? C'est pas burlesque, c'est... comment dire, c'est de l'humour physique, beaucoup, entre autres, tu sais.
Et c'est impossible à expliquer à quelqu'un non. De pourquoi tu dois aller voir ce
exact,
show.
Exact,
j'ai voulu l'expliquer à des gens, on m'a fait, mais ça ne donne pas très envie quand tu exact. Le dis comme ça, alors que c'était un spectacle incroyable.
Exact, puis Jay, dans son nouveau spectacle, que tu n'as pas encore vu, va littéralement à l'exact opposé de ça. C'est un spectacle extrêmement introspectif,
okay.
où moins, en faire moins, c'est en faire plus. C'est un spectacle très personnel, où il fait quelque chose que, je pense, les gens ne s'attendent pas à voir Jay du Temple faire. Mm-hmm. Puis je le sens dans les salles, puis j'ai parlé à quelques amis qui sont venus au spectacle, ils s'attendent pas nécessairement à ça, de Jay du Temple. Ils pensent au gars qui a animé OD, ils pensent au... Puis son public est large, donc ils savent pas, ils connaissent pas nécessairement Jay sur scène. Puis Jay fait un pari, tu sais, Jay qui aime beaucoup, tu sais, Gerard Carmichael, Mike Birbiglia, va faire un pari de faire un spectacle très, très, très personnel, mais très touchant, et très drôle, tu sais, de réussir à faire rire avec un truc qui s'annonce, tu sais, avec un sujet, tu sais, il parle d'amour puis d'échec amoureux, tu sais, c'est le thème, là. C'est pas un spoiler, là, mais que c'est le thème du spectacle. Donc les gens sont, ouf, ok, ça va-tu? Mais non, tu sais, j'ai passé la fin de semaine avec lui, ça rit, tu sais, pendant une heure et quart. Donc, ils réussissent exactement aux deux extrêmes du spectre, les deux. Fait que je leur lève mon chapeau.
Ça marche. Je ne t'en veux même pas de ne pas choisir parce que tu lui vends bien les spectacles des deux.
Honnêtement, je veux juste que les gens aillent les voir. C'est des bons humoristes.
Mais moi, c'est aussi pour ça que je prends que des humoristes que j'adore parce que prenez toute la liste, allez les voir tous.
Exact.
Faites-vous plaisir.
Exact.
La dernière question avec laquelle je finis tous les épisodes, c'est qui est-ce que toi, tu aimerais entendre dans le prochain épisode? Qui je dois éplucher toute sa vie et lui remontrer?
Ben, honnêtement... Charles Pellerin, c'en est un, parce que il y a beaucoup de gens, je trouve, qui sont méconnus, mm-hmm. Qui sont bons. Puis, t'as-tu dit que Sam et Catherine m'avaient nommé, c'est ça que t'as,
ouais.
C'était pas là-dedans? Mais justement, je pense que c'est tout le temps le passer la puck, comme on dit, dresse sur le tape, c'est quoi ça? Passer la puck au prochain, puis Charles Pellerin, c'est un excellent humoriste, un excellent ami, puis je pense qu'il est pas encore assez connu. C'est l'humoriste préféré de mon père. C'est okay. L'humoriste québécois préféré de mon père.
Avant donc, toi.
Ben oui, on est trop proches. Mais Charles Perrin, puis je le répète, cheveux au vent, son spectacle actuel, il reste encore quelques dates. Dépêchez-vous, il était complet au bordel les deux dernières. Donc ouais, Charles Pellerin, envoie-lui. Il a la même gérante que moi. Donc okay. Tu sais à qui écrire.
Oh, intéressant.
Si jamais ça t'intéresse. Donc,
ben tu m'as convaincu, mais je vais envoyer un petit message parce que tu vends très bien son spectacle.
Ouais, voilà.
Tu es son impresario en même temps.
Exact. Bon pourcentage.
Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Je n'ai aucune idée de combien de temps j'ai pris parce que pour une fois, je m'occupais de rien au niveau de la technique.
Non, ça m'a été 3h37.
3h37,
ouais.
Ça va.
Je prends une douche, je m'envoie au show de Mauro de Landry.
Ben, merci énormément d'avoir répondu à tout.
C'est merci à cool. Toi.
Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.